informé en écoutant Que Québec se lève.
Avec Myriam Segal, Pascal CV et Alexis Sanson.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Pour
FM 93. FM 93, ça me parle. Ça me parle.
7h en ce petit dimanche matin qui commence pluvieux, mais qui va bien finir, je vous le promets. Pascal CV, Alexis Sanson avec nous. Ce matin, à Que Québec se lève, Ali Yacine donne et prend des leçons. Comment les menus de restaurants nous manipulent psychologiquement? Et les musulmans ont enfin leur cimetière à Québec. En tout cas, bientôt.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève, au FM 93.
FM 93. Ça me parle.
Pascal, aux nouvelles.
Oui, c'est intriguant et malheureux là, comme première nouvelle. Un homme de 69 ans qui est décédé hier matin après avoir fait plusieurs tonneaux et avoir été éjecté de sa voiture. Les policiers sont intervenus après qu'un citoyen ait constaté l'accident à l'extrémité du viaduc sur le boulevard des Chutes au-dessus de l'autoroute du Frey-Montmorency. L'heure exacte à laquelle l'événement serait survenu est inconnue des autorités puisqu'il n'y a aucun témoin direct de l'accident. Selon les premières informations, le véhicule aurait circulé sur le boulevard des Chutes en direction sud, aurait terminé sa course au bout du viaduc où se trouve un belvédère là, avec des escaliers menant au bord du fleuve.
Il arrive vite où il y a eu un malaise puis il n'a jamais été capable de freiner.
Heureusement, on le saura plus tard. Il y a une enquête qui est en cours, bien sûr, pour éclaircir là, les circonstances de l'accident. La communauté musulmane de Québec aura finalement son cimetière. Boufedja Ben Abdallah, cofondateur et président du Centre culturel islamique de Québec, a confirmé la nouvelle hier. Il a indiqué avoir reçu jeudi l'autorisation du ministère de l'Environnement quant à l'utilisation d'un terrain vendu par la Ville de Québec en 2017. Il ne reste plus qu'à signer les papiers d'achat avec la Ville de Québec, ce qui pourrait être fait dès cette semaine. Et finalement, c'est ce soir la 34e édition de la cérémonie des remises des prix Gémeaux, les trophées décernés à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Récompense l'excellence de la télévision francophone au Canada. La cérémonie se tiendra au Théâtre Saint-Denis à Montréal et sera animée par Véronique Loutier.
Ouais, ben dans le monde du sport, il y a pas ben de meilleures nouvelles. Je veux dire, quand si vous demandez les résultats sportifs, ça a l'air de quoi? Tout le monde a perdu. Le Rouge et Or a perdu hier 23-18 face aux Carabins. Dans le monde du football, toujours, les Alouettes de Montréal ont perdu 27-25 face aux Rough Riders de la Saskatchewan. Et l'Impact de Montréal a perdu 1-0 face au FC Cincinnati hier, la pire équipe de la Ligue. Et ainsi, voit ses chances de faire les séries assez réduites. Merci. Sinon, ailleurs, dans le monde de l'actualité sportive, après la Fédération internationale de hockey, c'est au tour de la Ligue nationale de hockey de suspendre Evgeny Kuznetsov pour avoir échoué un test antidopage. L'attaquant des Capitals de Washington est sanctionné 3 matchs par la LNH. La Fédération internationale, elle a suspendu le joueur russe pour 4 ans après qu'il y ait de la cocaïne qui a été détectée dans un contrôle antidopage qui a été effectué lors du championnat mondial de hockey en mai dernier. Et dans la NFL, malgré les accusations de viol qui pèsent contre lui, Antonio Brown pourrait être en uniforme pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cet après-midi pour affronter les Dolphins de Miami. Son nom n'a pas été inscrit sur la liste d'exemption du commissaire. C'est la liste là à partir de laquelle les joueurs peuvent pas jouer. Donc, il n'y a rien qui empêche Brown de jouer. Et il a fait le voyage avec l'équipe, ce qui laisse croire vraisemblablement qu'il sera du match cet après-midi.
Et du côté de la météo, normalement, la pluie qui tombe devrait s'arrêter dans 26 minutes. Pas 24, pas 25, pas 26.
26,
selon AccuWeather. Puis, il devrait y avoir un autre petit épisode de pluie aux alentours de 13 heures. Ça, c'est selon AccuWeather. D'après Environnement Canada, il y a une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui. Actuellement, on est nettement plus dans les nuages, puis les gros nuages gris menaçants par ça. 40% de probabilité d'averse ce matin. On peut dire qu'elles se sont avérées, les 40%. On peut-tu passer à d'autres choses? Les vents vont devenir à 20 km/h tôt ce matin. Le maximum aujourd'hui sera de 19, mais donc ça devrait se dégager par la suite. Peut-être qu'on aura une autre averse aujourd'hui, mais on devrait s'en tirer avec une majorité de la journée agréable. Disons pas merveilleuse, mais agréable. OK? Demain, alternance de soleil et de nuages, 18 degrés de maximum, puis ensuite, là, ensoleillé, 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 ensoleillé. C'est de valeur, hein? Vous travaillez, moi aussi. C'est parfait. Pascal, qu'est-ce qui retient ton attention ce matin?
Oh, après cette annonce de soleil positif, je vais aller un peu dans le négatif. C'est encore une histoire qu'on nous cache au tribunal, mais pour des bonnes raisons quand même, pour préserver l'identité des victimes, puis aussi attendre les accusations officielles, mais surtout le fait de plaider coupable. Encore l'histoire d'un couple, la fille vient du Québec, l'homme vient d'Algérie, ils se rencontrent, tombent en amour, s'en vont dans le pays de l'homme, là où s'ensuit, bon, une grande, comment on dit, mettons, pièce de théâtre pour dire à quel point je t'aime, je suis un homme merveilleux, pour finalement devenir...
Ben, il l'était peut-être.
Oui.
Mais il l'était peut-être à ce moment-là.
Mais moi, j'ai de la misère à croire que tu peux avoir deux personnalités comme ça, là, parce que quand ils reviennent au Québec après s'être mariés, tout ça, bon, il devient un monstre. Il devient quelqu'un qui s'occupe pas d'elle, qui s'en va toujours avec ses amis avant d'être auprès de son épouse maintenant. Tombe enceinte, premier enfant, tombe enceinte, deuxième enfant. La relation devient de plus en plus complexe et houleuse.
Il prend du crack.
Oh oui, en plus.
Il prend du crack. Moi, je pense que ça joue un grand rôle.
Certainement.
Dans le gâchis auquel ça va mener.
Certainement. Puis là, bon, vous comprendrez que c'est pas nécessairement un couple qui est sain. La police a dû intervenir à de multiples reprises auprès de ce couple-là. Et même que la police, mais ça, c'est quand même à souligner positivement, les policiers ont averti la femme que c'était une relation qui était toxique, qu'elle devrait se séparer de cet homme-là. Peu importe les raisons, elle ne l'a pas fait. Mais il y a également la belle famille qui s'est ingérée. Il y a un oncle de cet homme-là qui est parti d'Algérie pour venir au Québec pour lui dire, là, il va te tuer, là.
Un oncle médecin, si
oui,
j'ai bien compris.
Exactement.
Qui vient d'Algérie et qui dit à la femme, lâche-le, il va te tuer. Il est dangereux. C'est pas seulement, comment je dirais, c'est pas un crime qui est arrivé parce que c'était un étranger avec une Québécoise.
Non.
Les autres étrangers de sa famille disaient que ce gars-là était pas normal.
Il a fait le voyage d'Algérie. Excuse-moi, ouais. C'est quelques heures d'avion et beaucoup de dollars investis pour venir avertir cette jeune femme-là de se séparer. Puis à un moment donné, bien, ça a complètement explosé. L'homme est arrivé dans
la maison.
Elle
est tombée enceinte du troisième enfant qu'il ne voulait pas.
Exactement.
Elle a refusé d'avorter.
Et voilà pourquoi ça a explosé. Donc, il est arrivé et lui était complètement désaccord avec cette troisième grossesse-là dans la famille. Il disait qu'il n'était pas prêt en tant que couple. En désaccord total, la femme avait déjà peur. Elle dit qu'elle avait caché tous les couteaux dans la vaisselle de la maison cette journée-là. Et finalement, il restait le pic à viande, la rôtie.
La fourchette à barbecue, là.
Exactement, celle-là que vous pouvez imaginer avec les deux pointes très piquantes. Il l'a attaqué directement à l'abdomen, directement dans le ventre. Il a attaqué, en fait, le bébé qu'elle portait pour finalement qu'elle rampe jusqu'au balcon, crie à l'aide, la voisine vient de l'aider, s'en va à l'hôpital, réussissent quand même à faire une césarienne puis que l'enfant survive à tout ça, mais il est décédé quelques heures après.
Donc, il a réussi à tuer le bébé.
Oui. Et là, dans une violence incomparable.
Regarde, faut-tu être sauvage? Mais
19 coups.
Qui semble avoir été le déclencheur de ce qui allait mal dans ce couple-là, il y a eu deux phénomènes. D'abord, il a trouvé une job chez Garda qu'il n'estimait pas à la hauteur de son talent et qu'il ne lui donnait pas assez d'heures pour bien faire vivre sa famille. Deuxièmement, il est tombé dans le crack. Fait que t'as pas assez d'heures, t'as pas assez d'argent, mais l'argent que t'as, tu le dépenses
en drogue.
pour te défaire le cerveau.
Ouais.
Moi, je pense que la drogue est l'élément premier. Le fait d'être malheureux est extrêmement fort aussi, parce que c'est la femme qui, selon ce qu'on lit dans le journal, le souhaitait beaucoup revenir au Québec auprès de sa famille. Lui, il était pas trop chaud à l'idée. Finalement, bon, on dit, OK, c'est bon, on va l'essayer, mais tu vois qu'il n'a jamais été bien intégré. Parce que lui, bon, il avait pas la job de ses rêves, il y avait pas ci, il y avait pas ça. Puis elle était bien ici. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de dissonances dans ce couple-là qui ont mené à l'agressivité. Puis.
Mais pourquoi tu restes avec un gars qui a pas d'allure? Tout le monde te dit qu'il a pas d'allure, puis tu restes avec lui. Faut-tu manquer de confiance en soi?
Je pensais ça.
Pour accepter ça. Moi, c'est ça qui m'épate le plus. C'est le manque de confiance en soi.
La confiance et les enfants.
T'as pas d'allure. On reprendra ensemble quand t'en auras, là. En attendant, je m'en vais.
Elle l'a essayé, à un moment donné. Puis après ça, avoir eu le deuxième enfant, ils sont retournés ensemble. Elle l'a essayé. Je pense que pour plusieurs femmes et parents et hommes, peu importe, là, le fait d'avoir des enfants dans ta tête, c'est essentiel que tu restes auprès de ta famille, que tu restes avec celui avec qui tu as fait des enfants. Il y a quelque chose de fort là-dedans.
Dans l'article du Journal de Québec, dans lequel ils ont une entrevue avec cette femme-là qui raconte ce que tu viens de nous raconter, ça se termine d'ailleurs d'une façon un peu étrange où on dit qu'il a plaidé coupable au meurtre du bébé.
Et de voies de fait graves sur son épouse.
Il semble qu'ils aient pu l'accuser de meurtre parce que le bébé est né vivant et mort des suites des blessures.
Mm-hmm. Ah, il a comme vécu pendant
il
un
vécu
instant, là.
Assez longtemps hors du sein de sa mère pour qu'on puisse le considérer comme un être vivant.
Exact.
Si l'enfant était mort dans le ventre de sa mère, on n'aurait jamais pu l'accuser de ça.
Ouais.
Comment on aurait pu l'accuser de voies de fait graves.
Fait quasiment bien que cet enfant-là ait pu voir la lueur du jour. Là. Dans ce cas-ci, ben oui, parce que les accusations sont beaucoup plus sévères. Un homme comme ça, tu veux qu'il paie la totalité de ses actes. Là.
Ouais. Mais je suis obligé de te dire, maudite drogue.
Ouais.
Maudite drogue. Qu'est-ce qu'ils ont le monde à se mettre des affaires de même dans le cœur, dans le cerveau, dans les veines, dans le sang? Qu'est-ce qu'on cherche avec ça?
Ben en fait, c'est la première fois qui est la plus dommageable. Ça veut dire c'est l'influence, c'est la recherche d'émotions, c'est le vide total, le fait d'être malheureux. C'est la première fois où t'en consommes qui est la plus néfaste parce que par la suite, c'est juste le cercle vicieux de la dépendance. Puis la dépendance, essaie de lutter contre ça, là. Ça va te prendre tout le courage du monde.
Elle l'avait convaincu, semble-t-il, d'aller suivre une cure de désintox.
Mais il est jamais allé.
Mais il s'est jamais présenté sur place. Il a dit oui, puis il est pas allé.
Ouais, comme dans Mes Couples. Quelqu'un nous dit, on dirait la série Le Monstre, votre histoire. Effectivement, moi aussi, ça me fait penser à ça quand je lisais l'article ce matin. Le Monstre, c'est une série qui passe actuellement, là, mais que vous pouvez trouver sur tout.tv, mais qui est aussi un livre avant tout et une histoire vraie. Celle d'Ingrid Falaise, là, qui avait passé notamment à Tout le monde en parle. La petite blonde, là, que vous avez vue, la comédienne, qui a vécu quelque chose dans le genre, mais du moins, elle est partie avant la grosse violence, là.
Ouais. Puis tu vois, ce qui me décourage un peu, moi, c'est de voir que cet esprit de possessivité habite pas seulement les vieilles. Moi, je pensais que c'était de ma génération, comprends-tu, les machos de ma génération. Mais beaucoup de jeunes sont encore comme ça.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, David?
Tu m'appartiens, puis je vais décider pour toi.
Non, bon, c'est pas générationnel, ça.
Mais moi, j'espérais que ça le soit.
Non, vraiment pas, Myriam, vraiment pas. Et ça découle beaucoup aussi de la confiance en soi par rapport à l'homme. Là. Mm. L'homme en a pas, il a peur qu'elle quitte. Il va tout faire pour te clôturer puis te garder à lui.
Tu sais, on est en train d'assister au film d'horreur de l'histoire d'Hugo Fredette actuellement, là. Devant le tribunal, on est en train de raconter le détail, puis etc. C'est la même affaire. Regarde, elle veut te laisser. Laisse-la partir, là. T'appartiens pas.
Mais tu sais, on parle des hommes, mais il y a beaucoup de femmes aussi manipulatrices qui vont inventer des grossesses, qui vont inventer ci, ça, juste pour que l'homme reste auprès d'elle. C'est pas réservé à un sexe.
Non, c'est pas réservé à un sexe. Des femmes possessives, tu m'appartiens, puis...
Tu vas briser ma vie.
Les gens n'appartiennent pas. C'est pour ça que moi, je suis pour qu'on se laisse par texto.
Elle revient avec ça. Elle veut vraiment gagner son point.
Parce que, à partir du moment où l'un des deux a pris la décision qu'il prenait le large, ça s'arrête là. Il n'y a pas de discussion possible.
Ben non, il va revenir à te voir pareil.
Non,
il n'y
a pas de discussion possible.
Jaloux, puis tout ça. Même si tu le laisses par texto, il va revenir. Voyons, il sait où t'habites.
Il n'y a pas de discussion possible. À partir du moment dans un couple où un des deux dit « je m'en vais », ça s'arrête là.
On va la laisser croître.
Ça devrait s'arrêter là. Enfin, ça devrait.
Ça
devrait s'arrêter là. Bon, OK. Alexis, de quoi tu veux me parler?
Ben, il y a deux petites affaires dont je veux te jaser dans le monde du sport. D'abord, la suspension à Evgeny Kuznetsov. J'ai pas le choix de revenir là-dessus, là, parce que c'est du grand...
Raconte, parce que je suis pas au courant.
C'est du grand charabia de la Ligue nationale de hockey. Evgeny Kuznetsov, c'est un joueur russe, d'abord. C'est quand même important de le mentionner dans l'histoire. Il s'est fait prendre lors des championnats mondiaux en mai dernier, cet été. À la fin d'un match, test antidopage, se fait pogner, cocaïne dans le sang. La Fédération internationale de hockey regarde les résultats. Bon, ben écoute, Evgeny, de la cocaïne, va falloir te suspendre. Et là, ben, la Fédération internationale, ça fait partie, c'est conjoint avec le Comité olympique et tout ça. Et les Russes, ils en ont ras-le-bol, là, avec leur dopage. 4 ans de suspension pour Evgeny Kuznetsov.
Donc, il pourra pas représenter son pays aux Olympiques et il ne pourra plus jouer dans les mondiaux de hockey pendant 4 ans.
C'est ça. Parce que souvent, l'été, quand la saison de la Ligue nationale se termine, souvent, il y a un championnat mondial, les joueurs peuvent aller représenter leur pays. Effectivement, qu'il pourra plus. Là, on se demandait ce que la Ligue nationale allait faire avec ça. Puis là, eux, au début, c'était de dire, ben, en même temps, c'est pas eux autres parce que c'est pas eux qui ont fait passer le test antidopage. C'est qu'on peut, on le suspendra peut-être pas. Hier, la Ligue nationale a laissé savoir qu'ils suspendaient Evgeny Kuznetsov.
Ah oui, ils ont changé d'idée.
Ben, ils l'ont suspendu pour 4 matchs. Mais ils disent même pas pourquoi. C'est un peu ridicule. Ils disent qu'ils l'ont suspendu, je vais te retrouver, pour conduite inappropriée. C'est okay. le terme exact qu'ils ont utilisé. Parce qu'ils veulent pas faire référence exactement au dossier, mais c'est clairement ça. Mais ils l'ont suspendu 4 matchs. 4 matchs pour dopage. Je veux dire...
Ça me fait penser aux écoles qui renvoient les enfants mal commodes à la maison pour qu'ils jouent au Nintendo ou au PlayStation dans le cadre.
Mais ça ressemble à ça. Tu sais, s'il est pas clean sur la scène internationale, pourquoi il le serait dans la Ligue nationale de hockey? Et je pense qu'on aime se faire accroire. C'est pour ça que
on s'en fiche, dans le fond.
Ben oui.
Est-ce que le fait de prendre de la cocaïne le rend meilleur que les autres sur la glace?
Ben, plus allumé, peut-être, là.
Ben.
Plus allumé?
La cocaïne.
Si tu prends de la cocaïne, en tout cas, tu vas avoir les deux yeux ben allumés.
Je vais en prendre samedi prochain, puis tu vas voir si le show de samedi.
T'arrêteras plus, t'auras même pas la chance de parler, Myriam.
Ah ouais? Ça te rend très allumé. Mais j'ai jamais consommé ça, mais j'ai vu des gens en consommer.
Mais physiquement, parce que c'est un jeu physique, le hockey, là. Bon, ça le rend-tu vraiment meilleur que les autres sur la glace?
Bon, c'est une question qui se pose.
Moi, ce que je ferais tout simplement à la place de la Ligue, c'est de dire, regarde, on va te passer un test antidopage à tous les matchs.
Ben oui, comme ça, il est impossible qu'ils en prennent. Puis, ils ne veulent pas se faire pogner.
Tant qu'on va te pogner, tu vas avoir quatre matchs de suspension.
Ouais. Ah, c'est parfait, ça.
Fait que là, il va être suspendu tant et aussi longtemps qu'il en prend.
Puis c'est parce que c'est pas le premier joueur à consommer de la drogue. Là. C'est qu'on aime se faire croire que le hockey est un sport beaucoup plus clean que les autres sports. Mais la réalité, là, c'est que des joueurs qui se sont fait prendre avec de la drogue, il y en a eu pas mal. Là. Puis des joueurs à traverser les douanes avec de la drogue, il y en a eu aussi.
La Ligue nationale de hockey a, comme dirait Gérard Deltel, la tête dans l'autruche.
Mais
ça fait son bonheur. Puis quelque part, est-ce qu'on a envie de se priver de voir un bon joueur sur la glace?
Ouais.
Mais moi, la consommation sur la glace, je suis totalement contre. Mais si tu le fais dans ta vie personnelle, en dehors de la saison, mettons, ou des matchs, ça me fasse quoi?
Myriam, tu poses une bonne question, puis je veux l'amener ailleurs, puis je vais pouvoir faire un lien avec un autre sujet. Est-ce qu'on veut se priver d'un bon joueur sur la glace? Un joueur qui est accusé de viol dans le monde du football, est-ce qu'on veut le voir sur le terrain?
Pourquoi pas?
Parce que c'est le cas d'Antonio Brown actuellement. Lui est poursuivi au civil, par contre, faut le dire, pour avoir agressé sexuellement son ancienne entraîneuse, qui l'accuse de viol et de harcèlement.
Ça lui permet de gagner du cash qu'il va pouvoir donner à sa victime.
Non, moi, privé, terminé. Terminer ton sport. Parce que on trouve déjà que le système judiciaire n'est pas assez sévère pour ce genre de d'actes-là ou encore que ça traîne en justice.
Il est finalement. Accusé, là, il n'est pas reconnu
comme ça. Je sais, mais il va y avoir quand même, il va y avoir quelque chose, il va y avoir justice, il va se passer quelque chose. Au moment où tu es accusé, tu n'as même pas plaidé coupable ou rien, au moment que tu es accusé, tu n'as plus ce pouvoir-là d'aller divertir des gens puis d'être leader de quelqu'un.
On a, nous, dans nos contrats, l'obligation. Effectivement, de garder... D'ailleurs, Nathalie Normando a perdu sa job parce qu'elle a été arrêtée par l'UPAC.
Mm-hmm. Mm-hmm.
On a l'obligation, effectivement, de faire en sorte que notre employeur n'ait pas honte de nous autres. Parce qu'on gagne notre vie avec notre réputation. Les joueurs de hockey, les joueurs de football, de baseball, ils gagnent leur vie avec leurs muscles.
Non, mais Myriam, c'est criminel.
Ben, une fois qu'ils sont condamnés, je comprends. Avant qu'ils soient condamnés... Pourquoi est-ce que je m'en passerais?
Mais Normando n'a pas été condamné.
Non. Non, parce que nous, on a dans nos contrats des clauses qui prévoient ça. Est-ce que dans les contrats de la Ligue nationale de football, on prévoit, si tu es accusé d'un crime quelconque, on te suspend?
Ça devrait être fait.
Est-ce que c'est... Ça dépend ce qu'il y a dans leur contrat, comprends-tu? Mm-hmm. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit nécessaire.
Position personnelle, ça devrait l'être.
Mais parce que souvent, ça passe par ce qu'on appelle la liste d'exemption du commissaire, qui lui dit, garde, ce joueur-là, il jouera pas. Là, la dernière liste d'exemption, le nom d'Antonio Brown était pas dessus. Donc, les Patriotes, parce que les Patriotes l'ont signé après toutes les popées dont
c'est
je vous ai
raconté. C'est encore les Patriotes?
Ah oui, c'est encore les Patriotes. Les Patriotes ont regardé ça aller. Lui s'est fait libérer, l'ont ramassé, l'ont fait signer 15 millions de dollars, l'ont ramassé. Et là, c'est accusé de viol. Est à la pratique cette semaine. Tout le monde se scandalise de voir qu'il est à la pratique. Les Patriotes ont dit, ben oui, mais... D'autres, il y a personne qui nous a dit qu'il était suspendu. Il est pas sur la liste du commissaire qui dit qu'il peut pas jouer. Donc là, il a fait le voyage avec l'équipe et vraisemblablement, il va jouer avec les Dolphins cet après-midi. Là.
Puis, on l'applaudira pas, là. Mais s'il peut gagner assez d'argent pour rembourser sa victime, au moins pour dédommager sa victime, c'est parce que à partir du moment où tu les chasses, tu les prives de revenus, Tu prives aussi la victime de toute possibilité de récupérer du fric.
Ouais, mais là, c'est pas juste financier. Là. Je sais que c'est l'appât du gain, puis à un moment donné, ouais, si t'as vécu des situations, t'as besoin d'aide psychologique, ça va te coûter de l'argent, donc tu vas aller en chercher, tu vas aller engruger un petit peu à quelque part. Mais la seule nuance que je serais prête à faire, moi, dans ce cas-là, c'est que tant que c'est pas reconnu coupable, mettons, il est accusé, là, en ce moment.
Ouais.
Tu as le droit de pratiquer, tu as le droit de suivre l'équipe pour pas perdre la capacité physique que tu as, pour pas perdre tes jeux, mais je veux pas te voir, par exemple, jouer un match.
Ben là, tout le moins, pour l'instant, ce que je
Pourquoi
peux vous donner...
Pourquoi tu veux pas le voir jouer un match?
Parce que c'est le mettre publiquement face à des gens qui vont pouvoir le prendre pour un idole et quoi que ce soit quand il est actuellement accusé criminel.
Les gens sont capables de juger.
Oh, je
trouve le personnage, par exemple, de Claude Jutras absolument dégueulasse, mais je pense que son œuvre est une œuvre importante.
Oui, oui. Roman
Polanski a produit de très beaux films et c'est un salaud personnellement.
Mais ils ont été punis aussi sur la place publique.
Non, Polanski, au contraire. Les Européens le mettent sur une tribune.
Jutras était quand même puni sur la place publique. Oui, là, tu as pris celui qui n'a pas été puni, mais.
De façon posthume.
Ben oui, parce qu'il n'était plus des nôtres.
Mais tu comprends, c'est. On est capable de faire la différence entre l'individu et ce qu'il fait.
Moi, c'est pas le public.
L'individu et son œuvre.
Je sais pas. Hein.
C'est pas le public que je prends pour des gens incapables de juger puis d'avoir une conscience. Là. C'est pas du tout le public. Je pense juste que c'est l'image publique en arrière de ça. T'as des jeunes aussi qui vont triper sur le joueur puis qui doivent comprendre que si tu as des actes répréhensibles, ben tu perds une certaine possibilité dans la vie.
Un joueur qui se dope pour être meilleur que les autres dans son sport, moi, je le suspends sans la moindre hésitation. Parce que là, il triche. Il se donne des moyens artificiels d'être meilleur que les autres.
Ouais.
Un joueur qui est accusé d'un crime dont il n'est pas encore reconnu coupable. Je ne le suspends pas.
Tu vois, il y a eu le cas de... récemment, c'est dans les derniers mois, années, là, Ray Rice est un joueur de la NFL, puis il y en a plusieurs cas là, dans la NFL. Lui, il y avait des images là, de caméras qui avaient été prises dans un ascenseur et dans un hôtel où tu le voyais clairement battre sa conjointe. Puis tu le voyais la tirer par les cheveux dans l'ascenseur. Puis de mémoire, je me souviens pas jusqu'où le dossier judiciarisé s'est rendu. Mais tu vois ces images-là. Et pourtant, Ray Rice a continué de jouer et a continué d'être adulé. Je veux dire, que ce gars-là soit accusé ou non, là, tu le vois faire ce genre de geste-là.
Ouais, mais...
Moi, j'ai un problème moral à ce qu'on adule un joueur comme ça et qu'on l'applaudisse sur le terrain pour ses performances sportives, alors que l'individu est une crapule.
Moi, que le public l'adule encore puis trippe sur lui pour ses compétences sportives, ça m'est égal. Par contre, que nous, en tant qu'institution, population, citoyens, on permette à ce genre d'humain-là de rayonner encore en société, ça me dérange.
Pour pas me mettre dans la marge, je nommerai personne. Mais des gens qu'on admire et qui ont, à un moment donné, pété une coche sur leur conjointe, il y en a.
Mais le jour où je saurai qui, comment, pourquoi, et que ce sera vrai...
Tu le sais.
Ce sera plus du tout des gens que je vais idolâtrer.
Tu le sais. Mais, tu sais, c'est... Ça arrive. La question, c'est est-ce qu'on doit bannir l'œuvre et l'homme parce que une partie de l'homme nous déplaît.
Mais c'est que je pense que tu mêles les cartes parce qu'on n'a pas banni l'œuvre ou les compétences physiques d'un certain joueur. On trouve encore que c'est un excellent joueur. On trouve encore
mais on lui permet pas de jouer.
Ouais, mais c'est ça.
On va attendre qu'il soit jugé. Une fois qu'il est jugé, là, je reconnais.
Mettez-le pas sur le match. Permettez-lui de pratiquer.
OK. Les musulmans vont avoir leur cimetière. Le ministère de l'Environnement a fini de têter.
Oui.
J'ai pas très bien compris pourquoi on têtait longtemps de même. Je comprends pas. En fait, c'est un dossier que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les musulmans ont besoin d'un cimetière rien qu'eux autres. De la même manière que je comprends pas très bien pourquoi il y a un cimetière juif à Québec. Tu sais, quand je marche sur le René Lévesque, puis que je passe entre le cimetière Saint-Michel de Sillery à droite puis le cimetière juif à gauche, je comprends pas pourquoi on a besoin de sépultures exclusives pour une religion. Mais c'est pas la première ni la dernière chose que je comprends pas dans la vie. Puis ça me fait pas mal aux os, moi, qu'ils aient leur cimetière eux autres. Le ministère de l'Environnement semblait dire en nappe phréatique, etc. C'est parce que, tu sais, dans des terrains vagues, là, il y a toutes sortes d'animaux qui meurent dans le fond de leur terrier aussi puis qui contaminent la nappe phréatique. Je ne comprends pas comment un cadavre humain peut être pire qu'un cadavre d'animal sur le plan de l'environnement. Comprends-tu?
Oui.
Bon, je trouve que c'est du têtage. Ça a pris longtemps. Ça a pris longtemps et ça discrédite, à mon avis, la fonction publique que ça ait pris autant de temps.
Ça a été vendu par la ville en 2017. Là.
Garde, ça te prend 2 ans pour dire que ça va prendre des tonnes de terre protéger la nappe phréatique. Garde, allume là. C'est quand même pas si exceptionnel que ça qu'il y ait des cimetières. Je comprends que les rites musulmans sont un peu différents et qu'actuellement, en ne leur donnant pas un lieu de sépulture qui leur convienne, on les oblige à briser leur propre rite. Normalement, ils prennent 24 heures entre le moment du décès et le moment où on enterre. Où on, ils font de la crémation aussi, là. On enterre ou on brûle le corps du défunt. Je comprends aussi que dans la disposition du corps dans sa tombe, il semble pas y avoir de cercueil. Hein. Ça semble être un drap, un linceul dans lequel on les... Je comprends qu'il y a une orientation que peut-être que dans nos cimetières traditionnels, l'orientation, c'est parce qu'il doit être légèrement tourné vers la Mecque. Okay. Tout ça fait partie des rites religieux. Puis j'ai rien à dire des rites religieux. Je pense qu'on aurait très bien pu s'organiser pour réserver un bout de cimetière standard aux musulmans. Ça aurait été moins compliqué. J'ai un peu de difficulté avec les commentaires que j'ai entendus hier. Certains disaient, là, on va vraiment se sentir chez nous. Parce que tu peux te faire enterrer dans un lieu où il y a juste... ta religion, tu te sens plus chez vous? Moi, là, personnellement, là, vous ferez ce que vous voulez avec mon cadavre, là. Je m'en sacre. Je m'en fous complètement. Mettez-moi avec des musulmans, des hindous, des catholiques, des juifs, n'importe quoi. Mettez-moi dans un terrier avec des marmottes. Ça me fait rien, là. T'sais, mais je ne comprends pas cette espèce d'attachement à ces rites-là. Mais, garde, si ça leur fait du bien, pourquoi pas?
Ben, c'est la foi qui est grande. C'est la foi qui prévaut sur tout, là. En fait, c'est ta croyance qui a tellement pris de place que toi, il n'y a pas d'autre option dans ta tête, là.
C'est, ben,
toi, t'es-tu catholique, Myriam?
Je ne sais pas ce que je suis.
Ben, c'est ça. C'est pour ça que ça
en fait,
pas.
Moi, je ne sais pas si Dieu existe. Puis je le saurai bien assez tôt, puis vous ferez de l'acharnement thérapeutique pour que je le sache le plus tard possible, OK? Moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup agacée cette semaine dans les nouvelles, d'entendre « il a pu mourir dans la dignité ». Excuse-moi, la dignité, ce n'est pas seulement d'accélérer la mort, c'est aussi, pendant certains cas, de l'accepter comme elle vient. La dignité est différente pour chaque personne, ça m'agace énormément. D'entendre dire que mourir dans la dignité, c'est forcément se faire l'injection létale pour accélérer les choses. La dignité, ça dépend de chaque individu. Puis j'ose espérer, parce que c'est ça le danger de soi-disant mourir dans la dignité, du droit à l'euthanasie auquel je reconnais aux individus. Le danger, c'est qu'on finisse par sabrer dans les soins palliatifs en disant « débarrasse le plancher, mes mères s'égalent ».
Oui, ça devient des motifs économiques quasiment.
Mes mères Ségal finissent par dire « Je serais bien mieux d'avoir l'injection que d'endurer ce que je vais endurer. »
Moi, là, tu vas loin. Oui, je comprends. Mais ça, c'est une crainte qui est loin, ça. Je trouve ça... Non, mais les motifs vont toujours passer avant. Les motifs vont toujours passer avant de toute manière. Les gens sur la place publique vont s'alerter de ça. Ils vont commencer à chialer. Les gouvernements ne voudront pas qu'on en parle dans les médias. Il y a des histoires. Si ça arrive, il y a des histoires qui vont sortir, là.
Oui, mais ce qu'on est en train de faire de façon... pernicieuse, je dirais, c'est de faire croire que la dignité n'existe que dans un seul contexte. Moi, je trouve extrêmement digne les gens qui s'en vont à Michel Sarrazin et qui laissent la mort venir s'installer chez eux.
Mais pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres,
c'est autre chose.
C'est de cesser de souffrir.
Sauf que
auprès
je te ferai remarquer, Pascal, que dans ce qu'on a entendu dans la dernière semaine, le mot dignité est toujours venu avec « j'accélère les choses ».
Ben parce que plusieurs témoignent qu'ils veulent pas souffrir, veulent arrêter pour eux le manque de dignité que leurs proches occupent de leur faire la toilette, que leurs proches occupent de crime leurs besoins là. Ça me tente-tu moi que mes enfants plus tard là s'occupent de me torcher, on va dire comme ça.
La réponse pour moi c'est oui. Moi, la c'est réponse non. Pour toi c'est non. Donc ma dignité et la tienne sont différentes.
Et les deux doivent être
respectés. Actuellement dans la littérature médiatique. Dans ce que tu as lu dans la dernière semaine, on associe la dignité à un seul choix. Et ça m'écœure un petit peu. Mais... Il faut se rappeler régulièrement que la dignité, ce n'est pas un seul choix, c'est le choix individuel.
Mais je pense qu'on en parle comme ça et on a cette nomenclature-là parce qu'actuellement, c'est le débat qui est vraiment régi en société, mais que tu vas toujours avoir le choix quand même. Par contre, ton risque pourrait arriver, mais je pense qu'il est extrêmement loin et que jamais on va se rendre là, jamais ça va être acceptable de se laisser pousser dans le dos à accepter la petite piqûre, l'état.
Mais est-ce que mourir dans la dignité, c'était pas le nom du projet de loi, ça, à la base, de mémoire?
Oui, puis c'est ça, c'était, à mon avis, moi, c'était, pour moi, c'était un scandale. D'ailleurs, dans le projet de loi, une des choses que le projet de loi devait protéger et doit protéger, c'est les soins palliatifs. C'est le droit pour chacun de choisir la façon dont il sort. C'est ça, la dignité.
Ça, absolument. Bon.
Et c'est pour ça que cette semaine, en entendant la dignité seulement d'un bord, ça m'a un peu agacé, parce que je trouve qu'on induit de façon pernicieuse une notion qui n'est pas juste. Mais, moi, en tout cas, moi, acharnement thérapeutique, OK? Je l'ai dit publiquement, là. Acharnez-vous.
Tu vas loin, mais merci de nous faire réfléchir quand
tant
même.
Tant que je suis capable de sourire une fois par jour, je veux rester vivante, OK?
Parfait, on va payer quelqu'un qui pour te laver.
Ah, je pensais que t'allais payer quelqu'un me faire broyer. Il est 7h31.
Que Québec se lève.
De retour, après la pause. Bonsoir, les sportifs.
Benoît Brunet, Ryan Peeling ou Nick Suzuki, ou les deux, percent l'aliment?
Pour moi, ça va prendre un camp d'entraînement exceptionnel pour les deux, pour qu'ils débutent la saison à Montréal. Des fois, j'aime mieux qu'un joueur ait brûlé la Ligue américaine. Dans le cas de Peeling, je veux pas le voir sur un quatrième trio. C'est sur un quatrième trio qui s'en aille à Laval, qui progresse, qui devienne un joueur dominant, qui vienne nous aider dans le futur avec le Canadien. La même chose avec Suzuki.
Bonsoir, les sportifs. En semaine, dès 20h30, au FM 93.
C'est l'heure des jours, repartez en Toyota. Mais pour profiter de nos offres, il faut faire vite. Vite comme Charles-Antoine Adam, ailier droit des Titans Pee-Wee de Granby, qu'on a engagé pour vous dire...
Ah ouais, arrêtez de niaiser avec le puck, là. C'est le temps d'aller chez Toyota.
Ouais, ça c'est bien dit. Soyez vite comme Charles-Antoine. À l'achat d'une Toyota neuve sélectionnée pendant les jours repartez en Toyota, obtenez un crédit de 500$ sur des pneus d'hiver ou sur le prix d'achat et de location. Mais dépêchez-vous, ça se termine le 31 octobre. Tous les détails chez votre concessionnaire Toyota.
Le midi à Québec, des bons restos, il y en a un paquet. Mais si on enlève les restos qui n'ont pas de stationnement gratuit, si on enlève ceux qui ne sont pas dans le milieu de la ville à 5 minutes de partout, et si on garde juste les restos qui ont un nouveau menu du jour complet chaque semaine à partir de $14, incluant l'entrée, le dessert, un service rapide et courtois dans un décor super débile et écœurant, ben là, il en reste rien qu'un. Cécile et Ramon.
La voix. Les plus grands hits. La tournée. L'attente est terminée. Céline Dion, la tournée mondiale Courage. Ce mercredi, vendredi et samedi au Centre Vidéotron. Billets sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Céline Dion, ce mercredi, vendredi et samedi.
C'est tellement beau, la Gaspésie.
C'est vrai. Les paysages sont à couper le souffle. Hé, hey, as-tu vu ça? Dans le prochain village relais, il y a un parcours touristique nocturne en bord de mer.
Oui, à Chandler. On pourrait en profiter pour faire le plein et se dégourdir les jambes.
Que ce soit pour profiter des attraits touristiques, pour manger ou pour faire le plein, mettez la route sur pause. Cet été, arrêtez-vous et visitez l'un des 41 villages relais du Québec. Pour en savoir plus, consultez villagerelais.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Le projet sportif de la Fondation du Sud-Québec concernant la recherche sur les commotions cérébrales se poursuit. La population est invitée au cocktail mini-conférence du 16 septembre prochain à la Cage Le Bonneuf, mettant en vedette Audrey Robuchaud, nouvelle tête d'affiche en ski acrobatique, et le docteur Nicolas Dupré, médecin-chercheur. Ce sera une occasion unique d'en apprendre plus sur la recherche et de s'entretenir avec le chercheur. Bien au coût de 30$, incluant consommation et bouchée. Inscrivez-vous maintenant. Projet sportif. Org.
Préparez-vous à gâter Pitou et Minou et à faire des provisions avec la méga-vente dans tous les Létourneaux. Du 19 au 22 septembre, profitez de rabais sur presque toutes les marques de nourriture. Des rabais allant jusqu'à 8$ sur la nourriture sèche. Ensuite, 20% de rabais sur toutes les conserves pour chiens et chats. Et pour gâter vos amours, 15% de rabais sur tous les accessoires, les jouets, les colliers, les vêtements, les gâteries. la méga-vente du 19 au 22 septembre dans tous les Létourneaux.
Tous les détails sur letourneau.com.
Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de PA Méthode. Si vous m'appelez pour avoir un bon prix sur une Nissan, veuillez demeurer en ligne et écoutez bien ça.
Avec ces deux adresses pour vous servir durant les travaux, 5 fois Nissan procède à la grande liquidation de Nissan. En plus d'un rabais jusqu'à 5 000 $, le taux de financement du Rogue Édition spéciale TA est à 0% sur 84 mois. 7 ans sans intérêt. Wow! Avec 5 fois Nissan, toujours sur la rue Einstein et aussi voisin du Costco à 5 fois,
c'est le temps de changer.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Du 12 au 21 septembre, c'est le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Des films inédits diffusés dans une dizaine de salles. Des projections gratuites sur Place Douville et au Passage Olympia tous les soirs. Visitez fcvq.ca. Une présentation de Québécois et Resto Plaisir. Une invitation du Concorde.
Les événements de Québec propulsés par le FM 93. FM 93, ça vous parle.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Pour vos problèmes de pied, appelez-les lundi pour un rendez-vous très rapide. Visitez piedquebec.com.
Le matin, Québec se réveille avec Myriam Segal,
Alexis Sanson
et Pascal CV.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
FM 93.
FM 93. Que Québec se lève.
La chronique sport.
Il lance, arrête du gardeur, on donne un coup!
Ça arrête brusquement. Là.
Oui, ben.
Aussi brusque que Piqué Souban est parti.
Bonsoir, il est parti. Donne 5 millions à l'hôpital de Montréal, puis flou.
Au revoir.
Bang. Bonsoir, échangé.
Voilà.
Tu sais, on avait pour une fois un joueur qui s'intégrait. Ah,
pour une fois, j'aimais le hockey.
Oui, c'est ça.
Pour ben, l'humanité.
Mais ben, c'est parce que Piqué Souban était plus grand que son sport. Et Piqué Souban, puis encore récemment, il fait jaser, puis il plaît pas à tout le monde dans la Ligue nationale de voilà. Hockey. Parce que...
Les têtes qui dépassent, ça plaît pas.
Ben oui, puis c'est surtout que le hockey, c'est tu te camoufles, puis il n'y a pas de personnalité au-dessus du sport. Tu sais, ce qu'on met de l'avant, c'est le hockey, l'équipe, pas un joueur.
Ouais.
Et il y a de plus en plus de joueurs, tranquillement pas vite, qui font comme ce qui se passe, par exemple, dans le milieu du basket, qui se mettent en valeur comme produit, ce que fait Piqué Souban, et on n'aime pas ça.
Ben ça, c'est pas juste au hockey ou dans les sports, là. Je pense juste en société, on est incapable de gérer les émotions. Les émotions, pour plusieurs, là, c'est un défaut. Même si sont canalisées, tu peux pas avoir d'émotions, tu peux pas être plus heureux que la moyenne, tu peux pas être plus triste que la moyenne, tu peux pas être plus impulsif que la moyenne, voyons, on bronche pas, fais pas broncher personne.
Ouais, c'est le concept de l'équipe. L'équipe doit passer avant les individus, mais...
Hey... La visibilité qu'il offrait à son équipe là, en faisant les gestes qu'il posait.
Ben oui.
Mais bon, c'est fini. Piqué Souban est parti.
Et depuis ce temps-là, je suis en deuil.
Moi aussi.
Mais là, tu vas pouvoir... peut-être que tu as une chance de le voir lundi. S'il y a du match contre le Canadien, c'est un match hors concours. Lundi, le premier, contre les Devils du New Jersey. Manto, puis moi, je sais pas si Piqué Souban va être du premier match. Là. Après moi, ça risque d'être l'équipe D. Là.
Fait OK.
Il fera peut-être pas l'eau.
Excitant.
Ouais, non, il n'y a rien de très, très emballant.
OK. Tu veux me parler d'un joueur Poirier?
Oui, Émile Poirier. Ça rappelle peut-être des souvenirs à certains parce que...
C'est drôle, Émile, c'est un vieux nom puis c'est un jeune nom en même temps.
Oui, ouais, exact. Mais Émile Poirier avait été repêché en 2013, un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey par les Flames de Calgary. Il avait joué pour les Olympiques de Gatineau, avait connu une très bonne saison et avait été repêché en première ronde. Quand t'es un joueur de la Ligue de junior majeur du Québec qui est repêché en première ronde, t'es très solide. Et dans le cas d'Émile Poirier... avait connu une très bonne saison quand il était arrivé avec les Flames, avait joué dans le club école et il était allé chercher à ce moment-là là 42 points en 55 matchs. Donc c'est une très bonne récolte. Sauf que par la suite, il a stagné, ça aboutissait plus, il y avait de la misère et très très irrégulière comme saison dans le cas d'Émile Poirier. Et à un moment donné, il a levé la main, il a dit j'ai besoin d'aide, je suis plus capable, mes problèmes d'alcool prennent le dessus. Et il a admis, c'est un des rares joueurs dans la Ligue nationale et dans le hockey en général qui admet avoir des problèmes d'alcool et dit, c'est pas pour rien que ma saison, ma carrière en général a stagné comme ça parce que d'un, il fallait que je m'entraîne, mais il fallait que je me batte contre mes problèmes d'alcool. Et par la suite, ça a été difficile. Il allait jouer avec les Flames, revenait dans la Ligue américaine, retournait tout le temps comme ça et jamais été capable de débloquer.
Puis lui, il a scrappé les années où il pouvait récolter l'argent qui lui permettait de vivre toute sa vie.
Ben oui,
parce que c'est ça, les joueurs de hockey, là. Ils font leur fric en 10 ans.
Ben oui.
Après ça, il faut que leur fonds de pension soit bien garni.
Ou qu'il est bien investi.
C'est ça, mais ça revient au même.
Oui, ça revient au même.
Et dans son cas, en plus, c'est un beau talent. Là. En plus, avec les Flames, il arrivait à l'époque de Bob Hartley. C'était le joueur parfait. Là. Très, très travaillant, Émile Poirier. Pas le plus spectaculaire, mais très travaillant. Beaucoup de talent. Sauf que ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'il a dû prendre une pause. Parce que il est allé voir le directeur général de l'équipe. Lui-même est allé cogner à la porte à ce moment-là du directeur général. Il a dit « Écoute, j'ai besoin d'aide ». On l'a encadré, on lui a donné une chance, sauf que ça a fait en sorte que sa carrière a un peu dégringolé pendant ce temps-là.
Et l'alcool et les muscles sont un peu incompatibles.
Ben oui.
L'alcool vient induire, je me souviens plus c'est quoi le produit que ça diffuse dans tes muscles qui viennent affaiblir ta masse musculaire. En fait, tu t'attrapes des crampes.
OK. Ben oui, puis dans le cas de Poirier, il n'a jamais été capable de se concentrer autant sur son sport. Et là, aujourd'hui, il est âgé de 24 ans et il obtient une deuxième chance, Émile Poirier, une autre deuxième chance. Sa première, elle est survenue l'année dernière alors que les Jets de Winnipeg lui avaient offert un contrat d'essai de 25 matchs avec le club école des Jets de Winnipeg. Et il a dû arrêter après 24 matchs parce qu'il s'est blessé, casse une jambe.
Ah.
C'était son retour, ça allait bien, se débrouillait bien avec l'équipe. Et il y a un de ses coéquipiers à l'époque qui jouait avec lui chez les Flames de Calgary qui a affronté dans la Ligue américaine la journée de sa fête. Le 14 décembre, joue une partie de hockey, lui tombe dessus, fracture la jambe, réussit pas à se rendre jusqu'à la fin de son essai professionnel. Donc ça s'est fini à 24 matchs. Là, lui, il se disait, c'est terminé. Cette année, la seule chose qu'il avait reçue jusqu'à maintenant, c'est une invitation au camp. Une invitation là, au camp de la Ligue américaine pour les Jets de Winnipeg, encore une fois. Il n'y a rien qui lui garantissait qu'il allait faire le club. Et là, tu sais, il attendait, il était chez eux, il est retourné s'entraîner avec les Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et il s'est entraîné avec eux autres pendant un certain temps. Et là, le téléphone a sonné cette semaine. Mercredi, il est embarqué dans l'avion. Les Jets de Winnipeg avaient besoin de remplir un chandail pour leur camp d'entraînement. Et ils ont décidé d'appeler Émile Poirier. Et là, il va avoir la chance de se faire valoir pour le vrai camp d'entraînement des Jets de Winnipeg. Et bon, on verra s'il y aura la chance de reprendre un peu de service et de voir à quel point... Parce que là, d'abord, il faut qu'il reprenne le rythme depuis quelques années en raison de ses problèmes d'alcool. Il faut qu'il se réhabitue. Puis là, ben il s'est cassé une jambe, là. Faut qu'ils reviennent de ça aussi.
Le nitrogène, Myriam, qui n'est pas compatible avec l'entraînement. Plus d'alcool égale moins de nitrogène pour les muscles.
C'est ça. Et ça donc, un joueur alcoolique affaiblit sa masse musculaire, puis donc s'empêche de jouer son sport. Il faut-tu qu'il soit en forme pareil pour que ça ait pas paru pendant, ça ait pas trop paru pendant 4 ans?
C'est incroyable.
Hein? Faut-tu que ce soit une machine musculaire extraordinaire? Pour que pendant 4 ans, ça ait comme pas trop paru.
Oui, puis il a réussi à se développer pendant ce temps-là. Et puis d'ailleurs, une petite histoire aussi parallèlement à tout ça d'un autre joueur qui est lui aussi, ironiquement, né un 14 décembre, c'est William Pelletier. Je regardais la liste des joueurs qui étaient invités au camp d'entraînement du Canadien de Montréal, au camp régulier qui ont fait la coupure. Puis il y a tous les joueurs qu'on connaît, les réguliers. Et il y en a un qui a attiré mon attention parce que je le connaissais pas tant que ça, William Pelletier. Je vais m'en regarder sur lui. William Pelletier s'est joué aux Rockets de Laval cette année. Ils lui ont fait signer un contrat d'un an, un volet, uniquement pour jouer dans la Ligue américaine de hockey. Et le gars vient de Saint-Jean-Chrysostome, ici sur la Rive-Sud, et il a une carrière spectaculaire dans le cas de William Pelletier. Il a joué dans la Ligue de hockey Midget 3A, 2 ans avec les Chevaliers de Lévis, carrière classique. Et après, il est allé étudier, il a joué avec les Lions de Champlain-Saint-Lawrence. Et il a joué 3 ans là-bas, mais c'est un détour incroyable parce que c'est une ligue absolument pas connue. Il se ramasse là, joue là 3 ans, avait été repêché en 12e rang.
C'est parce que ça lui permettait d'étudier dans quelque chose qui lui permet d'avoir un avenir si jamais le hockey marche pas.
Oui, absolument, parce que visiblement, les études sont très importantes pour William Pelletier. J'ai pas réussi à trouver le programme d'études dans lequel il étudiait, mais il a étudié pour Champlain-Saint-Lawrence 3 ans. Et par la suite, il est allé dans la NCAA à l'Université Norwich pendant 4 ans. Donc, le gars, là, il a joué 7 ans dans les ligues obscures. Et là, aujourd'hui, il est âgé de 26 ans et se ramasse dans la Ligue américaine de hockey, dans le club école du Canadien de Montréal. Et il est originaire de Saint-Jean-Chrysostome sur la Rive-Sud. Ce gars-là, là, a pris le détour le plus grand qu'on connaisse dans le hockey moderne, mais pourtant, il s'est rendu là.
Il a pris le détour pour quelqu'un qui voudrait vivre du hockey. OK?
Oui.
Sauf que si ça lui a permis de garnir son carquois de flèches dont il va se servir quand il aura 30, 40 et 50 ans, il a pris un beau détour pour construire un homme. Le but du hockey, c'est de construire un homme, c'est pas de construire un... Tu sais, quand les jeunes jouent au hockey, tu sais pas s'ils vont devenir multimillionnaires du hockey ou pas. Alors, l'idée, c'est de construire un homme. C'est un peu ce que montrait la série, hélas, qui n'aura pas de suite, là, Demain des hommes.
Oh, oui. C'était bon.
Je comprends pas pourquoi cette série-là n'a pas de suite.
Aucune idée. C'est comme le nouveau lancé-compte, en fait. Là.
Exact.
Je pense que les gens n'étaient juste pas au courant. Il n'y a pas eu assez de promotion par rapport à cette émission-là. Parce que c'était excellent. Quel comédien, quelle histoire, tout allait.
Ouais.
Ça rejoignait combien de personnes? Combien de personnes là vont commencer à aller dans les arénas à chaque fin de semaine, aller geler sur un banc, les parents qui vont se mettre à crier, les enfants qui trippent parce que le hockey recommence? Et je comprends pas.
Il faut juste pas oublier qu'on construit des hommes. On construit pas des joueurs de hockey.
Demain,
j'ai un ami qui a investi une fortune parce que son fils, gardien de but, c'est le pire poste pour un parent. Là.
Okay,
il joue un match sur deux, il doit être là pareil. Puis en plus, ça coûte une fortune d'équipement. Lui, il a investi une fortune pour que son fils puisse jouer. Puis il s'est rendu jusqu'à la Ligue de hockey junior majeur de justesse. Là. Il a jamais vraiment joué dans la Ligue de hockey junior majeur. Mais quand par exemple, les Sags avaient besoin d'un gardien de but supplémentaire, c'est lui qui y allait.
Okay.
Le résultat, c'est qu'il a fabriqué un homme d'une discipline parfaite.
C'est sûr.
Capable de sacrifice, capable d'investir
d'atteindre
pour l'avenir.
D'atteindre
ses buts, de courir après ses rêves, mais d'être réaliste aussi en même temps. Puis il m'avait dit, moi là, c'est pas dans le hockey que j'investis, c'est dans mon fils.
Que c'est beau.
Mm.
Hey, c'est vraiment beau ce Myriam.
C'est beau,
je suis certaine que c'est pas le seul.
C'est pas moi, salutations à Richard si jamais il nous entend.
On salue.
Il est 7h46. Tu parlais d'études postsecondaires.
Ben oui.
J'ai une paire de billets à vous accorder pour le match du
22 septembre.
Du 22 septembre du Rouge et Or ici. À l'Université Laval. Oui. Et la question à laquelle vous allez répondre par téléphone, OK, parce que hier, je l'ai fait par 25226.
Pas trop, mais allons-y par
téléphone. 670-9330, tu vas prendre les appels, Alexis. La question, c'est dans quelle discipline étudie Samuel Chénard, l'actuelle carrière du Rouge et Or? Il étudie à l'université en quoi? Et je trouve que la discipline dans laquelle il étudie démontre qu'il n'a pas peur des gros défis. Puis je te laisse ramasser la réponse. On donnera la réponse après la pause.
C'est bon.
670-9330. Que Québec se lève. Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93. Doc Mailloux et José Arsenault.
On dirait que c'est plus valoriser quelqu'un qui choisit ses combats. Tu sais qui? Oh, regarde, on fera pas de troubles, là. On va laisser passer ça. Puis on va passer à d'autres choses. Mais ceux qui se tiennent debout, qui brassent un peu là, pour obtenir, entre guillemets, justice, on dirait que c'est comme plus mal vu.
Oui, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre.
Doc Mailloux et José.
Lundi au vendredi, dès 9h30.
Au FM 93.
Tu veux une Corolla? Peu importe où tu la prendras, ça restera une Corolla. Même chose pour les enfants. Peu importe l'enfant, ils ont tous besoin de bouger. En septembre, chez Charlebourg Toyota, on recueille tous vos équipements sportifs qui ne servent plus. Ils seront remis au pivot pour redonner aux familles dans le besoin. Participez à la collecte d'équipements de Charlebourg Toyota et vous pourriez gagner 1 000 $ chez Sport Expert.
On veut faire une différence, Charlebourg Toyota.
Ici Stéphane Bellavance. Mardi, moi je mange. Bon, je mangeais déjà avant et je cuisinais aussi pour ma famille, mais là, moi et Télé-Québec, on a pensé à vous. Je vais animer une nouvelle émission où on découvre des aliments d'ici, des astuces culinaires et comment réduire son empreinte écologique. Connaissez-vous Looney, Florence Léa Siri, Bernard Lavallée, Simon Deslauriers? C'est une gang de nouveaux et c'est eux qui vont vous inspirer. Avec eux, moi je mange. C'est tout nouveau et c'est mardi 19h30 à Télé-Québec.
La voix. Les plus grands hits. La tournée. L'attente est terminée. Céline Dion. La tournée mondiale Courage. Ce mercredi, vendredi et samedi au Centre Vidéotron. Billets sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Céline Dion. Ce mercredi, vendredi et samedi.
Hey la gang, Normandin fête ses 50 ans, puis le FM 93 fête ses 40 ans.
Hey, on devrait fêter ça en même temps. Bonne idée, mais qui invite qui?
Hein, c'est une joke?
Ben oui, c'est une joke. On fête ça chez Normandin, c'est sûr. Et on fête ça en grand avec 50 auditeurs. Sur FM93.com, parlez-nous d'un de vos souvenirs qui est relié à Normandin. 50 chanceux gagneront leur place pour ce super brunch chez Normandin en compagnie de l'équipe de Bouchard en parle. Bonne fête, Normandin, et le FM 93.
Québec Natation offre des cours pour tout le monde, même ceux qui ont peur de l'eau. Des cours de toutes sortes pour tous les niveaux, de 6 mois à 93 ans. Il y a sûrement un Québec Natation près de chez vous. Début des cours le 20 septembre. Et ils engagent 687-4045-québecnatation.com.
Maison Adam.
C'est la rentrée télé chez Maison Adam. José vous offre la barre de son Dolby Atmos avec un son de basse de LG à seulement 999 $ avec 400 $ de rabais. Et vous avez jusqu'à 36 mois sans intérêt pour payer. Pour vous aider à faire le meilleur choix adapté à vos besoins, passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier et consultez les choix de José sur maisonadam.ca.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Tu travailles sur la construction, tu mérites une botte ajustée à ton pied. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com.
Myriam Segal,
Alexis Sanson
et Pascal Cévé réveillent les gens de Québec. Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève, au FM 93.
Pascal, j'aime beaucoup travailler avec toi, mais j'ai adoré également travailler avec Jeff Blanchette.
Ben, j'espère.
Qui est un homme capable de nous dénicher toutes sortes de trucs. Il m'a donné un truc dans la vie que je ne connaissais pas, qui s'appelle Pocket.
Un site web?
C'est une espèce d'application, mais qui fait pour l'ordinateur.
Il y a juste lui pour trouver ça.
Ouais. Et c'est quand tu tombes sur un article intéressant,
ouais.
Tu cliques sur l'icône, une fois que tu as installé Pocket, tu cliques sur l'icône Pocket et ton article s'en va s'installer dans Pocket et tu peux lire ça quand tu veux.
Okay.
Alors, j'ai Pocket dans ma tablette, dans mon téléphone et dans mon ordinateur. Quelle que soit la plateforme sur laquelle je vois quelque chose, par exemple, je suis sur...
L'ordi,
puis je suis sur le web, puis je dis, voilà un article intéressant, zut, j'ai pas le temps de le lire, je le mets dans Pocket. Puis plus tard, quand je suis dans l'autobus, par exemple, en train de faire une run interminable, je peux aller lire mon article.
Ah, fait que t'as pas besoin de laisser 150 000 pages web ouvertes sur ton cellulaire puis te l'envoyer par Facebook ou... Okay.
Le mystère, c'est que Jeff Blanchette travaille quand même avec 150 000 pages web ouvertes. Mais le Pocket, c'est génial.
Wow! Bon,
alors, je voulais te... Et c'est grâce à Pocket que j'ai découvert un article fascinant qui m'a expliqué à quel point je suis manipulé par les menus de restaurant.
Sans le savoir, tu n'avais aucun doute.
Ben, qu'est-ce qui fait que quand vous arrivez à un comptoir, on va dire n'importe quoi, à la galette libanaise,
oui. Bon, à n'importe quoi, c'est super bon là-bas,
ou chez McDo, ou chez Tim Hortons, qu'est-ce qui fait que vous allez commander telle chose? Qu'est-ce qui fait que quand vous allez, je sais pas moi, au cochon dingue, vous allez commander telle chose? C'est quoi les stratégies des menus de restaurant? Première stratégie du menu de restaurant, on enlève le signe de pièce. Il n'y a pas de signe de pièce dans les menus.
Fait qu'on te met 12 et 50?
On te met 12 et 50. Pas de signe de pièce.
Puis même que souvent, ce que j'ai compris, c'est que le 50, il va prendre le bord. C'est 12.
C'est ça, 12. On te donne un chiffre. On te fait oublier que ce que tu dépenses, c'est de l'argent.
Ben là, on n'est pas assez stupide pour oublier ça.
C'est subliminal. C'est subliminal. On n'utilise pas dans les menus les signes de pièce.
Alors, ça aurait un effet sur notre cerveau.
Ça aurait un effet qui fait en sorte que on dépense un chiffre, mais non pas de l'argent.
Hey, c'est dans les détails. OK, continue.
Oh oui, oh oui, c'est intéressant. On limite les options. Ils ont calculé qu'un restaurant doit te donner au maximum 7 choix. 7 choix d'entrée, 7 choix de plats principaux, 7 choix de dessert.
Sinon, on devient anxieux, c'est anxiogène.
Sinon, c'est anxiogène. Or, autrefois, c'était très simple d'aller chez McDo avec des enfants. OK? Moi, je me rappelle.
Deux choix, bon. Trois choix.
T'avais... qui veut un Big Mac? Qui veut un McPoulet?
Et t'avais la pizza aussi. Puis, avant. Trois choix.
Le filet au fish, là, on n'en parlait même pas. Là,
non,
là,
personne ne prenait ça.
Bon, mais tu sais, c'était simple. Bon, puis là, j'avais trois Big Mac, quatre...
McPoulet,
là, souvent, parce que moi, j'ai juste trois enfants, mais il en prenait deux, là, en tout cas.
T'avais des gars aussi, là?
Oui, oui, non, c'était...
Ça, c'est fait mal au portefeuille.
Et puis McDonald's.
C'était des broyeurs à nourriture.
C'est sûr, c'est les poubelles quand t'as pas fini de manger.
Ben oui, mais c'est un classique, ça. Oui. Et McDonald's, là, ça a beau pas coûter cher. Là. Ben, en fait, avant fut un temps où ça coûtait moins cher, là. Mais tu t'en sors jamais en bas d'une bonne petite facture.
En fait, les psychologues qui conseillent les restaurants ont découvert que si tu donnes trop de choix aux clients...
Les psychologues qui conseillent? Okay. Ce sont pas des experts en marketing, on va plus loin. Là.
Si tu donnes trop de choix aux clients, tu induis une anxiété chez lui. Il devient stressé de devoir choisir.
Surtout si la serveuse, ça fait trois fois qu'elle vient te demander de vous avez-vous choisi.
Et il constate également que si tu donnes trop de choix au client, il va reprendre ce qui le sécurise, donc ce qu'il a déjà mangé.
Certainement.
Ben oui.
Certainement. Puis ça doit ralentir le service aussi, là. Si tu as 175 choix, tu sais pas quoi faire, le client regarde, l'autre en arrière n'a pas choisi.
Ce qui fait en sorte que quand je vais au cochon dingue, je prends toujours deux fois de veau. Bon.
Parce que tu sais que c'est une valeur sûre.
Oui, mais là, ça, je le connais. Effectivement, quand j'ai trop de choix devant moi, je me réfugie dans ce qui me sécurise.
Parce que tu sais que tu vas bien manger, tu l'as déjà fait.
Des bonnes vieilles pâtes, là, tu finis toujours avec ça quand tu sais pas quoi manger.
Donc, les restaurateurs avisés ne mettent pas trop de choix sur leur menu.
Ah, ouais.
Parce qu'ils vont induire une anxiété chez leurs clients, puis que leurs clients risquent de ne pas profiter de la variété du menu.
Il y a sûrement aussi le fait qu'ils veulent pas avoir trop de pertes. Là, on s'entend, c'est du homard au spaghetti gratiné, ouais, dans toutes les gammes.
Mais tu vois, dans l'article en question, on nous indique que, par exemple, chez McDo, on est rendu avec 140 choix.
Mais non,
140 choix.
Ouais. Hein? Au début, c'était simple. Puis là, maintenant, t'as 140 choix. Et plus ils compliquent les menus, plus leurs clients sont tourmentés. Leurs clients étant tourmentés sont fâchés contre eux, ça ralentit le service. En fait, en augmentant les choix, puis Tim Horton est en train de faire la même erreur. Avant ça, c'était simple, Tim Horton. Moi, je prenais mon...
sandwich salade de poulet, pain brun. Hein? Grillé? Non, pas grillé, madame. Non.
Un Tim matin sur muffin anglais avec saucisse.
Est-ce que quelqu'un qui a compris les combos trio de chez Tim Horton en 20 quelques années de vie, là, j'ai jamais été capable de comprendre.
Beigne ou soupe, là. Mais là, peut-être que c'est rendu beigne, soupe, salade César, salade du chef ou encore petite patate.
Mais la beigne, elle coûte 40 cents quand tu l'ajoutes, puis des fois, c'est 20, puis là, je comprends plus rien.
Retire tes paroles, t'as dit la beigne maintenant,
mais
Myriam.
C'est une beigne.
Le beigne.
C'est...
C'est un ou une beigne?
Je sais que c'est un beigne.
Il y en a un qui signifie un coup de poing. Le masculin. Je pense que le féminin signifie un coup de poing et le masculin signifie la pâtisserie ou l'inverse. Mais je ne me rappelle plus.
Je suis parfaitement conscient que je ne dois pas dire un beigne. Je dois dire un beigne à manger.
Je suis désolée,
je ne
peux plus parler du segment. Comme Myriam continue. Okay, oui, une beigne, c'est la baffe.
C'est la baffe, hein, une beigne, c'est ça.
On t'a donné une beigne, tu vois. Okay.
Donc, c'est un beigne. Un beigne, c'est le
c'est ce qui est bon
le
à manger.
Le do-not.
Un beignet.
Le do-not.
Je pense qu'il est accepté. En tout cas, je ne suis pas sûre.
Quand le belge kick fort, hein, Myriam, un do-not.
Un do-not. Mais en France, tu parles des do-not.
Oui, c'est pour ça que je dis quand la Belgique revient vite.
OK, autre stratégie des menus de restaurant. Ils mettent un plat plus cher en haut de page. Alors, par exemple, tu as tes choix de plats principaux et le plat le plus cher est en haut de page. Si bien que tous les autres te semblent pas chers.
Ah, c'est un item sacrificiel.
Exact.
Il l'envoie là, puis personne ne va le prendre, mais tout va avoir l'air moins cher.
Le tartare de double saumon, à 35 $, il va être en haut de page. Si bien que quand tu vas tomber sur le tartare de simple saumon à 30 $, tu vas dire c'est donc ben pas cher.
Ah, ça va être mon choix, c'est beaucoup moins cher, puis je mange du tartare quand même. Ah, mon Dieu, OK. Fait que ça part toujours plus cher. Mais c'est pas tous les restaurants qui suivent cette dynamique-là.
Non.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réfléchi au côté marketing de leur menu.
Non. Et ils jouent avec les photos.
Ah, ben oui. Hey, moi, dans un nouveau menu, là, si je parle à quelque part, s'il n'y a pas de photos, je le prends pas.
Hein?
Non, quand je vais à une nouvelle place, je veux voir de quoi ça a l'air avant de commander.
Mais ils doivent mettre les plats plus chers aussi en photo. Parce que là, tu es tenté d'aller le prendre. Tu vois à quoi ça ressemble. Ça a l'air appétissant. C'est-tu dans leur stratégie, ça?
Oui, puis ils jouent avec les couleurs également. Le bleu est une couleur adoucissante. Mm-hmm. Donc, pour si tu es dans un restaurant relax, on va utiliser du bleu. Pour que on t'induise que c'est une couleur adoucissante. Souvent, on utilise le rouge ou le jaune dans les noms de restaurants, dans les logos de restaurants. Rouge Tim Hortons, jaune McDo. Parce que ça affecte ton humeur. En fait, ça correspond à une humeur.
Ben, il paraît que ça stimule. Je sais, j'ai une chambre jaune quand j'étais jeune, puis il paraît que ça stimule l'imagination, ça stimule. Puis mes parents avaient regardé justement ce que ça faisait.
Alors, ça stimule l'appétit, le rouge.
Oh.
Donc, tu rentres chez Tim Hortons, puis t'as plus faim parce que leur logo est en rouge.
Mais okay? Tu t'en rends pas compte.
Et le jaune attire l'attention.
Aha.
Donc, tu la vois de loin, l'arche McDo. Comprends-tu?
Le gros ouais. M.
C'est, en fait, il y a toutes sortes de stratégies comme ça.
Est-ce que tu connais la stratégie des odeurs? Plusieurs restaurants, surtout le fast-food, renvoient l'odeur à l'extérieur. Vraiment, ils la poussent là, avec les conduits. Pas parce que c'est mieux pour les conduits de ventilation. Pour que les clients sentent à la ronde l'odeur de ce que tu proposes dans ton restaurant et soient alléchés, t'sais, qu'ils aient envie d'aller en manger.
Tu sais, l'autre stratégie intéressante là-dedans, c'est l'utilisation d'un langage raffiné quand on parle de restaurant haut de gamme. Okay? Là, on t'écrit, par exemple, tu vas dans un restaurant, tu commandes un burger à la thaïlandaise.
Okay.
Bon. Et là, on te met toute la liste des ingrédients du burger à la thaïlandaise.
Chou frisé, okay? Pas comme les autres.
Plus tu en mets, plus le client a l'impression que ça coûte pas cher pour tout ce qu'il y a.
Oh. Hey, c'est pas fou, ça.
Donc, ton chou mauve, là, ça sera pas du chou rouge ou du chou mauve, ça va être un chou quelque peu dans les teintes de rouge, ouais. Agréablement viré sur
avec
mauve.
Son confit d'oignon, etc.
Caramélisé dans la poêle.
Et ils essayent de te rendre nostalgique. Ils essayent de te donner des souvenirs d'enfance. Souvent, il va y avoir dans le décor quelque chose qui te rappelle ton enfance, ta jeunesse, et donc te rendre confortable. Quand on est dans l'enfance, on est, sauf certaines exceptions, là, on est dans le confort. Quelqu'un prend soin de nous.
Dans l'insouciance de la vie, que j'appelle.
Oui, on a l'impression que c'est facile de vivre.
Mais tout le monde s'occupe de ce qu'on a besoin.
Tout le monde veille à tes besoins.
Oui.
Donc, on met dans le décor des choses un peu nostalgiques.
Comme quoi?
Ben, des photos en noir et blanc, en ce qui me concerne, parce que moi, mon enfance est en noir et blanc.
Ça peut être la salle de jeu, aussi simple que ça?
Ça peut être une salle de jeu, ça peut être un décor un petit peu vieillot. L'idée, c'est de te dire, ah oui, ma mère avait ça, un tableau de même chez eux. Tu comprends? Mm. Puis ouf! On te ramène dans ton enfance.
Mm.
Honnêtement, là, il y a dans cet article 8 façons dont les restaurants vous manipulent pour vous faire consommer ce qu'ils voudraient que vous consommiez.
Mais là, je sais pas s'ils vont être en maudit ce matin qu'on révèle un peu leur stratégie, quoi qu'en même temps, ça affecte quoi. On va quand même être face à leur stratégie dans les prochaines visites au restaurant, là.
Il y a des gens qui disent « Cora est une manigance. Arrêtez, c'est bon chez Cora, là. Bon. »
Serge qui nous écrit « Attention aux photos, c'est souvent présentateur de ce qu'il y a dans ton assiette. » C'est vrai, pareil, là.
Ouais.
Ça arrive pas toujours beau comme ça.
Mais c'est moins, ouais. L'idée, c'est que la photo va te dire « Ah oui. » Vu que t'es insécurisé par la liste des choix, la photo te dit « Ok, ça, je suis sûr. » Ça, je suis sûr de ça.
Hmm.
Et tu vois, ça simplifie les choses.
T'as pas de surprise.
Il y a quelqu'un qui me prend pour une sotte là, au 25-2-6 qui dit « L'odeur à l'extérieur, ça s'appelle un hot de cuisine. » Non, non, je vous le jure. Écoutez les documentaires sur McDo, tout ça a été pensé.
Ben, Subway.
Ils ont des renvois extérieurs. Ben, c'est ça.
Subway. Hey, tu passes à côté d'un Subway, t'as l'impression que t'es dans la cuisine en arrière.
Ouais.
Puis tu passes sur le trottoir en avant.
Alors, pas de jugement, s'il vous
plaît. Alors qu'en réalité, chez Subway, étant donné qu'ils mettent ça dans des fours bien fermés, là, il devrait même pas y avoir de.
Ben, c'est
d'odeur.
Ça. Excuse-moi, la salade, c'est pas supposé que ça sente à trois quartiers de rue à côté.
Il y a quelqu'un qui me demande comment on écrit le fameux le pocket. P-O-C-K-E-T. Tout simplement, comme une poche.
En anglais.
C'est comme si vous mettiez les articles que vous n'avez pas le temps de lire, vous les mettez dans votre poche. Puis vous les ressortez quand ça vous tente.
C'est vrai.
Il est 8h03.
La planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Myriam Segal, Pascal CV et Alexis Sanson.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
Pascal, aux nouvelles.
Oui, affaire classée, Myriam, la communauté musulmane de Québec aura finalement son cimetière. Boufeldja Ben Abdallah, cofondateur et président du Centre culturel islamique de Québec, a confirmé la nouvelle hier. Il a indiqué avoir reçu jeudi l'autorisation du ministère de l'Environnement quant à l'utilisation d'un terrain vendu par la Ville de Québec en 2017. Il ne reste plus qu'à signer les papiers d'achat avec la Ville, ce qui pourrait être fait dès cette semaine. Les jours sont difficiles pour les proches des victimes de l'écrasement d'avion d'Air Saguenay au Labrador. Le Journal de Québec écrit que le président de l'entreprise s'est rendu vendredi sur les lieux de l'écrasement afin d'y planter une croix en hommage aux défunts. Les corps des trois hommes disparus et la carcasse de l'appareil n'ont jamais été retrouvés, ce qui empêche la tenue d'une enquête. La GRC avait annoncé la fin des recherches à la mi-août suite à cet accident du 15 juillet dernier, accident ayant fait 7 morts.
Et si on n'est pas capable de récupérer la carcasse de l'avion? Accessoirement, ça fait en sorte aussi que toute poursuite devient difficile.
Effectivement, effectivement. Et finalement, à Hong Kong, ça bouge encore beaucoup. Il y a des manifestants pro-démocratie qui se sont rassemblés aux abords du consulat du Royaume-Uni en ce moment pour demander à Londres d'intervenir dans le conflit qui les oppose à Pékin. Il y a plusieurs habitants de l'ancienne colonie britannique qui souhaitent désormais obtenir la nationalité britannique ou d'un autre pays du Commonwealth. Sur les vidéos diffusées en direct par l'agence de presse Reuters, on y voit les forces de l'ordre faire usage de canons à eau pour disperser les foules.
Dans le monde du sport, ça va pas très bien pour nos équipes locales. Le Rouge et Or de l'Université Laval, d'abord, a subi une première défaite depuis la Coupe Vanier 2017 hier, après une défaite face au Carabin. Montréal a eu le dessus 23-18 à grand sans un toucher au début du quatrième quart, qui met ainsi fin à une série de 5 défaites des Carabins consécutives face à Québec. Le quart du Rouge et Or, Samuel Chénard, a été talonné toute la soirée. Il a été victime de 3 interceptions et 3 sacs du quart. Toujours dans le monde du football, dans la Ligue canadienne, un botté de placement dans les dernières minutes de jeu a permis aux Rough Riders de la Saskatchewan de vaincre les Alouettes de Montréal 27-25 hier. Les Alouettes, qui occupent le deuxième rang de la section de l'Est, vont disputer leur prochain match samedi face aux Blue Bombers de Winnipeg. Et toujours dans le monde du football, malgré les accusations de viol qui pèsent contre lui, Antonio Brown pourrait être en uniforme pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cet après-midi pour affronter les Dolphins de Miami. Son nom n'a pas été inscrit sur la liste d'exemption du commissaire puisque les accusations sont au civil et non au criminel. Rien n'empêche donc Brown de jouer. Il a fait le voyage avec l'équipe, ce qui laisse croire qu'il sera du match. Et en terminant, pour ceux qui se demandaient, ouais, l'Impact aussi a perdu 1-0 face au FC Cincinnati, ce qui réduit pas mal ses chances de faire les séries.
Le ciel a l'air de vouloir se dégager, mais de notre perchoir ici, en haut à Saint-Sacrement, au nord complètement, il y a une ligne noire de nuages. Au-dessus de cette ligne noire de nuages, il y a une ligne bleue, 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 bleue.
On dirait un gâteau.
Et au-dessus de cette ligne bleue, 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 il y a une ligne grise de nuages. Donc, le ciel, le soleil a l'air de vouloir tasser les nuages. Au nord, soyez patients, ça s'en vient pour vous autres aussi. Mais visiblement, le soleil a l'air de se pointer. AccuWeather avait donc raison. On en avait pour 26 minutes de pluie encore, puis... ça va aller mieux par la suite. Peut-être une autre petite averse aux alentours de 13 heures, mais en règle générale aujourd'hui, ça va être une alternance de soleil et de nuages, un maximum de 19 degrés, même s'il ne fait que 13 degrés pour l'instant. Demain, alternance de soleil et de nuages encore, un maximum de 18. Et mardi, mercredi, jeudi... oh, je vais m'arrêter à jeudi. Vendredi aussi.
Mais ça peut encore changer, c'est ça la fin.
Du soleil, ouais, oui, oui. Rendu à 3 jours, il tire rapide ou face pour savoir ce qu'ils vont me dire. Non, 8 heures.
Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là.
Le retour d'Éric Duhaime avec Éric Duhaime et Marc Bolard.
Ils se divisent, les libéraux passent. Fait qu'il va falloir qu'il y ait un cri de ralliement autant pour le Bloc que les conservateurs. Ça me surprendrait pas qu'à la fin de la campagne, ça finisse en disant un vote pour le Bloc, c'est un vote pour Trudeau. Ben, votez pour les conservateurs, parce que sinon, vous allez faire...
Je m'en allais là, je te trouvais intéressant une fois. Là. Je trouve que c'est... non, j'ai dit intéressant.
Éric Duhaime et Marc Bolard dans le retour. Lundi au vendredi, 14h au FM 93. Ça me parle.
Maison Adam.
C'est la rentrée télé chez Maison Adam. José vous offre le téléviseur Dell 55 pouces 4K XBR de Sony à seulement 1 524 $ avec 400 $ de rabais. Et vous avez jusqu'à 36 mois sans intérêt pour payer. Pour vous aider à faire le meilleur choix adapté à vos besoins, passez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier et consultez les choix de José sur maisonadam.ca.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Le projet sportif de la Fondation du Sud-Québec concernant la recherche sur les commotions cérébrales se poursuit.
La population est invitée au cocktail mini-conférence du 16 septembre prochain à la Cage Le Bonneuf, mettant en vedette Audrey Robuchon, nouvelle tête d'affiche en ski acrobatique, et le docteur Nicolas Dupré, médecin-chercheur. Ce sera une occasion unique d'en apprendre plus sur la recherche et de s'entretenir avec le chercheur. Bien au coût de 30 $, incluant consommation et bouchée. Inscrivez-vous maintenant, projetsportif.org.
Chez Kia Lévis, la chasse aux bonnies est ouverte. Ce mois-ci, le meilleur concessionnaire Kia au Canada vous offre un taux de financement à l'achat sur modèle sélectionné à 0% jusqu'à 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. Et grande nouvelle, le nouveau Sportage 2020 vient tout juste d'arriver chez Kia Lévis. Passez vite en faire l'essai et attrapez un boni de 1 000 $.
Le nouveau Kia Lévis.
Nous vivons nos plus beaux moments, mais dans la mai. Laissez-nous vous tendre la nôtre. Le 22 septembre, venez à la journée porte ouverte et découvrez ce que la vie en résidence peut vous offrir. Chartwell, résidence pour retraités. Bien vivre ensemble. Chartwell.com.
Les 27 et 28 septembre, c'est le week-end d'ouverture de Nos Remparts, présenté par Budweiser et La Cage, brasserie sportive. Party le vendredi soir dès 17h et tailgate pour toute la famille le samedi dès 13h. Puis en promotion au rempart.ca. Soyez des nôtres pour le retour de notre équipe dès le 27 septembre.
Le 15 septembre 1979, CJMF-FM entre en onde. Plusieurs styles de radio se sont succédés, plusieurs personnalités. Une chose demeure inchangée, vous, FM 93. 40 ans de radio au cœur de Québec. FM 93 fait parler Québec depuis 40 ans.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Des pieds fatigués, ils en ont vu en 40 ans. Profitez de cette expérience. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Le matin, Québec se réveille avec Myriam Segal,
Alexis Sanson
et Pascal CV.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
FM 93.
Il a l'air bien fin comme ça, mais c'est une façade. La mission d'Alexis.
La mission d'Alexis était d'aller rencontrer. On a connu pire, hein, Alexis?
Oh oui, j'ai connu pire. Mais j'ai pas réussi ma mission complètement. Parce qu'il faut dire que l'origine de ma mission, c'était de l'amener en studio.
OK, Félix Auger à Liassim et de oui. passage à Québec.
Voilà.
Mais tu sais bien que tout le monde veut le voir, là.
Oui.
Tout le monde
oui.
veut y parler.
Oui. Et il y avait pas mal de demandes. Et parce qu'il était du côté du Club Avantage hier pour aller donner une clinique de tennis. Et là, quand j'ai su ça, je me suis dit, on va essayer de l'amener en studio, mais j'ai su que j'étais pas le seul à essayer de faire ça. Mais finalement, on a dit, bon, ben comme il y a pas mal de demandes, on va organiser une rencontre avec la presse au Club Avantage après la clinique avec les jeunes.
OK. Donc, tu es allé le rencontrer avec d'autres journalistes.
Oui.
Est-ce que t'as eu l'impression, parce que le danger des succès, parce qu'il a eu du succès, le danger, c'est que la tête le renfle puis passe plus dans les portes.
Moi, c'est exactement ce que je voulais savoir. En fait, moi, plus pointu que ça, je voulais savoir comment Félix Auger-Aliassime composait avec toute cette envergure-là, toute l'ampleur du mouvement qu'il a pris autour de Félix Auger-Aliassime. Et hier, avant qu'on puisse lui parler, avant que les journalistes puissent parler avec Félix Auger-Aliassime, il a répondu aux questions du public. Et entre le moment où le micro s'est promené, un moment donné, le père de Félix Auger-Aliassime, Sam Aliassime, qui est maintenant lui qui dirige l'Académie de tennis Irisset-Bordelot, il a pris le micro et il dit, je veux juste rajouter quelque chose. Il dit, je veux parler de l'importance de jouer au tennis. Et là, il m'a devancé parce que c'était exactement là-dessus que je voulais amener Félix Auger-Aliassime et son père. Et je vais vous faire entendre d'abord ce que Sam Aliassime, le papa de Félix, avait raconté au niveau de ce que l'entraîneur de Félix lui a mentionné quand il était plus jeune sur l'importance de jouer au tennis. Et par la suite, je suis allé questionner Félix à ce sujet-là.
Cette façon de voir les choses, amusez-vous, c'est ça qui est très important, ça qui peut nous amener, parce qu'après tout, le tennis, ça reste un jeu. Ça reste un jeu où le plaisir de jouer, il faut qu'il soit là. C'est avec ça qu'on peut obtenir des résultats. On peut en même temps être sérieux, mais ne pas se prendre trop sérieux.
Ton père parlait tantôt de l'importance de jouer au tennis.
Ouais.
Malgré la pression assez importante sur toi, ton rang mondial et tout ça, est-ce que tu joues encore au tennis aujourd'hui?
Oui, je joue. Après, ça devient un peu différent avec la charge de travail. Ça devient un peu plus... Évidemment, ça se rapproche plus d'un travail que du jeu en tant que tel.
Après, je pense qu'on peut prendre plaisir dans notre travail, comme tout le monde, j'espère, font. Mais moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer, à m'entraîner, à trouver des solutions, des fois, aux problèmes qu'on rencontre. C'est des choses qui sont bien au tennis. Comme on a vu, l'adversité est forte. Donc, j'arrive à l'US Open, je pars au premier tour. Bon, ben, faut qu'on se rassure avec mes entraîneurs, faut qu'on trouve des solutions. Puis c'est challengeant. Donc, ça, c'est des choses qui sont très positives aussi. Mais je pense qu'à la fin, je prends énormément de plaisir. Puis, c'est vraiment, ça reste un jeu aussi pour moi.
OK. Quand il parle du travail, il parle de dealer avec les médias, les commanditaires, etc.?
Ben, ça, notamment, et le fait qu'à un moment donné, c'est un sport pour lui, mais il faut qu'il aille plus loin. T'sais, c'est toujours l'amener plus loin. Actuellement, il est 21e mondial, Félix Auger-Aliassime. Là, il dit, peut-être d'ici la fin de la saison, je suis capable d'arriver dans le top 20. Déjà, c'est un accomplissement. Donc, oui, c'est de jouer, mais il reste malgré tout qu'il y a des objectifs à travers tout ça pour Félix Auger-Aliassime. Il faut qu'il réussisse à passer à travers. Et là, d'ailleurs, il s'est offert une petite pause. Félix Auger-Aliassime, il n'était pas du côté de Genève, c'est la Coupe Laver. Il a préféré prendre une pause parce que il disait qu'après le US Open, là, il était pas mal épuisé, notamment mentalement.
Et là, il s'est fait sortir par Chapovalov. Il est tanné d'être opposé tout le temps à ses chums. Parce qu'on dirait que les deux, trois derniers tournois, là, systématiquement, ils ont mis les Canadiens l'un contre l'autre en première ronde.
C'est vrai.
Ça fait que là, ça, c'est même tannant pour les partisans parce que t'as envie de croire en la jeunesse, t'as envie de prendre pour la jeunesse, puis finalement, ben, t'es divisé parce que t'as aussi quelqu'un qui a été excellent dans les dernières années, qui reste une figure, ben, dont on est très fier au Canada.
Tu sais, quand il doit battre Chapovalov à première manche, ça veut dire qu'on perd un des jeunes en première manche.
Ben oui.
C'est moins le fun.
Hier, Félix Auger-Aliassime, qui est originaire de l'ancienne Lorette, il était là parce qu'il voulait aller redonner aux jeunes. Il donnait une clinique entre 10h et 11h30. Puis il a pu jouer avec les jeunes, leur donner des conseils. Et je lui demandais à Félix, est-ce que à l'époque où il était jeune, qu'il jouait au club Avantage, parce que je me dis, j'aurais pu le croiser sur le terrain municipal à l'ancienne Lorette, Félix Auger-Aliassime, là. Il était peut-être en train de jouer une game de tennis, là, si j'avais grandi pas loin de chez eux, là, je l'aurais peut-être croisé là. Puis je lui demandais si, déjà à cet âge-là, quand il avait 6, 7, 8 ans, il était déjà convaincu qu'il allait devenir un pro du tennis dès cet âge-là.
Je voulais y croire, que j'étais convaincu. Par contre, j'ai jamais eu de garantie ou de conviction. Je pense que par contre, ce que j'étais convaincu, c'était que c'est ça que je voulais faire. Je me suis dit, peu importe ce qui arrive, je vais m'entraîner le mieux que je peux. Je vais tout donner. Je vais faire ce que j'ai à faire parce que c'est vraiment ça que je veux faire, parce que je suis convaincu que je vais être un joueur professionnel. Puis j'y ai cru jusqu'à temps que j'arrive où j'en suis aujourd'hui. Puis la route n'est pas finie non plus, mais c'est sûr que j'ai jamais été convaincu que j'allais y arriver, mais toujours convaincu que c'est ce que je voulais faire.
Et à partir de ce moment-là, ben, je me dis, écoute, t'es là, tu donnes des conseils aux jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que t'aurais aimé savoir? Qu'est-ce que le Félix Auger-Aliassime aurait aimé savoir à 8 ans pour éviter de perdre un peu de temps dans sa carrière?
C'est vrai que c'est une bonne question. Je me pose souvent cette question-là. Qu'est-ce que je dirais, tu sais, à des jeunes pour peut-être pour qu'ils vivent des choses plus facilement que moi je les ai vécues, ou même si moi ça a très bien été, mais je pense que je leur répéterais qu'il faut être patient, que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Quand t'es jeune, t'es dans l'action. Tu veux que les choses se passent immédiatement, tu veux un résultat immédiat, mais je pense que je leur répéterai encore une fois d'être patient puis de croire en leur travail, parce que ça va les amener où ils veulent aller un jour, où ça va leur donner les meilleures chances d'y arriver. Mais moi, j'étais un peu, parfois j'étais un peu impatient, je voulais le résultat immédiat, donc je pense que je leur dirais ça.
Dire à un jeune d'être patient, c'est comme rien dire. Là.
Non.
C'est comme rien dire.
On peut l'avoir en tête, mais ça ne changera pas grand-chose dans nos actions. Mais est-ce qu'il
comme
est bon?
Disait un de mes frères, tout ce que tu dis à un ado, il le met à la poubelle.
Non,
mais attends un peu. Je vais compléter sa phrase, mais il ne met jamais la poubelle au chemin.
Ah, OK, c'est bon. J'allais dire sinon, il le met au grenier parce qu'on le ressort à un moment donné.
C'est vrai.
Il ne met jamais la poubelle au chemin.
Non, exactement. Est-ce qu'il est bon avec les jeunes? Est-ce qu'il était bon dans l'approche? Y a-t-il été généreux? C'est sûr que juste d'être là, c'est généreux, mais comment il est?
Gêné, timide, Félix Auger-Aliassime. Et hier, on lui demandait s'il avait pu jaser un petit peu avec les jeunes. Il dit oui, un peu, mais il dit les jeunes, tu sais, sont un peu gênés, ils osent pas trop non plus. Et Félix Auger-Aliassime, c'est quelqu'un de malgré tout très, très réservé, hein. Donc, il était là hier, était généreux de son temps, mais c'est pas la personne la plus volubile. C'est pas celui qui allait arriver. C'est pas un Piqué Souban, là. Ouais. Tu sais, c'est pas lui qui va arriver avec les jeunes, puis parce qu'on en parlait tantôt de Piqué, puis aller voir, hey, viens-t'en. Mais, il était là, puis je pense que pour un jeune qui joue au tennis, c'est quelque chose là, de le voir.
Et c'était drôle, à TV hier, il y avait une espèce de McEnroe Junior qui disait « Je l'ai battu, moi, Félix Auger-Aliassime, parce qu'il a réussi à faire un point contre lui en lui envoyant une balle complètement hors de son...
sa portée.
De sa portée.
Oh, mais c'est mignon, ça.
Oui, je trouve ça mignon.
Ben oui. Mais oui.
Mais tu sais, je te dis, le futur McEnroe, là, tu sais.
Ouais. Et Félix, hier... c'était spécial, là, parce que là, il se ramasse chez lui. Mais tu sais, c'est comme un moment de relâchement. Parce que là, la pression est moins présente. Parce qu'on lui demandait aussi sa carrière internationale. Comment est-ce qu'il réussit à composer avec ça? Parce que c'est pas mal de pression. Puis est-ce qu'il finit par s'enfler la tête? Puis comment il compose avec l'ampleur que sa carrière a prise?
Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Évidemment, les bases de fait de rester la même personne, de continuer à faire ce que je faisais bien, de continuer à faire mon chemin tranquillement, ça aide. Évidemment, il y en a justement par rapport, oui, comme vous avez dit, à la pression médiatique. C'est sûr que c'est des discussions que j'ai avec mes entraîneurs, avec ma psychologue sportive. C'est des conversations que j'ai, évidemment, pour apprendre à être un peu... avoir une étanchéité par rapport à la pression que certaines personnes de l'extérieur vont mettre ou certains commentaires que, des fois... certains gens vont dire ou certains fans, je sais pas, mais il faut que j'apprenne aussi à pas trop m'exposer à ça puis à continuer à faire mon chemin tranquillement.
Il y a une chose aussi dans le monde du tennis que je trouve intéressante parce qu'on a eu la discussion aussi, Myriam, récemment, à savoir que c'était quand même impressionnant de voir que c'était les Andreescu et les Félix Auger-Aliassime qui ont pris la pole du tennis canadien alors qu'on attendait davantage des Milos Raonic et des Eugénie Bouchard qui étaient plus jeunes. Je demandais à Félix comment est-ce que lui expliquait le fait que le tennis, notamment canadien, semble appartenir, puis le tennis en général appartient de plus en plus aux jeunes.
Ouais, d'un côté, il y a beaucoup de jeunes comme moi, puis Bianca, puis d'autres même à l'intention qui jouent bien. Après, du côté masculin, il y a encore les Djokovic, les Nadal qui sécurisent presque tous les gros tournois. On a vu les deux, Djokovic et Nadal, gagner les quatre grands chelems cette année à eux deux. Donc c'est difficile pour nous de percer tant qu'ils jouent encore à ce niveau-là. On travaille dessus. Mais c'est sûr que c'est bien. On a vu Milos et Eugénie qui ont fait des finales, qui sont passés pas loin. Mais je pense que là, avec Bianca qui vient de faire un exploit comme ça, je pense que pour des joueurs comme moi, Denis, puis même d'autres après, on y croit beaucoup plus qu'on y croyait avant.
Okay.
Mais c'est pas nouveau que les jeunes rayonnent au tennis, non?
Non, mais tu sais, on attendait beaucoup de Raonic qui a été ralenti par des blessures.
Ouais.
On attendait beaucoup d'Eugénie Bouchard qui a été ralenti par les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça.
Bon. Puis, tu sais, il y a eu, avant ça, il y a eu Alexandra Wozniak.
Oui.
Qui a été,
qui a elle été aussi bonne.
Oui, mais qui a été blessée. Oui. Est montée jusqu'à 34e, voici.
Ah, je me souviens pas exactement le rang, par contre, mais montée...
Fait que, on n'avait pas dans notre... La première fois qu'on a entendu parler de Chapovalov, c'était quand? Rappelez-vous, c'est quand il a tiré une balle à un arbitre.
Oui, c'est vrai.
Il a attiré l'attention.
Puis on a dit, c'est qui ce maudit fou-là? Finalement, c'est pas un maudit fou, c'est un jeune qui...
Un peu
qui
le pousse,
mais ouais. Peut-être...
la frustration...
Et Félix a parlé de trois joueurs. Il a parlé des Nadal, des Djokovic et des Federer. Est-ce qu'il pense qu'il va être capable d'atteindre ce niveau-là éventuellement?
Je me dis, si on l'avait demandé à mon âge, qu'est-ce qu'ils auraient dit, tu sais? Ils auraient dit, je vais gagner 20 grands chelems, je vais gagner 19 grands chelems. Je pense pas. Donc, je me dis, on va voir ce que le futur nous réserve. Moi, je vais essayer de faire les choses du mieux que je peux. Je vais essayer d'optimiser mon jeu du mieux que je peux, devenir le meilleur joueur que je peux. Si le meilleur joueur que je peux être, c'est plus que 10 grands chelems, je sais pas, ben tant mieux. Mais en même temps, en ce moment, je peux pas savoir. C'est sûr que ça paraît un peu loin et inatteignable le niveau qu'ils arrivent à jouer. Mais tranquillement, pas par pas, peut-être que j'arrive un jour.
Et je veux vous faire entendre en terminant Félix Auger-Aliassime qui a écrit à Bianca Andreescu pour la remercier à la suite de sa victoire. Et il a lancé une forme d'hommage à Bianca Andreescu. Puis je trouvais ça intéressant, les commentaires qu'il a émis.
C'est vrai que c'est inspirant. Puis je lui avais écrit un message pour la féliciter, mais aussi la remercier de l'inspiration qu'elle est. pour les jeunes, mais aussi pour des joueurs comme moi, même pour Shapovalov, même d'autres joueurs, de nous prouver à quel point c'est possible, parce qu'on a vraiment grandi avec elle, on a joué les tournois juniors avec elle, puis de la voir là, de voir gagner à ce niveau-là, c'est vraiment inspirant, même pour quelqu'un comme moi.
Vu qu'Andreescu gagne en jouant comme les hommes, est-ce que Félix Auger-Aliassime devrait apprendre à jouer comme une femme?
Ben, l'exception, c'est Andreescu qui a appris à jouer comme les hommes.
Oui, je le sais pas. Je suis pas sûr que c'est le même principe.
Non, c'est pas le même principe. C'est sûr que c'est pas le même principe. merci, Alexis. Tantôt, là, on a posé une question sur Samuel Chénard. J'ai oublié de donner la réponse.
Oui, ben écoute...
T'as eu un gagnant?
Oui, j'ai eu un gagnant qui s'appelle Richard. Et Richard avait la bonne réponse à l'effet que Samuel Chénard étudie un baccalauréat en enseignement au secondaire.
Enseignement secondaire. Hey, il s'en va dans la meute.
Oui, mais il va en éducation physique. En vrai, tous les joueurs, ils étudient en éducation physique.
C'est sûr qu'ils sont un modèle dans ce domaine-là, là. Mais enseignement secondaire, même en éducation physique, là. Le défi d'un enseignant au secondaire en éducation physique, c'est d'intéresser les nerds et d'intéresser les filles.
Malheureusement.
Les filles, c'est un des drames du secondaire, c'est que l'éducation aux adultes autrefois, c'était vraiment des adultes, des gens de 20 ans, 25 ans qui revenaient aux études pour compléter un diplôme secondaire. Aujourd'hui, l'éducation aux adultes, il y a beaucoup de jeunes du secondaire qui lâchent le secondaire pour échapper à certaines matières qu'ils détestent.
Oui.
Dont l'éducation physique.
Dont, pour les filles, l'éducation physique. Puis pour les gars...
Les arts plastiques.
Les arts plastiques, français. La science religieuse. Non, le français, ils n'y échappent pas. Ils n'échappent pas au français. Ils doivent faire français... ils doivent au moins faire français secondaire 3 et 4 s'ils veulent accéder à un programme... à un programme de...
DEP, notamment, oui.
Mais donc, le défi d'un enseignant au secondaire en éducation physique, c'est d'accrocher les nerds et d'accrocher les filles. Les faire rester au secondaire, malgré leur matière.
Il y en a qui réussissent. Moi, j'ai eu des super profs d'éducation physique. Sincèrement, là, qui réussissaient à nous faire aimer ça. Les seules choses qu'on détestait, c'était les maudits tests qui étaient établis justement par ceux en haut de l'éducateur. Là. Celui qui nous proposait les jeux de groupe, il rendait ça tellement plaisant puis tellement accessible à tous. Mm-hmm. Il nous poussait, c'était vraiment plaisant, mais toujours sans nous mettre de pression là, à être excellente. D'un autre côté, ben, c'était tout le temps les tests où tu devais prendre ton poids, où que tu devais courir plus vite que les gars, que tu devais sortir de ta zone de confort. Oui, c'est bien, mais il y a un moment donné où tu n'es pas capable d'y aller. Pourquoi tu ne me fais pas juste bouger?
Ouais.
Ça, j'ai jamais compris.
C'est ça. Il faut apprivoiser des sports, découvrir des sports. Oui. Moi, j'ai découvert comme ça au secondaire le badminton.
Ben oui.
Puis c'est resté mon sport jusqu'à il y a. En fait, depuis que je suis déménagé à Québec, que je joue plus au badminton.
Ah ouais.
C'était tellement créatif là, mon
gars. J'ai perdu ma gang.
Ah ouais.
Fait que là.
T'as arrêté?
J'ai arrêté de jouer au badminton. Puis en plus, mon fils m'a piqué mes raquettes.
Ah ben là,
ça c'est des problèmes familiaux, Myriam.
Ben là, c'est pas cher, les raquettes de badminton, là.
Ouais, ben, il devrait pas y piquer pareil.
J'avais de bonnes raquettes. Ça, c'est une des affaires au badminton que j'ai découvert.
Qu'il y a de bonnes raquettes?
J'avais des tendinites, tu sais, qui me ralentissaient. Puis là, tu mets des espèces d'anneaux autour de ton avant-bras pour ralentir la tendinite, etc. Le jour où j'ai acheté une raquette de 75 grammes, fini.
Mais ça pèse rien.
Fini. Ça vaut la peine, surtout si on a tendance à des tendinites, ça vaut la peine d'acheter une raquette de 200-300 $.
Ben, si tu y vas souvent, puis c'est ton sport, puis que ça t'empêche d'avoir des blessures, je vois pas c'est quoi la limite de payer ce montant-là.
C'est ça. Mais ça vaut vraiment la peine.
De bien s'équiper.
Oui, parce que sinon, tu te blesses, mm-hmm. puis tu perds du plaisir.
Oui.
Fait que acheter une bonne raquette légère, avec la poigne qui... écoute, moi, j'ai les mains qui viennent avec le reste, là, tu sais, peut-être. Alors, moi, ça me prend la poigne petite, extra petite même. Puis à partir du moment où j'ai ça dans les mains, j'ai plus de problème.
Mais c'est comme dans n'importe quoi. Tu parles de badminton, mais va t'en faire du ski de fond, là. Moi, j'étais bien équipée, sauf le manteau et tout ça. J'ai tellement trouvé ma première saison horrible, mais la deuxième exceptionnelle, parce que je me suis fait dire, voyons, Pascal, t'es juste pas bien habillée pour le faire.
C'est ça.
Tout est dans l'habillement, l'équipement.
Quand j'avais 6 ans, 5-6 ans, puis qu'on est arrivé au Québec, ma mère s'est mis dans la tête qu'on allait vivre notre vie au Québec et donc qu'il fallait qu'on s'habitue au froid. Et donc, elle ne nous a pas habillés pour l'hiver. En disant, il faut qu'ils s'habituent, il faut qu'ils s'endurcissent. Ils vont passer leur vie ici.
Oh, je l'aime.
Et là, ce qui est arrivé, c'est que notre voisine avait pitié de nous autres. Mes parents étant professeurs, à l'époque, professeur, c'était une belle profession.
Oh, oui, oui.
Admirée. Les voisins n'osaient pas dire aux deux profs, vous êtes dans les patates. Ça fait que là, les voisins nous interceptaient sur le chemin de l'école, nous habillaient. Au retour de l'école, on laissait notre linge chez les voisins. On rentrait à la maison, puis on n'avait pas l'air d'avoir froid.
Fait que ta mère t'a jamais acheté de manteau?
Non. Un jour, elle s'est rendue à l'école à pied.
Ah, elle a pas aimé
elle
ça.
S'est gelée les deux oreilles. Le lendemain, on est habillés.
S'habituer au froid, c'est la chose la plus drôle que j'ai entendue. T'habilles pas tes enfants, pas parce que t'as pas les moyens, pas parce que t'es de mauvais parents, c'est que tu crois qu'ils vont s'habiller.
Ils vont faire leur vie ici, il faut qu'ils s'endurcissent.
Hey, je t'aurais tricoté une tuque, Myriam Segal, si je t'avais pensé.
Ça a pas duré très longtemps, là. Mais,
une journée, c'est trop.
Mais on a fait jusqu'à Noël, au moins, comme ça.
Oh là là! Hey, quelqu'un nous dit, j'ai décroché, j'ai terminé aux adultes, j'ai fait un DEP 17 ans plus tard, je suis au bac en enseignement professionnel pour pouvoir aller enseigner le DEP que j'ai suivi, un beau cheminement. Félicitations, sincèrement. C'est ouais. Une belle histoire, ça, parmi toutes celles qu'on reçoit.
Hein?
Ah, un autre.
C'est ça.
Je suis responsable de la vie scolaire, parascolaire dans une école secondaire. Je dis toujours que le secondaire, c'est un plateau d'essai. T'aimes pas, tu changes d'activité. Il faut tout essayer, ce qui nous tente. Hey, ouais. Dans nos cours d'éducation physique, tellement été créatifs, on a essayé le golf, le tir à l'arc. Ouais. Le ski de fond, parce qu'on avait des pistes derrière, puis ils se sont dit, on va équiper l'école, ça va durer des années. Puis ils ont équipé l'école en usagers, il n'y a pas besoin de grand-chose. On a essayé des sports, tout sport, pour essayer de nous motiver à bouger.
OK. Mais tu vois, moi, j'ai détesté mon secondaire. J'étais ici à Bellevue, à côté.
OK.
J'ai détesté mon secondaire.
Tu faisais courir?
Notamment parce que comme j'étais petite et vraiment pas une athlète, petite et ronde, on va le dire comme ça, on me refusait dans les équipes parascolaires de sport.
Ben voyons donc, t'avais envie puis on te refusait.
Oui, c'était une école où on repérait le talent des jeunes et on les poussait dans ce talent. Alors moi, je m'occupais du journal étudiant, etc. Mais quand j'ai voulu jouer au basketball, on m'a rejeté.
Ouais.
Puis c'est sûr que le basketball, je ressemble plus au ballon qu'à un joueur.
Non, franchement.
Mais tu sais, j'ai détesté ça. Qu'on m'a empêché, puis j'étais fondamentalement une sportive.
C'est parce que eux veulent des équipes élites, ils veulent que l'école rayonne à travers le Québec parce que souvent tu as des compétitions entre tes équipes, donc tu sélectionnes les meilleurs joueurs. Mais de là à même pas t'essayer, ça me cause un petit problème, là. Et il y a Isabelle qui nous écrit, je détestais les jeux du style ballon chasseur où le prof tolérait que les gars nous vargent le ballon dessus, elle écrit ça comme ça, ou qu'il y a un minimum qui était, c'est même pour tout le monde, pour faire un nombre de push-up, figures sur les barres parallèles, il y avait rien d'adapter à ceux qui sont pas très bons ou détestent ça. Oui, je vais le faire, mais donne-moi un défi selon mon expérience et non la même norme que le super pro dans les autres élèves qui font ça puis que ça a l'air facile puis qui depuis des années ils sont là-dedans puis qui rient de nous en plus parce que c'est vrai souvent ce sont des bullies parce qu'ils sont bien fiers de leurs compétences. Elle dit, j'ai passé mon éducation physique, mais elle dit éduque, c'est vrai, on disait ça, on s'en va en éduque. Mais j'ai détesté chaque minute, puis ça c'est le problème.
C'est ça.
Puis en même temps, j'ai eu un enseignant au primaire qui nous obligeait à la récréation d'aller jouer au ballon chasseur, qui jouait contre nous. Et je me rappelle encore de comment il crinquait son bras pour se donner de l'élan et diviser les petites meutes de filles qui étaient dans le camp. On bougeait, Myriam, je te jure, on s'essayait de parler, on bougeait.
Ouais, mais tu sais, les défis, on les prend pas tous de la même manière. Il y en a qui les prennent en disant, garde là, je vais leur prouver que... Puis il y en a qui les prennent, oh non, pas encore lui, qui va m'écœurer. Il faut, puis c'est ça tout le raffinement de l'enseignement au secondaire, il faut arriver à s'adapter à chaque individu alors qu'en réalité, ils te sont présentés en meute.
Absolument. Puis ça, ce sont les meilleurs enseignants qui réussissent à le faire.
Il y a Michel qui dit, ton histoire, mon histoire d'aller en bas cours à l'école, là,
oui.
Ton histoire me fait penser à l'histoire du gars qui essayait d'habituer son cheval à pas manger, comme juste au moment où il allait s'habituer, il est mort.
Est-ce que t'en as reparlé à ta mère de ça?
Oui, oui, on a beaucoup ri avec ça, par la suite, là. Mais c'était, moi, j'ai toujours dit que je suis né, il y a quelqu'un qui dit de quel pays je viens. Je viens du Québec. Je suis né à l'âge de 5 ans à Jonquière.
Bon, mais là, précise. Pauvre Mike, il comprend pas pourquoi ta mère voulait que tu t'habitues au froid.
Ben, mes parents ont immigré au moment de la création du ministère de l'Éducation. Petite leçon d'histoire. Le ministère de l'Éducation en 62. Duplessis est battu, les libéraux arrivent au pouvoir, c'est la révolution tranquille. On crée le ministère de l'Éducation et l'éducation secondaire et le collégial va être inventé bientôt, l'éducation secondaire va être offerte à tous, gratuitement. C'est ça la révolution. Ce qui veut dire qu'il faut faire venir des profs d'urgence, de partout. Et on a besoin de profs, on va avoir une masse d'étudiants qui vont avoir droit à l'éducation secondaire gratuite. Le cégep de Jonquière, ce qui est devenu le cégep de Jonquière, qui était le collège classique de Jonquière à l'époque, était dirigé par des oblats. Beaucoup de communautés religieuses ont décidé à ce moment-là de faire des collèges privés. C'est ce qui est arrivé à Québec, les jésuites, Bellevue, le petit séminaire, etc. Mais les oblats à Jonquière ont décidé qu'ils allaient participer au système public. Et ils ont donné le collège classique au système public, sauf que ils ont recruté les profs. Et ils sont allés dans les collèges catholiques étrangers pour recruter les profs. Parce que on avait quand même encore à cette époque-là le souci que
la religion soit présente.
Et c'est comme ça que mes parents ont été recrutés en Belgique en 62, alors que j'avais 5 ans et que je suis née à l'âge de 5 ans à Jonquière.
Une toute petite qui, quelques années plus tard, se promènera en bocour à l'hiver québécois. Marie-France qui dit aussi, ma fille est dans un collège privé, elle est excellente au basket, mais les maudites bip-bip régulièrement, elle déteste. C'est ça l'affaire. Il nous décourage avec des pressions où qu'on doit se comparer avec les autres, mais quand on est finalement actif, on aime bouger puis on aime un sport, au lieu de valoriser ce sport-là.
Alex, t'essayerais-tu de nous trouver un prof d'éduc qui nous expliquerait pourquoi ils font ces tests-là, qui ont l'air d'être plus répulsifs qu'attirants?
Mais je pense que pour des profs, c'est pas le fun à donner.
Parce que la base, là, c'est que les profs d'éduc, l'éduc n'était pas prise au sérieux.
Ben non.
Et là, ils essayent de quantifier l'amélioration de l'étudiant.
Oui.
Pour essayer d'être pris au sérieux et de démontrer scientifiquement.
Oui, puis de laisser la chance aussi aux élèves d'avoir de meilleures notes, là, parce que sincèrement, ça. Puis lancez-moi des tomates, mais moi, les tests bip-bip, j'ai jamais pris au sérieux. J'en avais rien à faire. Aussitôt que ça commençait, je regardais, là, puis, mettons, les plus faibles, je les laissais partir sur le banc, puis à un moment donné, j'étais comme, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je pousse pas plus loin. En quoi tu sors de ta zone de confort? Ouais. Non, c'est juste stupide. Je trouvais ça stupide de nous faire courir au bip.
Il est 8h35. Dans quelques instants, on se casse la tête avec un jeu qui s'appelle Dilemme.
Oh, yes!
Que Québec se lève.
De retour après la pause. Deux hommes en onde avec Jeff Blanchette et Paul-Raphaël Charon.
Paul Mongin est relevé du 93, mon sac symbole, mon icône de la mode. Le prochain sujet va t'interpeller.
Quelle horreur.
T'es vraiment
chien,
une référence pour moi.
C'est chien, ça.
Donc, on est tombé sur un sondage. Comment on devrait s'habiller pour aller décrocher un emploi?
Bon, du chance que je suis déjà engagé.
Oui.
Deux hommes en onde. Lundi au vendredi, 11h, au FM 93.
Depuis que Solange a appris qu'elle souffrait d'ostéoporose, elle a choisi Clinix pour son examen de suivi. Rapide et sans douleur, l'ostéodensitométrie est l'examen de choix pour vérifier la santé de vos os. Et chez Clinix, vous aurez un rendez-vous rapidement.
Faites comme Solange. Choisissez Clinix. Un seul nom, trois localisations. La Cité, le Ménil et Val-Bélair. Parce que votre santé nous tient à cœur.
653-9933.
ClinixImagerie.com.
Le midi à Québec, des bons restos, il y en a un paquet. Mais si on enlève les restos qui n'ont pas de stationnement gratuit, si on enlève ceux qui ne sont pas dans le milieu de la ville à 5 minutes de partout, et si on garde juste les restos qui ont un nouveau menu du jour complet chaque semaine à partir de 14$, incluant l'entrée, le dessert, un service rapide et courtois dans un décor super débile écœurant, ben là, il en reste rien qu'un. Cécile et Ramon.
Chez Ameublement Tanguay, c'est la rentrée. Et pour l'occasion, à l'achat d'un matelas, recevez une machine à café Nespresso gratuitement, une valeur de 280$ et plus. Procurez-vous un matelas Z-Bed, modèle Flow, de format double, avec mousse mémoire infusée de gel à 1099$. Ou de Serta, matelas de format double, à ressort en sachet et mousse infusée de gel à 749$. Livraison gratuite au Québec. Ameublement Tanguay énergise votre rentrée.
Amélie Bachand-Dubois, Marc Nasser, Adriana Bracco, Lifan Yuan.
Chaque année, Bombardier formera plus de 1000 futurs leaders de l'industrie aéronautique ou du rail dans le cadre de son nouveau programme de stage rémunéré. Car pour concevoir les solutions qui révolutionneront la mobilité de demain, il faut encourager les esprits innovateurs comme
Clément Devaux, Jessica Condemi.
Bombardier investit dans la croissance et le rayonnement de notre économie.
Pour plus d'informations, consultez stagebombardier.com.
Nous vivons nos plus beaux moments, mais dans la main. Laissez-nous vous tendre la nôtre. Le 22 septembre, venez à la journée porte ouverte et découvrez ce que la vie en résidence peut vous offrir. Chartwell, résidence pour retraités. Bien vivre ensemble. Chartwell.com.
Québec Natation offre des cours pour tout le monde, même ceux qui ont peur de l'eau. Des cours de toutes sortes pour tous les niveaux, de 6 mois à 93 ans. Il y a sûrement un Québec Natation près de chez vous. Début des cours le 20 septembre. Et ils engagent 687-4045-québecnatation.com.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Pour vos problèmes de pied, appelez-les lundi pour un rendez-vous très rapide. Visitez piedquebec.com.
Le matin, Québec se réveille avec Myriam Segal,
Alexis Sanson
et Pascal CV.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
FM 93.
Dilemme.
Le jeu s'appelait autrefois. Est-ce que je vais essayer de le dire? J'ai tellement de misère à le dire que j'ai décidé d'appeler ça dilemme. D'abord, le français plus court.
En français.
La preuve. Would you rather?
Okay. Ah, c'était bien, bravo.
Le jeu,
c'est
bien, oui. Le jeu s'appelait autrefois comme ça. Mais moi, j'appelle ça dilemme. Cinq questions, j'essaye de tenir les comptes, mais là, j'ai de la misère à tenir les comptes. Ça fait que, Pascal, toi, tu comptes la réponse A.
Parfait.
Puis moi, je vais essayer de compter les réponses B.
Parfait.
Ça va?
Okay.
OK. Alors, les choix que nous avons.
Parce que les gens peuvent jouer avec nous. Là,
les gens peuvent jouer avec nous. J'essaye de tenir une statistique pour voir... quelle est l'option que vous préférez?
Okay.
Et, alors, est-ce que vous préféreriez, vivre en Antarctique ou dans le désert du Sahara?
Hey, ça,
l'Antarctique
c'est...
ou le désert du Sahara?
C'est la question la plus facile à laquelle on peut répondre. Là.
La place où il fait frais, la place où il fait chaud.
C'est de loin l'Antarctique. Là.
De loin l'Antarctique?
Ah, oh, de loin, parce que quand il fait froid... là. Tu peux t'habiller pour ne plus avoir froid. Mais quand il fait chaud, là, à un moment donné, tu peux plus te déshabiller. Puis moi, j'ai toujours été habitué au froid. Et le froid, j'ai pas de problème avec ça. C'est facile. Moi, j'ai toujours voulu rester en Alaska parce que c'était simple là-bas. Il fait jamais chaud.
Sais-tu, moi, je préfère tous les paysages et ce que tu vas pouvoir voir en Antarctique, mais je vais choisir de vivre dans le désert parce que si je me rapporte à l'hiver qu'on a, quand on a froid, là, c'est extrêmement dur de se réchauffer. Tandis que quand on a chaud, je trouve que c'est plus facile de se refroidir, de se rafraîchir. J'ai toujours trouvé ça plus... Ben, j'y étais, puis écoute, j'ai survécu, là, à un moment donné, habille-toi en long. En pâle.
En long?
Oui.
Dans
en
le
long,
désert?
En pâle. Oui. En long, en pâle. Pis...
pour pas te faire brûler.
C'est la nuit que j'ai passée la plus douloureuse et difficile de toute ma vie parce qu'on nous avait dit, attention, quand vous allez dormir dans les petites tentes, il y a plein de bébites qui peuvent entrer dans n'importe quel orifice de votre corps.
Miam!
Je veux dire que j'ai jamais porté autant de vêtements. Je me suis levée ankylosée parce que j'avais tout serré. Là.
Oh, ouais.
Rien n'a pu entrer nulle part.
Oui, mais ça te fait juste des protéines si ça rentre, là.
C'est parce que ça rentre dans... Ouais, non, ça passe. Moi, quand on m'a dit tous les orifices, ça a arrêté là. On parle pas assez vite.
Il y a quelqu'un qui dit en Antarctique, mais pas avec la mère de Myriam.
Et toi, Myriam?
Moi, c'est l'Antarctique. Sans la moindre hésitation.
Ah oui, hein?
Oui. Parce que en Antarctique, il fait froid, mais tu peux toujours te réchauffer. Tu peux toujours rajouter des vêtements.
Ouais.
Tu peux toujours te réchauffer. Quand t'as chaud, là, tu peux pas te refroidir tout le temps. Tu y arrives pas.
Exactement.
Moi, je suis capable de faire une grande marche en raquette en Antarctique sans geler, mais je suis pas capable de faire une grande marche dans le désert sans crever.
Faut que tu manges deux fois plus, faut que tu bouges constamment, faut que tu trouves du feu si t'en as pas,
Non.
Mais tu restes pas dehors.
Ben, t'es fragile aux
engelures. Pour marcher, tu génères ta propre chaleur. Je sais pas, écoute, j'ai été, moi, dans le parc de Saguaro, qui est un parc de cactus. OK, je vais y retourner l'année prochaine en hiver, là, parce que l'été, il faisait 49 degrés.
Un parc de cactus en hiver, oui, mais il n'y a pas l'hiver là-bas. Non. Là.
Oui, ils ont un hiver. Il y a un hiver partout.
Oui.
OK?
C'est juste qu'il y a différent.
Sauf en Équateur, il y a un hiver. OK? Bon, donc, je vais y retourner, mais quand j'ai été en été, il faisait 49 degrés cette journée-là. Ça a été impossible de marcher. La sueur s'évaporait à mesure qu'elle arrivait. J'avais un cercle blanc autour du front. Tandis que en Antarctique, je peux rajouter des couches, je peux m'habiller, je peux marcher, je peux me donner du mouvement. Je suis pas poignée à pas bouger parce qu'il fait trop chaud.
Ah, moi, quand l'engelure me pogne, là, et je sais pas s'il y en a des fragiles aux engelures aussi. Une fois que t'en as une, elle revient après 30 secondes à l'extérieur si t'as pas l'équipement, puis ça coûte extrêmement cher. Et Michel qui dit, les bédouins dans le désert sont extra habillés justement pour se protéger de la chaleur. Puis il dit aussi, une maison bien isolée, chaude en hiver et fraîche en été. Voilà, c'est ce que ça vous prend.
Je sais pas à combien t'es rendu pour l'Antarctique, mais moi, je suis à 3 pour le Sahara.
Moi, je suis à 6 pour l'Antarctique.
Plus Alexis, plus moi, ah. Moins toi.
OK, c'est ça.
Ça fait que...
T'es encore tout seul.
Je suis à 8 pour l'Antarctique.
Encore tout seul de sa gang à vouloir aller crever dans le désert.
Il y a même Michel qui écrit, voyons Pascal, tu dis tout le temps que t'aimes l'hiver et tout ça. Quelle surprise ce matin que tu vivrais dans le désert. Mais je l'ai expliqué, je préférais tous les paysages de l'hiver, mais jamais.
Elle préfère les bébites qui rentrent dans toutes les parties de son corps pour pas avoir froid.
C'est plus simple que ça, Pascal avait un...
Ça, c'est l'autre avantage de l'Antarctique. Il y en a pas de bébites en Antarctique à part les ours polaires puis les renards arctiques.
C'est vrai.
Puis les manchots. Les manchots, c'est-tu là?
Oui, c'est dans... Oui.
Ça commence à en faire 3 bébites, là.
Oui, mais c'est des grosses bébites qu'on voit venir de loin. Ils viennent pas insidieusement, comme le scorpion, rentrer sur le long de ta jambe, puis te réveiller la nuit.
Mais t'as pas compris la logique de Pascal, c'est simple. Elle veut les paysages d'hiver quand il fait chaud. Elle aimerait ça un hiver à 20 degrés.
C'est pas très logique. C'est pas très logique. Non, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, je suis plus capable de me rafraîchir que de me réchauffer par moi-même.
Question numéro 2 des dilemmes d'aujourd'hui.
Oh, oh, oh.
Préférez-vous vous cogner l'orteil sur une patte de lit
Colin.
Ou vous donner un coup de marteau sur le doigt?
Oh. Le coup de marteau sur le doigt. Et de loin.
Oh oui, le coup de marteau... mon père travaillait sur la construction, puis j'étais habitué d'avoir des coups de marteau sur les doigts au début. Là.
Attends, puis je vais rappeler aux auditeurs, à partir de maintenant, A, c'est l'orteil, et B, c'est le coup de marteau.
C'est ça.
OK, je compte B, moi?
Oui.
OK.
Non, sincèrement, vraiment le coup de marteau, parce que je trouve que ça résonne moins longtemps. Ça fait mal, là. C'est une pression que tu reçois, tandis que l'orteil, ça te paralyse. Il faut que tu... utilise la méthode que les gens qui sont dans les autorités utilisent. Soit, si mettons, un pompier se casse une jambe en plein feu, il faut qu'il se concentre sur d'autres parties de son corps pour réussir à sortir. Le mental est extrêmement fort. C'est constamment ce que je fais, moi. Si je me pète un orteil sur un meuble, je me dis, mais non, mon pied droit, tout va bien, j'ai pas mal. Ça fait tellement mal. Je comprends pas qu'un orteil sur le coin d'un meuble, ça fait aussi mal.
Ah, ça fait très, 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 très mal. Moi, je me suis cassé un orteil.
Comme ça?
Hein? Oui. Le gros orteil, puis j'ai toffé pendant quoi 6 mois à faire quand même mes marches, puis avoir mal tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai été voir un médecin qui m'a dit « Ça se guérit pas tout seul, faut vous opérer. » Puis là, il m'a cloué 2-3 affaires dans l'orteil, puis c'est correct. Bon. Moi, je choisis le doigt.
Ah ouais, ouais, ouais,
je me donne un coup de marteau sur le doigt parce que ça ne vient pas handicaper ma mobilité. Et si j'ai le génie de me taper sur le doigt, tu sais, d'habitude, quand tu cloues, tu tiens ton marteau de la main droite, donc de ta main la plus utile. Puis donc, tu te cognes la main gauche, qui est la main la moins utile. Moi, me taper sur la main gauche, ça me dérange pas. Je ne perds ni mon habileté manuelle, ou le peu qui m'en reste, ni ma mobilité. Parce que perdre ma mobilité, pour moi, ça c'est dramatique.
Ben, c'est très intelligent. Il y a Lise qui dit, l'enjeu, c'est pas de choisir A ou B, c'est de pas sacrer quand les situations arrivent.
Ouais, c'est parce que quand l'orteil, en plus, là, t'es une pure victime. Dans le sens où t'as pas demandé ça. Quand tu prends le marteau, là, tu dis, il y a quand même un certain pourcentage de chance que je le manque puis je me tape sur le doigt. Mais c'est vraiment insidieux. Là, ton orteil sur le coin du lit, là, tu l'as pas vu venir, t'es convaincu qu'il y a de la place, mais non, bang, t'accroches le coin. T'es pas prêt, là.
C'est partagé, hein?
C'est
5.
Mais moi, ça me surprend même les résultats quand même.
C'est 5 à 5 à peu près, c'est ça?
Non, 7 à 4.
Donc, 7 pour l'orteil, 5 pour le doigt. Étrange. OK, je sors d'une crise de goutte, vive le marteau. Oh, ça doit être douloureux. Ça, c'est douloureux, la goutte.
C'est quoi, ça?
La goutte, c'est... Attends un peu, j'ai un ami qui a déjà eu ça. C'est des espèces de cristaux qui voyagent dans tes artères et qui viennent te donner des douleurs épouvantables le long de la jambe, dans le pied, de la jambe.
Ce qu'on dit, c'est la présence continue de cristaux d'acide urique dans l'articulation et autour de celle-ci, ça peut mener à la destruction de l'articulation et des tissus mous.
Oui, les crises de goutte, c'est terrible. Ça vient souvent d'une malfonction du rein.
Aïe, aïe, OK. Bonne chance. On vous en souhaite pas une autre.
OK. Ni l'un ni l'autre. On repart ça, l'ardoise à zéro?
Oui.
OK. Préférez-vous être le meilleur joueur d'une équipe poche ou le pire joueur d'une très bonne équipe?
Ah, c'est difficile.
Attends un peu, redis ça, là.
Préférez-vous être le meilleur joueur d'une équipe vraiment poche?
Oui.
Ou le pire joueur d'une très bonne équipe?
Ah, c'est difficile. Soit t'es la risée de ton équipe, tu genre le handicap de ton équipe, tu ralentis le groupe, ou encore t'es le meilleur.
A, mais... A, c'est le meilleur, B, c'est le pire.
Hey, c'est difficile. Hey, je pense que j'aimerais mieux être... Je sais pas.
Bon, moi, je vais me risquer. Là, je pense que j'aime mieux être le meilleur joueur de mon équipe poche. Parce que, ça, ayant commencé tard à jouer au hockey, notamment, je me suis ramassé dans les niveaux les plus bas. Là. Parce que, c'est pas si mauvais, mais les équipes sont toujours déjà faites d'avance au hockey mineur, de toute manière. Là. Puis je me suis souvent retrouvé être dans les meilleurs de mon équipe qui était dans les moins bonnes. Puis, c'est pas si pire que ça. Mais être le boulet de mon équipe, là, je serais pas capable d'être le boulet. Autant je me défoncerais pour ne pas nuire, mais je serais pas capable de me faire regarder de travers et de sentir que je nuis. Tu sais, je comprends que t'as toujours besoin d'un moins bon dans une équipe, là, mais ça m'intéresse pas d'être ce joueur-là. Puis si j'ai pas ma place là, ben j'aime mieux être un
place,
niveau
c'est
en
juste
bas.
le moins bon. Ben, c'est comme dans le Canadien. Le Canadien, ils n'ont des pourris, mais ils n'ont pas le choix.
Hey, moi, je pense que je vais être le boulet de l'équipe. Parce que je crois avoir une capacité de rassembler les gens. Fait qu'au moins, je vais faire ça. Au moins, je compte pas de but ou quoi
tu
que ce soit.
Tu vas être bonne dans le vestiaire.
Je vais être fine avec les gens. Je vais leur apporter des galettes. Je vais les encourager. Puis au pire, il y en a un qui dira, ben, la pauvre CV, on va l'aider à s'améliorer un peu. Tu sais, quand t'es entouré des meilleurs, tu deviens meilleur.
Moi, ça, c'est bon, ça, oui.
Moi, je pense que je préférerais être le pire joueur d'une équipe poche.
Toi aussi, hein?
Ouais. Le pire joueur d'une équipe poche, il apprend. Tu n'apprends pas avec des pires que toi, tu apprends avec des meilleurs que toi.
Totalement donc, d'accord.
Bon, c'est vrai.
D'une part, il apprend.
Puis sinon, tu t'assois sur ton steak.
Il peut jouer d'autres rôles également dans l'équipe.
C'est ça.
Combien de joueurs médiocres sont en réalité des ciments dans leur équipe?
Voilà.
Faut juste que tu sois conscient que t'es le plus poche, que t'essayes pas de te faire croire que t'es le meilleur, puis que tu prennes ta place.
Alors, t'as la même vision que moi.
C'est oui.
OK, on va être des motivatrices, Myriam.
Bon,
toi, un peu pessimiste quand même par moment, là.
Moi?
Ben oui, il y a un joueur de blessé. Ah, oh, c'est pas grave, lui qui est blessé. Mettons, il vient de perdre ses deux yeux, il a le crâne fendu, puis il a ses deux jambes cassées, tu dois tant pis pour lui.
Ben là, c'est parce qu'il a choisi sa vie, là.
C'est ça.
Si je choisis de sauter en parachute, je prends le risque qu'il s'ouvre pas, là.
Ouais, mais c'est bien le fun. Faudrait que tu le fasses, justement.
Il n'y en a pas question.
De ça, hein?
Beaucoup de gens choisissent d'être le boulet. T'sais, André dit le boulet parce que si on l'est, ben on peut être bon quand même dans d'autres choses, comme un peu ce qui nous rejoint. Esther qui dit le B parce qu'au moins ton équipe a des chances de gagner puis ils vont finir par s'asseoir sur le banc avec toi puis tu peux devenir un meilleur motivateur. Quelqu'un qui nous dit, il répond pas trop, mais l'estime de soi est supérieure à celle du collectif. La possibilité de progresser dans les meilleures équipes et de bien performer est bien plus atteignable. Fait que finalement, il voudrait être aussi le nul de l'équipe, cet auditeur-là.
OK. Là, c'est parce que là, attends un peu.
L'avantage.
Lui, je le compte dans ma gang.
Oui.
OK, je le compte dans ma gang.
Oui,
ça marche.
Oui.
Donc, moi, je suis à 5. Toi, tu es à combien? Ah, je suis rendu à 6, c'est un peu. Donc, la plupart des gens préféreraient être un pas bon parmi les bons qu'un bon parmi pas bons.
J'ai 4 personnes qui voudraient être le meilleur, mais sinon 9 qui voudraient être un pas bon.
La meilleure équipe est toujours sur le party. Hey, ne viens de ramasser un 7e.
Ouais, ça, c'est une autre motivation.
Et c'est intéressant. Donc, 7 à combien de 5?
9, moi, j'ai.
T'en as 9?
J'ai 9 à 4.
9 à 4.
Ça rentre vite. Peu importe, celui qui a gagné, c'est celui qui tout le monde veut être le plus poche dans l'équipe. Ce qui est quand même intéressant, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'orgueil et d'égo là, qui sont à l'écoute ce matin.
OK. Mais c'est... Ouais. Non, c'est pas que on n'a pas d'égo. Mais en fait, tout le défi, c'est de savoir où tu te situes dans un groupe. Peu importe ce que tu sois le meilleur ou que tu sois le pire, tu dois savoir où est-ce que tu te situes dans un groupe et travailler pour le groupe.
Quelles sont tes forces et amplifie-les.
C'est ça.
Intéressant.
OK, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous préféreriez? Avoir votre premier enfant à 19 ans ou à 42 ans?
Oh mon Dieu, Myriam est tough.
Ah, ben non. 42. 42 ans, de loin. Toi? Oh oui, ben ma blonde, elle aime pas ça, là, parce que...
Tu vas être à l'âge de la retraite quand tu vas avoir 25 ans.
Mais c'est pas grave, ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir mes enfants plus tard, puis ma blonde, elle la capote parce qu'elle veut les avoir bien plus jeunes. Mais moi, 42 ans, elle me dérange pas. À la limite, je vais juste être encore plus établi dans ma vie.
Répondez 19 ou 42. OK? Qu'on mêle pas avec les A puis les B.
Oui, c'est ça, c'est bon ça. C'est très difficile, je trouve, parce que le 42, il va très, très loin, selon moi. Tu as des complexités aussi dans ta grossesse qui peuvent arriver à ce moment-là, mais si tu as 42, ça veut dire que tu l'as mis au monde, ton enfant, là, ton premier enfant. Ça veut dire que passe les premières années difficiles. Pas sûr que ça va te motiver à en avoir un autre plus tu vas vieillir. Fait que je vais choisir le 19. Même si ça va me priver de bien des choses dans ma vie, au moins, je vais être là pour mes enfants bien plus longtemps. Je vais voir leur réalisation. Je risque de voir mes petits-enfants. Mais surtout, à pas me décourager après un enfant.
Je sais pas si c'est féminin, ça. Je pense que les femmes vont avoir plutôt tendance à choisir le 19 et les hommes 42.
Mais oui, c'est parce qu'on sait c'est quoi. C'est complexe, le 42, ben, avoir
c'est
un ça. Enfant.
C'est
là.
Pas pareil.
Hey, moi, j'ai eu tard, mes enfants. Mon premier, c'était j'avais 37 ans. Donc, je suis plus proche du 40. Ben oui. Est-ce que je le regrette? Je suis pas capable de regretter ce que j'ai vécu, moi.
Ah, mais tu y repenses?
Je pense que 42, je trouve que c'est un peu étiré.
Ouais.
Mais 37, 38, 39... Pas de problème.
Ça s'en va de plus en plus là. Hein. Quand tu parles aux générations, là, mettons qu'ils vont avoir des enfants prochainement, ben c'est ça. Ça s'étire. Ils s'établissent dans leur carrière, ils vivent leur vie de jeunesse, puis après ça, ils sont prêts à avoir des enfants. Puis souvent, ça fait des enfants qui vont être plus matures aussi. Ouais. Parce que les parents étaient prêts à les avoir. Bon, vous me direz, il n'y a jamais de bon moment, effectivement, ouais. Mais
tu sais, à 42 ans, un des problèmes, c'est vrai qu'à 19 ans, on est plus souple. On s'adapte, on apprend, et on a aussi plus d'énergie.
Mais plus impulsif aussi, je pense qu'on a moins de patience.
Je le sais pas. Mais à 40 ans, là, tu t'épuises plus vite, tu te fatigues plus vite. Puis pour suivre ces petits monstres-là, il faut quand même avoir pas mal d'énergie. Moi, ça m'a gardé jeune de les avoir tard. Ça m'a gardé jeune plus longtemps.
Ouais, mais t'étais
moi, je me sens plus comme une X que comme une boomer.
Ouais.
Parce que mes enfants, quand j'avais 50 ans, ben, ils avaient 10-12 ans.
Mais sincèrement, là, je crois qu'à 42, t'es plus apte à avoir des enfants parce que t'as passé plusieurs tempêtes, t'es capable de les prendre, d'être relax aussi dans les épreuves de la vie. À 19 ans, t'es impulsif, tu prends les épreuves de la vie comme si c'était la fin du monde. C'est que, je veux dire, une rupture devient, la fin de ta vie, un drame. Bon, pas pour tout le monde, mais je pense que t'es plus apte à avoir des enfants à 42 ans. Mais comme Nadia a dit, j'ai 42, no way, un autre enfant. Fait que s'il fallait que ce soit son premier, famille serait terminée.
Il y en a un qui joue pas le jeu, il dit 30 ans.
Ben là, ça marche pas,
ça
Michel.
Marche pas. Faut jouer le jeu, OK? En fait, l'idéal, là, c'est de les avoir soit à 19 ans, soit à 40 ans. Parce que à 40 ans, tu as eu le temps de vivre plein de choses avant, notamment de voyager, pendant que tu es en forme.
Oh oui.
À 19 ans, tu as le temps de vivre plein de choses après. Parce qu'à 40 ans, tu es encore en pleine forme pour voyager.
Puis tes enfants sont devenus assez vieux pour
Si tu les as à 30 ans, ça veut dire que tu as 50 ans quand tu peux lâcher les lâcher l'os ou à peu près, donc 55 ans. T'as comme pas eu le temps non plus de construire ta carrière entre 20 et 30 ans.
T'es encourageante? Ouais. Moi, je visais le 30.
Mais 30, c'est idéal, ça. Moi, je suis convaincu que 30, c'est l'âge idéal.
Ben, je sais pas, Myriam vient de me convaincre que non, là.
J'ai perdu le compte, là, mais...
Moi, je suis à 11 pour 19 ans.
Et moi, je pense que je suis à 7 pour 42.
Oui, c'est ce que j'aime aussi pour toi.
Donc, la majorité des gens préfèrent les avoir jeunes. Et en santé. Mieux vaut être jeune et en santé que vieux et malade. Bon, il est 8h57.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
Offrez-vous la tranquillité d'esprit avec Giguère Portes et Fenêtres. En septembre, confiez-nous l'installation de vos portes et fenêtres et profitez de 15% sur le prix de l'installation. Fiez-vous à nos 70 ans d'expérience. Pour l'achat comme l'installation, c'est Giguère Portes et Fenêtres.
La voix. Les plus grands hits. La tournée. L'attente est terminée. Céline Dion. La tournée mondiale Courage. Ce mercredi, vendredi et samedi au Centre Vidéotron. Billets sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Céline Dion.
ce mercredi, vendredi et samedi.
Hey la gang, Normandin fête ses 50 ans, puis le FM 93 fête ses 40 ans.
Hey, on devrait fêter ça en même temps. Bonne idée, mais qui invite qui?
Hein, c'est une joke?
Ben oui, c'est une joke. On fête ça chez Normandin, c'est sûr. Et on fête ça en grand avec 50 auditeurs sur FM93.com. Parlez-nous d'un de vos souvenirs qui est relié à Normandin. 50 chanceux gagneront leur place pour ce super brunch chez Normandin en compagnie de l'équipe de Bouchard en parle. Bonne fête Normandin et le FM 93.
Chez Kia à Lévis, la chasse aux bonnies est ouverte. Ce mois-ci, le meilleur concessionnaire Kia au Canada vous offre un taux de financement à l'achat sur modèle sélectionné à 0% jusqu'à 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. Et grande nouvelle, le nouveau Sportage 2020 vient tout juste d'arriver chez Kia Lévis. Passez vite en faire l'essai et attrapez un boni de 1 000 $.
Le nouveau Kia Lévis.
Du 12 au 21 septembre, c'est le Festival de cinéma de la Ville de Québec. Des premières, des films inédits diffusés dans une dizaine de salles. Des projections gratuites sur Place Diouville et au passage Olympia tous les soirs. Billets et horaires au fcvq.ca. En septembre, la Ville de Québec est cinéma. Une présentation de Québecor alimentée par Resto Plaisir. Une invitation du Concorde, collaboration FM 93.
Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de PA Méthode. Si vous m'appelez pour avoir un bon prix sur une Nissan, veuillez demeurer en ligne et écoutez bien ça.
Avec ces deux adresses pour vous servir durant les travaux, 5 fois Nissan procède à la grande liquidation de Nissan. Obtenez 500 $ de rabais sur le Kicks 2019, maintenant offert en location sur 60 mois, à partir de seulement 59 $ par semaine et zéro à compte à verser. Avec 5 fois Nissan, toujours sur la rue Einstein, et aussi voisin du Costco à 5 fois,
c'est le temps de changer.
Non, arrête ça, les grelots. Les parties de bureau avec Archie, c'est bien plus gros que ça. Imaginez-vous dans la plus belle salle du Centre des congrès de Québec. Votre cocktail de bienvenue, un souper gastronomique, 4 services, et j'y installe la plus grosse discothèque à Québec. Avec mes 16 danseurs, mes 2 DJ, un gros show, c'est festif et prestigieux.
Et on rit sans arrêt avec Archie.
Que vous soyez 8, 20 ou 180, 4 soirs seulement, les places sont limitées.
C'est vraiment mon plus beau party de Noël à vie.
Archie Noël.com.
Vous cherchez un anti-inflammatoire efficace et doux pour l'estomac? Essayez le nouveau Génacol anti-inflammatoire. Le curcuma, la bioperine et le collagène aminoloc réduisent l'inflammation et soulagent vos douleurs articulaires. Ce nouveau curcuma est 40 fois plus concentré qu'un extrait traditionnel et l'ajout de la bioperine permet de maximiser ses effets anti-inflammatoires. Obtenez 3 $ de rabais sur anti-inflammatoire.génacol.ca.
Génacol.
Le FM 93 vous invite au cinéma pour voir Vivre à 100 000 à l'heure, un film de Louis Bélanger en salle le 27 septembre. Inscrivez-vous sur fm93.com.
Le 15 septembre 1979, CJMF FM entre en onde. Plusieurs styles de radio se sont succédés, plusieurs personnalités. Une chose demeure inchangée, vous, FM 93. 40 ans de radio au cœur de Québec. FM 93 fait parler Québec depuis 40 ans.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Des pieds fatigués? Ils en ont vu en 40 ans. Profitez de cette expérience. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
La planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Myriam Segal, Pascal CV et Alexis Sanson.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Pour FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
Pascal, aux nouvelles.
Oui, un homme de 69 ans est décédé hier matin après avoir fait plusieurs tonneaux et avoir été éjecté de sa voiture. Les policiers sont intervenus après qu'un citoyen ait constaté l'accident à l'extrémité du viaduc sur le boulevard des Chutes au-dessus de l'autoroute du Frein-Montmorency. L'heure exacte à laquelle l'événement serait survenu est inconnue des autorités puisqu'il n'y a eu aucun témoin direct de l'accident. Selon les premières informations, le véhicule aurait circulé sur le boulevard des Chutes en direction sud et aurait terminé sa course au bout du viaduc où se trouve le belvédère là, avec les escaliers menant au bord du fleuve. Une enquête est en cours en ce moment. La communauté musulmane de Québec aura finalement son cimetière. Boufeldja Ben Abdallah, cofondateur et président du Centre culturel islamique de Québec, a confirmé la nouvelle hier. Il a indiqué avoir reçu jeudi l'autorisation du ministère de l'Environnement quant à l'utilisation d'un terrain vendu par la Ville de Québec en 2017. Il ne reste plus qu'à signer les papiers d'achat avec la ville, ce qui pourrait être fait dès cette semaine. Et finalement, c'est ce soir la 34e édition de la cérémonie des prises des remises de prix des Gémeaux. Les trophées décernés à l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision récompensent l'excellence de la télévision francophone au Canada. Elle sera au Théâtre Saint-Denis et sera animée par Véronique Cloutier.
Dans le monde du sport, si vous êtes en grand manque de hockey, sachez que le Canadien va disputer un match rouge contre blanc au Centre Bell en début d'après-midi. C'est à RDS2 notamment le match, mais demain, le Canadien reçoit les Devils du New Jersey pour son premier match hors concours. Et le défenseur Carl Osner a manqué une deuxième journée de camp d'entraînement hier. Et dans son cas, là, c'est une blessure qui pourrait être fatidique si jamais il vient qu'à manquer une bonne partie du camp. Pour le reste de sa carrière, là, ça augure assez mal. Toujours dans le monde du hockey, Yevgeny Kuznetsov a été suspendu par la Ligue nationale de hockey après avoir été suspendu par la Fédération internationale de hockey. Il a été suspendu 3 matchs par la Ligue nationale de hockey. La Fédération internationale avait suspendu le joueur russe pour 4 ans après avoir détecté de la cocaïne dans son sang. Et pour ce qui est des résultats sportifs, ben c'est des défaites partout. Le Rouge et Or a perdu face aux Carabins de l'Université de Montréal hier 23-18. Dans le monde du football, les Alouettes de Montréal ont perdu 27-25 hier face aux Rough Riders. Et l'Impact de Montréal a perdu 1-0 face au FC Cincinnati. Et en terminant, vous donnez des nouvelles de la Ligue CANAM alors que ça s'est conclu officiellement hier. Alors que les Jackals du New Jersey sont les nouveaux champions. Ils ont remporté la série 3-1 grâce à une victoire de 8-7 sur les Miners de Sussex County hier. Donc la saison est finie. On reprendra tout ça et les Capitals auront une chance la saison prochaine.
Au-dessus de nos têtes, c'est un ciel bleu. À l'horizon nord, c'est encore plein de gros nuages, mais ça va se dégager tranquillement. Une alternance de soleil et de nuages aujourd'hui, ça va faire le bonheur des gens de la Société protectrice des animaux qui tiennent aujourd'hui leur grande marche canine. À 10h ce matin, si vous avez un toutou, vous pouvez aller faire marcher votre toutou avec d'autres toutous, à condition que vos toutous soient bien disciplinés. Et c'est l'occasion également. L'accès est gratuit à cette marche-là. Et il y a des services payants pour financer la SPA, si ça vous tente d'aider la SPA, à sauver des toutous et des minous. C'est uniquement les toutous qu'on peut aller faire marcher. Hein, on peut pas aller faire marcher son iguane.
Il y en a qui le font. Okay. Il y en a qui se promènent avec un bois aussi dans les parcs. On a vu ça cet été.
Ben oui.
150. Je pense que Éric Duhem est censé être là-bas.
Mais il est pas dans la croisière avec le défilé de mode.
Oui, c'est sa croisière canine sur le Louis-Joliette.
Ah, peut-être qu'il fait les deux, mais en tout cas, chose certaine, moi, je me rappelle qu'il s'en va sur une croisière canine où il y aura un défilé de mode. Puis c'est aussi le Noël des campeurs, non,
arrête,
en tout cas.
Arrête, c'est le
défilé de mode pour Toutou, là, c'est drôle.
J'aimerais beaucoup être là pour rire.
Donc, la marche commence à 10h30. Le rendez-vous est à 10h à la base de plein air de Sainte-Foy. Et c'est une marche de 2 à 5 kilomètres dans de jolis sentiers boisés avec 150 autres toutous et maîtres de toutous. En fait, quoi que je pense que bien souvent, c'est le toutou qui est le maître et le maître et le toutou. Mais en tout cas. Donc aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages, on va atteindre un maximum de 19 mai. Actuellement, on est seulement à 13 degrés et ça se pourrait qu'on ait une petite averse quelque part dans la journée. Demain, alternance de soleil et de nuages, 18 degrés. On ne nous parle pas de pluie pour demain et c'est ensoleillé pour les 3 jours suivants.
Elle saute en parachute. Elle couche dans des maisons hantées. Fait de la danse en ligne avec des zombies dégoulinants. Voici les aventures de l'intrépide Pascal CV. On a mis Pascal CV au monde. On devrait peut-être l'écouter.
C'est quoi ça?
Wow. Le délire de notre ami Kiwi qui t'a présenté.
C'est incroyable.
Wow!
Faut dire que quand j'ai une mauvaise idée, mon truc à moi... c'est de dire à Pascal, t'es pas game,
puis ça marche,
puis ça fonctionne, elle y va.
Oui, Pascal, là.
Je sais pas si c'est le fait d'être stupide ou vraiment prête à tout. Là. Vous choisirez, mais dites-le-moi pas.
Rassurer, Pascal, les décisions qui m'ont le plus aidé dans ma carrière, je les ai prises sur un t'es pas game.
Ah, excellent. Okay. Oui, ça peut me rassurer. Okay. Oui, oui, c'est parfait.
Mais à cette heure, je suis plus game. Ça fait que c'est toi qui dois l'être pour nous. Il y a quelque chose de fascinant qui est sur lequel je suis tombée. C'est au sujet des poils. Il y a un article qui a été publié sur la pilosité féminine et masculine.
Oui.
Et il y a des choses qui m'intriguent là-dedans.
Ben attends, moi, ça m'a intrigué dès le départ que tu nous envoies ça dans notre conversation.
Myriam, alors, vois ça.
Un article sur les poils pubiens.
Ben, sondage démontre que Les femmes... Attends un peu, faut pas que je me mêle. Les femmes s'épilent davantage le pubis
oui.
quand elles sont en couple.
Oui.
Les hommes le font davantage quand ils sont célibataires.
Oui, quand ils sont à la chasse.
Quand ils sont à la chasse. Je trouve ça assez bizarre.
Je trouve ça très irrespectueux.
Pourquoi?
Mais là, tu prends soin de toi pour plusieurs femmes que probablement il y en a une qui va rester avec toi, mais quand même pour les autres femmes. Mais aussitôt que tu es en couple, tu es comme, oh, pas besoin, je suis acquis.
Et c'est générationnel aussi. Selon ce sondage, 28 % des hommes de 15 à 20 ans s'épilent de pubis.
Hey, sais-tu quoi, c'est pas beaucoup?
C'est 28 % c'est 1 sur 3, à peu près.
Ben... En tout cas, moi, je
entre 15 et 20 ans?
Ben là, je suis surpris, cher. Moi. Je m'attendais oui. à un 82. Là.
Entre 15 et 20 ans? Moi, j'ai jamais parlé de ça à mes gars. Je leur ai jamais dit d'aller se jouer du rasoir dans cette zone-là.
Encore là, il faut qu'il y ait du poil. Là. Certains jeunes à cet âge-là, ils n'ont pas grand-chose.
88 % des femmes de 15 à 20 ans le font.
Ouais.
Oui, mais donc, ça, c'est logique, ça.
Comment ça?
Je me suis dit, moi, je m'attendais à ce que ce soit à peu près 88 gars-filles. Mais t'as pas besoin de te le faire dire pour... les jeunes se parlent entre eux. Je sais pas trop comment le mot se passe, mais il se passe.
La moitié des hommes de 50 à 60 ans le font. Ça m'étonne, honnêtement. Et les deux tiers des femmes de 50 à 60 ans le font.
Donc, plus on vieillit en tant que femme, moins on s'épile le pubis.
Ben, de toute façon, il reste plus grand-chose quand tu... ça repousse pas toute ta vie, là, je te l'annonce. OK?
J'aimerais répondre. J'aimerais répondre, mais je suis en onde.
La face de Pascal, là, c'est incroyable.
Mais je veux dire, quel moment je suis en train de vivre?
OK. Donc, là-dessus, constatant ces statistiques, j'ai dit à Pascal, t'es pas game de demander aux gens que nous connaissons, qu'on ne nommera pas à la radio, puis dépendant des générations, s'ils s'épilent ou pas.
Soit nos collègues. Hein? Tu m'as demandé d'arriver promptement face à nos collègues et notre patron et leur demander tout simplement... s'ils se rasent, puis vous allez voir, bon, certains dévient au niveau des aisselles, mais quand même, principalement, on parlait des poils pubiens. Je vous laisse entendre les réponses.
Pour moi, le mystère dans la vie, c'est quand est-ce qu'on a décidé que le poil, c'était sale? On trouve pas nos cheveux sales.
Ben, quand un Gérard est arrivé, puis ça pendouillait de partout sur la plage du Sud. Là, Myriam, pour moi, c'est très sale.
C'est pas sale. C'est pas esthétique, mais c'est pas sale.
Ben, c'est sale. Tout pogne là-dedans. Là, je... Donc, vous voulez une réponse et voilà.
Bon.
Sinon, voici nos collègues.
Rasé, non. Rasé, ben non. Tu sais, j'ai un garçon. J'ai le poil un peu. Un peu. J'y pense, il y a le dos. Il y a le dos avant d'aller dans le sud, mettons. Mais ça vient un peu de ma femme, tu sais, qui me donne une petite tape sur l'épaule en disant « Chérie, ça ferait bien. Le dos, ça ferait bien. » Mais le ventre, non. Je trouve que ça fait masculin. Non, mais non, on rase pas les aisselles, c'est des femmes.
Tu les trimes?
Ouais. Okay. Ah. Un petit entretien, tu sais, quelque chose qui fait que les bras fermés, ça dépasse pas, là.
Ouais, parce que je pense que si on se rase pas les poils sous les bras, ça va suer encore plus et puis ça risque de faire de l'odeur et déranger ceux qui nous entourent. L'hygiène, ouais.
Je me trime sur le corps, mais parce que ça vient trop long, ça m'énerve. C'est laid, je trouve.
Là, je peux parler, c'est à la présence de mon avocat. Ma blonde n'est pas là non plus. Oui, fraîcheur.
Non.
Pourquoi?
Il n'y a pas de raison parce que j'en sens pas le besoin. Pour moi, je suis bien comme je suis.
Ça, là, j'embarque pas là-dedans.
J'embarque pas là-dedans.
La face, je me rase en bas aussi. Ah oh, ouais, partout. Ah ouais. Oh, ouais. Ben, pour être propre. C'est la tendance d'aujourd'hui, puis c'est ça. Donc, les années 70, ça aurait probablement été autre chose, mais aujourd'hui, les années 2000, c'est ça.
Donc, on a beaucoup d'hygiène, on a beaucoup de mode aussi. C'est la mode. Puis on a beaucoup de « je sais pas trop », puis c'est ma blonde qui voulait ça.
C'est ça, hein? C'est on dirait que c'est une décision qu'on ne prend pas, qu'on laisse les autres prendre pour nous.
Donc, on n'a pas réfléchi à ça, on le fait de façon robotique. Mais j'ai une amie qui est esthéticienne, puis je lui ai posé la question. J'ai dit, tes clients viennent te voir pour se faire épiler, puis pourquoi? T'sais, elle dit, souvent, c'est parce que les gars n'aiment pas avoir du poil dans ces parties-là, surtout le poil de dos. Ils trouvent ça pas chic. Ils se font aussi épiler parce que pour eux, la femme à la maison le demandait. Elle dit qu'elle prend soin d'elle, donc elle souhaite que son homme prenne soin de lui aussi. C'est les commentaires qui reviennent souvent. Mais elle dit même qu'il y a des... comme les femmes, il y a des hommes qui ont la phobie du poil. Que ça en est une phobie.
Ah ouais.
Ils sont extrêmement pas bien avec ça, puis que c'est un rendez-vous immédiatement si un poil pousse. Pourtant, tu peux l'enlever toi-même chez toi. Mais...
Et les hommes qui se rasent, par exemple, la poitrine.
Oui.
Ou les jambes. T'sais, j'ai un ami qui fait du vélo. Lui, il prétend que c'est au cas où il tombe pour que ce soit plus propre quand il va. Ça marche pas, ça, là. Regarde. Ouais. D'abord, quand tu fais du vélo, tu planifies pas ta chute, là. Puis. Pourquoi la poitrine? Moi, je trouve que c'est...
Mais un peu, je connais quelqu'un, moi, qui c'est un ours, là. Je veux dire, ça, oui. En avant, c'est relié avec le dos.
Oui, moi aussi, je connais quelqu'un comme ça. Plutôt sympathique.
Mais il est très, très, très sympathique, mais ça dépasse du chandail aussi.
Puis?
Oui, c'est vrai que toi, t'aimes beaucoup les mâles alpha.
Ma jeunesse, c'était plus c'était poilu, plus on aimait ça.
Toi, faut que ça grogne.
T'sais. Quand est-ce qu'on a décidé que le poil était sale? Tu sais, j'entendais... D'abord, je pense que c'est un mythe que de penser qu'on va moins suer si on n'a pas de poil ou qu'on va moins sentir si on n'a pas de poil.
Mais oui, va sentir plus si on a du poil. Pas sûr que c'est un mythe, moi.
Parce que
les gouttes de sueur vont aller se loger directement dans ton poil, en plus de se loger sur ton chandail. Fait que t'as une masse de plus pleine d'odeur corporelle.
Un auditeur te fait dire que la prochaine fois que t'interviews Bernie, il faut que tu vois le masque de patois. Parce que tu l'as reconnu.
Mon boss me dit, il me répond, tu sais, puis il dit, mais ça, tu n'utilises jamais ça, puis j'ai des preuves contre toi, parce que si tu utilises ça, je vais faire d'autres choses en honte avec toi. J'ai trouvé ça. Mais vois-tu, on a un malaise aussi de parler de ça.
Ouais.
On a un très gros malaise. Il y en a qui ont complètement gelé, puis on dit, mais qu'est-ce qui te prend? C'était mon retour au travail, puis la première chose que j'ai
bon,
fait.
Bon, pourquoi pas?
À cause de Myriam, bien sûr.
C'est ça, Myriam m'a passé ça sur le dos, tu sais.
C'est ça.
Ah, oui.
Femme 68 ans, je n'ai aucun poil depuis 20 ans et je m'assure qu'il n'y en ait pas. Pourquoi?
Marie-France imagine que Paul Raphaël est rasé de partout sauf la barbe.
Non, moi je pense que c'est un intégral suicide.
Oui.
Je pense que c'est ton homme alpha, ça, Myriam. Isabelle qui dit certains sportifs se rasent pour augmenter la performance, comme les nageurs, les plongeurs, c'est vrai ça?
Oui, mais au-delà de ça, là, il y a une mode et il y a un moment donné que je n'ai pas vu passer dans l'histoire, où on a décidé que le poil, c'était sale. Au lieu d'être un symbole de virilité, c'est devenu sale.
Ouais, mais... bon, c'est pas sale, c'est juste pas attirant sexuellement.
Mais des cheveux, là, au moment où tu les laves pas...
Bon,
on entre dans les préférences sexuelles de Myriam. Non. Oh, j'en vis, j'ai envie de toutes sortes, moi. Mais, tu sais, des cheveux, là, quand t'es dans... Le meilleur exemple, c'est un ascenseur bondé. T'as des gens devant toi, t'as un fond de tête mal lavé devant toi. Il y a une odeur.
Il y a une odeur?
Ah, mon Dieu.
Je sais pas, moi, je prends les escaliers.
Ça sent le poil mal lavé. La barbe. Il y a eu des études aussi qui démontrent que c'est une des choses les moins hygiéniques.
C'est sûr. Ils mangent, puis ça dégouline partout, puis là, il y a des bactéries qui s'installent.
Ben, c'est pas très ragoûtant ce matin, mais quand même.
Ça leur permet de travailler leurs anticorps. C'est très bon.
Travailler leurs anticorps.
Grâce au poil.
C'est l'argument
le plus mauvais que je peux entendre. Sylvie est comme moi. Elle aime l'homme viril avec du poil. C'est un homme qui s'assume.
OK. Sylvie, je suis d'accord avec vous. Mais un petit trimage, ça fait pas de mal à personne. Le petit trimage sous l'aisselle qui te permet que quand tu fermes ton bras, il n'y ait pas une touffe de poil à l'avant et une touffe de poil à l'arrière. Ça aussi, c'est très viril.
C'est sûr que moi, j'ai jamais eu ce genre de problème-là. Tu sais, je rends ma sœur complètement jalouse parce que j'ai pas un poil sur les jambes et c'est comme ça de nature.
Wow, c'est une belle chance, ça.
Ben, je les ai jamais rasés. Le peu que j'avais, je les ai jamais rasés. Résultat, ils poussent pas. Il faut pas que tu les provoques, ces poils-là.
Ben oui, mais le laser, ça t'arrange une affaire, Myriam m'a dit. Beaucoup de douleurs, par exemple. Quelqu'un qui dit, les poils nous protègent contre les maladies, effectivement. C'est pour ça qu'on en a sur le corps. Là. Bien souvent, c'est une porte de secours là, qui nous empêche de le faire. Puis même dans l'article, on disait que faut faire attention, il faudrait même consulter. Puis ça m'a tellement surprise, parce que normalement, on relie ça à l'esthétisme et c'est tout. Mais on devrait même consulter des dermatologues si on décide d'entretenir notre poil pubien, par exemple, et de l'éliminer, pas l'entretenir.
C'est pas l'entretenir, c'est ça. L'éradiquer.
Et l'enlever complètement du corps, parce que c'est un endroit où la peau est très, très sensible.
Oui. Mais
c'est pas
compris
fait pour ça.
Fallait...
Moi, je me dis, si la nature t'en a mis là, c'est parce que ça correspond à un besoin, à une nature.
Il y a Patrice qui dit, le doc vous dirait sans doute que ce sont des hommes féminisés.
OK, puis tu vois François dire des hommes préhistoriques, oui.
Mais je pense que ça va de soi, c'est juste l'hygiène, c'est juste en fait de prendre soin de soi, c'est pas de s'enlever tous les poils du corps. Jamais je vais demander à mon conjoint d'enlever le poil qui est sur son torse, ça va avec...
Mais le poil des bras, tu vas lui demander de le trimmer.
Sous les aisselles,
ouais.
Ça se met à sortir, ben c'est sûr que ça va être... Il n'y aura pas de compromis, là.
OK, bon, c'est fini pour ta mission dépilatoire?
Je vais t'en trouver une autre de mon cru la prochaine fois, Myriam, si ça te dérange pas.
OK. Tu veux t'auto-donner des missions?
Ben, peut-être plus de vox pop sur est-ce que tu te rases?
Je vais masquer la voix de Bernie la prochaine fois, OK? Il est 9h17.
Que Québec se lève.
De retour après la pause. Le Québec vibre au rythme du Canadien.
Demain 18h30, premier match préparatoire, alors que le Canadien recevra les Devils.
Et ça met devant Price, Monsi Fudge, le tir, c'est l'arrêt! Carey Price vient de sauver.
Le hockey du Canadien vous est présenté par Essor Assurance. Essor et les Canadiens de Montréal, le tandem parfait.
Le réseau Cogeco, radio diffuseur officiel du Canadien de Montréal. FM 93.
Motorisé de la capitale est à Saint-Tite du 6 au 15 septembre au 521 boulevard Saint-Joseph, en plein cœur de l'action. Achetez votre prochain VR au meilleur prix possible. Échange accepté. Motorisé de la capitale du VR. MDLC.ca.
C'est la rentrée chez Ameublement Tanguay. Obtenez jusqu'à 1 000 $ de rabais à l'achat de 2 appareils de cuisine de marque sélectionnée ou payez jusqu'à 50 versements sur tous les électroménagers. La vaisselle KitchenAid Inox, 3 paniers avec grande cuve, 999 $, ou un réfrigérateur Hisense Inox à double porte, 21 pieds cubes, profondeur comptoir et congélateur en bas à seulement 1 199 $. Livraison gratuite au Québec. Ameublement Tanguay facilite votre rentrée.
José, j'ai une devinette pour toi.
Vas-y.
Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais qui fait beaucoup de bruit?
Toi, à la radio?
Ben non. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, mais qu'on sent et qui donne mal à la tête?
J'ai quelques noms qui me viennent en tête.
Ben, José?
Ben d'abord, je le sais pas.
Un silencieux brisé?
Ah, ben je sais que la meilleure place pour le faire réparer, c'est chez Silencieux Proto. Eux autres, ils ne font que ça. C'est moins cher qu'ailleurs et on n'a même pas besoin de prendre rendez-vous.
Oui, et on peut payer avec Accordé Desjardins sans frais.
Silencieux Proto sur Saint-Claude à Québec.
Et sur Kennedy à Lévis.
Le projet sportif de la Fondation du Sud-Québec concernant la recherche sur les commotions cérébrales se poursuit. La population est invitée au cocktail mini-conférence du 16 septembre prochain à la Cage Le Bonneuf, mettant en vedette Audrey Robuchon, nouvelle tête d'affiche en ski acrobatique, et le docteur Nicolas Dupré, médecin-chercheur. Ce sera une occasion unique d'en apprendre plus sur la recherche et de s'entretenir avec le chercheur. Viens au coût de 30 $, incluant consommation et bouchée. Inscrivez-vous maintenant, projetsportif.org.
Les 27 et 28 septembre, c'est le week-end d'ouverture de Nos Remparts, présenté par Budweiser et La Cage, brasserie sportive. Party le vendredi soir dès 17h et tailgate pour toute la famille le samedi dès 13h. Billets en promotion au rempart.ca. Soyez des nôtres pour le retour de notre équipe dès le 27 septembre.
Ben oui.
Ben non.
Ben oui. Quand ton système d'échappement fait du bruit, il faut aller chez Silencieux Proto.
Prendre un rendez-vous? Ben non. Même pas besoin.
Ben oui. Ils ont les pièces de toutes les marques et grâce au volume, c'est moins cher qu'ailleurs.
Ben non. Pas besoin de payer maintenant grâce à Accordé Desjardins.
Ben oui. Ils nous invitent à descendre sous la voiture pour nous montrer le travail qui a été fait.
Ben non. C'est pas stressant. Ils font juste ça depuis 56 ans.
Ben finalement, José, on est complètement d'accord.
Ben oui.
Silencieux Proto sur Saint-Claude à Québec.
Et sur Kennedy à Lévis.
Préparez-vous à gâter Pitou et Minou et à faire des provisions. Avec la méga-vente dans tous les tourneaux. Du 19 au 22 septembre, profitez de rabais sur presque toutes les marques de nourriture. Des rabais allant jusqu'à 8 $ sur la nourriture sèche. Ensuite, 20% de rabais sur toutes les conserves pour chiens et chats. Et pour gâter vos amours, 15% de rabais sur tous les accessoires, les jouets, les colliers, les vêtements, les gâteries. La méga-vente du 19 au 22 septembre dans tous les Létourneaux.
Tous les détails sur letourneaux.com.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Pour vos problèmes de pied, appelez-les lundi pour un rendez-vous très rapide. Visitez piedquebec.com.
Myriam Segal,
Alexis Sanson
et Pascal Cévé réveillent les gens de Québec. Vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève au FM 93.
Parce qu'il y a plus dans trois cocos que dans un, voici le Brasse Coco.
Alexis, c'est à toi lourd.
C'est à moi lourd.
C'est à toi lourd.
Bon, excellent. Dans la
je
ne
sais pas, là, lourd, non?
Sincèrement, je connais pas l'expression.
C'est la tag.
Ah, pour vrai?
Oui. En français, on donne lourd.
Oh, les maudits français.
Non, non, ben en français, au Saguenay, on dit on joue
à tag?
Non, à lourd.
Mais c'est un ours, ou pas lourd. Hein?
En plus.
C'est à toi lourd, OK.
Il y a un gros lourd.
Je suis tout seul à dire c'est à toi lourd. Non, ça se fait pas. Bon.
En tout cas. dans la vie, quand on se compare, parfois on se console, parfois on se désole, puis des fois on trouve des pas pires idées. Tu sais, quand on fait des référendums ou quoi que ce soit, qu'on veut consulter les gens, j'ai l'impression que c'est tout le temps compliqué. Puis en fait, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de consulter davantage. Et je vous l'ai déjà dit, là, je suis originaire de la Mauricie, puis j'ai vu cette semaine une initiative qui est arrivée à Shawinigan que j'ai trouvé bien intéressante, où la ville a décidé de consulter la population pour savoir ce qu'elle allait faire avec un 250 000 pièces. Le maire de Shawinigan avait longtemps rêvé à ça, d'installer un budget participatif. Il s'est gardé là 0,5% du budget de la ville, les 250 000, et il a dit ça, ça va être réservé exclusivement au projet du monde. Donc, de la fin avril jusqu'à la mi-juin, les gens pouvaient proposer des projets.
OK. Donc, c'est du surplus accumulé, l'espèce de bas de laine que les municipalités se donnent en accumulant un surplus parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de faire de déficit, puis ils peuvent pas calculer à la scène près leur budget. Donc, il y a une partie du surplus accumulé où il dit à ses électeurs, « Go, dites-moi quoi faire avec. »
Ouais, ça, il avait prévu ça dans le budget. C'était un 250 000 où il savait pas trop ce qu'il allait faire. Et là, il a dit, « Regardez, il y a 200 000 qui vont être attribués à des projets grand public et 50 000, ça va être des projets qui sont verts, des projets écolos. » Donc, les gens avaient de la fin avril jusqu'à la mi-juin pour proposer des projets. La seule, les critères, là, c'était que dans le fond, c'est un projet qui devait, ben c'était une dépense d'équipement d'au moins 25 000 et d'une durée de vie utile d'au moins 3 ans. Donc, le projet, il faut qu'il serve quand même un certain temps. Et là, actuellement, on est en pleine période de vote. Les gens, là, ils ont jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, je sais qu'il y a des gens en Mauricie qui nous écoutent peut-être, là. Jusqu'à la fin du mois de septembre, vous pouvez aller voter pour ces projets-là. J'ai pas vu c'était quoi les projets qui étaient offerts aux gens et pour lesquels les gens pouvaient voter. Mais les gens, ils peuvent voter de deux manières. En ligne ou se rendre à l'hôtel de ville. Pourquoi les gens sont capables de voter en ligne? Pourquoi ce projet-là, là, on est capable à Shawinigan de faire un vote, puis Dieu sait que...
La Ville de Québec le fait aussi quand il faut choisir qui on honore sur la place Jean Béliveau.
Ben oui, mais pourquoi on n'est pas capable de le faire pour des projets municipaux aussi?
Ah non, ben là, c'est parce que la plupart des municipalités ont ben trop de fun avec ton fric. Quand ils savent qu'un projet va être contesté, ils accumulent un surplus accumulé. Comme ça, ils n'ont pas à te consulter, puis ils peuvent faire leur projet avec le surplus accumulé.
Mais tu sais, là, c'est 250 000, là. Mais mettons, là, la journée où il va avoir un budget, là, où on va mettre 2, 3, 4 millions de côté, on va dire, « Hey, savez-vous quoi? C'est à vous autres de décider ce que vous voulez faire avec ce budget-là. »
C'est quoi que les gens ont choisi? Qu'est-ce que les gens font?
C'est ça que je te dis. Je ne sais pas c'est quoi les projets. J'ai pas vu c'est quoi les soumissions de projets. J'aurais aimé ça les trouver, mais j'ai pas été capable de les voir. Okay. J'imagine que quand tu vas voter, t'es capable de l'avoir. Mais je serais curieux de voir les gens peuvent voter sur quoi. Mais à la base, moi, c'est le principe que je trouve intéressant, où les gens peuvent décider ce qu'ils font avec leur argent.
Moi, je me suis convaincu maintenant qu'il ne faut pas faire le vote électronique pour ce qui concerne les élections puis les grandes consultations. Mais pour ce genre de consultation-là, c'est essentiel. Et une des choses que je ne comprends pas, c'est pourquoi les syndicats, avant de faire des grandes sorties publiques, ne me consulte pas, moi, ils ont toutes mes coordonnées, là. J'ai mon... Pourquoi on ne me consulte pas en ligne? Allez sur le site de la CSN et dites-nous où est-ce que vous voulez qu'on ait... qui vous voulez qu'on appuie aux prochaines élections.
Ah oui, s'ils veulent faire campagne, après ça, ils pourront le faire.
Après ça, ils seront légitimés. À place de dire, nous, on décide ça entre délégués.
Il va toujours avoir des chialeux pour dire, sur Internet, un sondage, c'est pas crédible, mais ils auront au moins fait ça.
Non, ben au moins, ceux qui veulent parler peuvent parler.
Pourront le faire.
Puis ceux qui veulent se taisent à jamais.
Ça veut pas dire qu'ils vont être considérés, mais quand même.
Pascal, toi.
Tu me demandes souvent de sortir de la zone de confort dans ce temps-là, dans le brasse-coco. Et je suis tombée sur quelque chose qui va peut-être aider des gens, mais aussi qui est perturbant. Tu sais, on dit les conversations maintenant, on est beaucoup plus actifs socialement par les réseaux sociaux, que ce soit Messenger, que ce soit les conversations Instagram, que ce soit par texto. On n'appelle plus. On n'appelle plus, puis ça peut créer beaucoup de sous-entendus dans les conversations. Il y a une entreprise qui a décidé de pallier à tout ça, à ce manque-là, parce que des fois, on pourrait chicaner, Myriam, tu t'en rends pas compte. Ou t'envoyer une phrase, tu dis, voyons, elle est fâchée, elle, qu'est-ce qu'il prend? Mais finalement, je suis super sympathique.
Dans la vie courante, allô, bonjour, comment ça va? Ça fait partie de la façon d'entrer en contact.
Exact.
Par texto, viens me voir si t'as eu une très mauvaise avant-midi. Viens me voir, ça peut vouloir dire, viens me voir.
Ouais.
Et si tu as eu une belle avant-midi, tu vas le lire. Viens me voir.
Viens me voir. Oui, c'est ça, ouais. Exactement.
Comprends-tu? La façon dont on lit le message dépend de la façon dont le récepteur du message, de l'état d'esprit du récepteur du message.
Totalement. Et on n'a pas le ton de voix. Puis ça, c'est hyper important. Puis beaucoup de gens se sont mêlés ou se sont chicanés avec des proches parce que justement, les réseaux sociaux, il y a cette barrière-là. L'entreprise a créé l'application Mei. M-E-I. Ça va être, c'est déjà disponible sur Android et ça va être précommandé par iOS, donc sur vos téléphones Samsung et iPhone. Et c'est une intelligence artificielle qui va lire vos messages SMS, qui va lire vos textos et qui va analyser le contenu de chacun de ces messages-là pour vous annoncer la probabilité que la personne soit aussi intéressée par vous ou encore qu'elle est de bonne humeur ou encore qu'elle est fâchée contre vous. Fait que finalement, va analyser selon les emojis, selon les mots utilisés, selon la construction de phrases aussi, la syntaxe et, bon, point d'exclamation, un point d'interrogation, pour essayer d'aller voir l'humeur de la personne qui vous écrit. Non, on est rendu loin, là. Alors, au lieu de poser la question toute simple, soit « Es-tu fâché? Est-ce que je t'ai dérangé? Oui, j'arrive. » Ou de mettre un emoji pour laisser transparaître notre émotion. Ouais. C'est maintenant l'intelligence artificielle qui va le faire. Puis, peut-être que vous vous dites ben, « c'est à la blague qu'ils ont fait ça, les concepteurs. » Non, non. Ça a pris 3 ans, plusieurs prototypes, plusieurs analyses pour créer cette application-là qui va finalement digérer vos conversations et vous donner le rendu de celle-ci.
C'est assez fascinant. Hein?
Impressionnant. C'est, je trouve qu'on recule, hein, finalement. On recule.
Ben oui, puis non. C'est qu'au moins, tu vas savoir dans quel état est ton récepteur. Tu sais, quand on est un émetteur... Toutes les communications, c'est t'as un émetteur et t'as un récepteur.
Oui.
Alors, si l'émetteur et le récepteur sont pas sur la même longueur d'onde...
Dissonance.
Ça marche pas.
Oui.
Alors, au moins, tu vas savoir sur quelle longueur d'onde se trouve ton récepteur.
Oui, mais tu ça, peux même pas lui demander. C'est ça. Tu demandes à quelqu'un d'interpréter.
Tu peux pas l'appeler. Je trouve que, Colin, ça devient compliqué. Puis, quand je dis on recule, c'est que vite comme ça, on se dit, ah, mon Dieu, on avance. C'est quelque chose de bien. On va avoir un outil supplémentaire. Ouais. Mais non, on recule. On se dissocie encore plus des vraies relations interpersonnelles puis du contact humain. On s'en éloigne.
Commentaire pour Alexis. Je serais plate pour un politicien, nous écrit Patrice. Baisse de taxes, si ils peuvent pas en mettre de côté, ils doivent payer la dette ou soit ne le redonner. Bon.
Ben, tu vois, ça pourrait être une suggestion. Là.
Et en ce qui concerne ton commentaire, Pascal, voilà pourquoi j'ai habitué ma fille à commencer ses textos par « Bonjour » ou « Allô, maman
oui. ». Comment on téléphone? Ben, à part Sylvain Bouchard qui répond « Oui ».
Oui.
Si tu veux.
Je réponds quoi? Allô, bonjour, je pense.
Ben,
on
oui, allô?
Qu'est-ce qu'on...
Ah, oui, allô? Moi, je réponds ouais.
Tu oui. réponds ouais?
Oui. Non, mais mettons ouais que tu m'appelles. Oui. Mettons que tu m'appelles, là. Ça dépend, c'est qui. Des fois, quand je sais qui, quand je connais pas la personne, je vais faire oui, allô. Puis je sais qui, je vais juste répondre ouais.
Ah, voyons donc. Moi, je suis une amateur de quiz. J'aime les quiz. On a passé des journées complètes dans les fêtes de famille à jouer à Super Quiz, puis à toutes sortes de jeux de quiz. J'aime les quiz. arpent de piège, j'aime pas ça parce qu'il y a du hasard dedans, mais ce que j'aime, là, c'est quand on fait une équipe de filles, une équipe de gars, puis...
Ouais.
Et je trouve qu'à la télévision, j'ai pas beaucoup... Il y a le tricheur, là, où je m'amuse à répondre sérieusement aux questions loufoques qu'il pose, là. Mais je trouve qu'il manquait un vrai bon quiz.
OK.
Et le quiz animé par Pierre Yvelore, que j'ai regardé cette semaine.
C'est tout nouveau, c'est
sans
ça?
Sans génie. Ça a été premier épisode cette semaine. Ça s'appelle Sans génie, sans C-E-N-T, ou le chiffre 100. Là.
Ouais.
Bon. Ils ont recruté 100 jeunes brillants entre 14 et 17 ans.
OK.
Je pense, il me semble que c'est entre 14 et 17 ans.
Il y a vraiment une sélection pour qu'il soit plus brillant que la moyenne.
En fait, c'est la renaissance de génie en herbe.
Ah, OK, ouais, okay. Ouais.
Mais c'est la renaissance de génie en herbe avec une formule beaucoup plus ludique. Alors, parmi les 100 génies qu'il y a dans la salle, ils en choisissent...
C'est bon, j'aime ça le titre.
Ils en choisissent, je pense, c'est 2 x 3, 6... en posant des questions quiz.
OK.
OK. Quelle est la capitale de Madagascar? Bon. Puis là, ceux qui répondent bien restent en lice. Et à la toute fin, ce sont ceux qui ont répondu le plus vite à la dernière question qui sont sélectionnés pour former les deux équipes qui s'affrontent.
OK.
Puis ensuite, il y a d'autres questions quiz, mais il y a aussi un jeu où ils sont enfermés. Ils doivent répondre à des énigmes pour arriver à sortir à temps.
Et c'est toujours les mêmes participants.
Et pour cet épisode-là...
OK, à chaque épisode.
Il y a toujours les 100 mêmes génies, Mais parmi ces 100 génies-là, il y en a toujours 6 qui vont se qualifier pour faire le jeu.
Parfait.
Okay. Okay. Et j'ai trouvé ça fascinant. Par exemple, cette semaine, là, il leur posait une question sur les trains. Quand ils étaient enfermés, là, les deux équipes étaient enfermées, ils doivent travailler en équipe. Alors, le premier train roule à telle vitesse. Le deuxième train roule deux fois plus vite, mais parcourt trois fois plus de temps. En tout cas,
lequel va arriver en premier?
Lequel? Non, combien ça vous prend de temps d'arriver à destination? Okay. Ils avaient trois trains à prendre. Il fallait qu'ils disent à quelle heure ils allaient arriver à destination. J'adore ce genre de jeu-là. J'ai vraiment aimé ça. Et ce que Pierre-Yves Laure a dit, ce qui manque en fait à cette émission-là, c'est comment moi, qui participe dans mon salon, qui répond aux questions,
ouais,
je peux participer. Comment, moi, je peux faire partie du jeu?
Ben, tu peux parler, là. Je veux dire, c'est toujours arrivé.
Parle à ta télé.
Ben oui, parle à ta télé.
Je parle beaucoup à ma télé. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma télé, OK? En fait, c'est probablement l'objet avec lequel je dialogue le plus. Je dirais même la personne avec laquelle je dialogue le plus.
Oh, mais tu peux pas t'attendre à ce que Pierre-Yves Laure sorte de la télé en disant « Myriam Segal ».
Oui, bonne réponse, bonne réponse, bravo!
Mais ils ont mis en ligne, chaque semaine, les gens peuvent aller s'inscrire. C'est assez simple de s'inscrire, là. Un courriel, un pseudo, puis un mot de passe. Et moi, j'ai pris le mot de passe le plus facile que j'utilise. Donc, ils essayent pas de te dire 8 caractères avec des chiffres, des non-alphanumériques, des cibles, des ça, là. Tu sais,
rapide et efficace.
Le genre d'affaires que n'importe qui peut craquer, là.
Ouais, genre Myriam.
Ils ont mis en ligne le jeu de la semaine. Alors, t'as un petit quiz pour te pratiquer.
Ah oui?
Oui, tu peux te pratiquer, là.
Et c'est quand l'émission, Myriam?
J'ai regardé ça quand? Jeudi.
OK. Jeudi soir.
Jeudi. Je sais plus à quelle heure. Je vais regarder ça jeudi, il me semble. Je l'ai-tu enregistré? Je vais peut-être regarder jeudi parce que je l'ai enregistré.
Continue ton explication, je vais vous donner la grille horaire.
Trouve-moi donc ça. Et il y a donc un jeu de la semaine que vous pouvez faire. 12 questions qui sont chronométrées, là. 12 questions chronométrées. Puis là, j'en ai manqué, là. J'ai manqué. Le calcul, je suis vraiment poche, là. Il y a une question de calcul, là, que j'ai manqué là-dedans. La question sur la capitale de Madagascar, je l'ai manqué aussi. Bon.
T'as des choix de réponse quand même.
Mais t'as un petit jeu pour te pratiquer,
oui,
te familiariser avec le type de questions qu'ils posent. Puis ensuite, tu fais le jeu de la semaine, t'obtiens un score. Puis au bout de la semaine, avant l'émission suivante, ils publient les meilleurs.
Oh! Fait que toi, ton but en ce moment, là, parce que là, la prochaine émission, c'est jeudi 20h sur les ondes de Radio-Canada.
C'est ça.
Et toi, ta mission, ça va être d'être dans le palmarès sur Internet.
Non, je pense pas, parce que j'en ai manqué deux ou trois.
Ouais, là. Mais t'es compétitive, Myriam. J'avais vu quelqu'un jouer comme ça à Candy Crush, là, de trouver ton nouveau jeu, mais...
Mais là, Candy Crush, j'ai pas abandonné. Je suis au 3800e stade.
Myriam, je l'ai dit souvent en ondes que quand on faisait des exposés oraux, dans, oui, tes classes, parce que Myriam a été mon enseignante, elle jouait à Candy Crush pendant qu'elle était supposée nous évaluer.
Je vous évaluais?
En jouant à Candy Crush.
Oui, parce que l'auditeur de radio n'est pas forcément concentré à temps plein sur ce qu'il dit.
C'est une vraie expérience.
C'est ça.
Non? Est-ce que pour l'auditeur un peu distrait par ses activités quotidiennes, vous arriviez à rentrer dans son oreille?
C'est une façon, là. C'est une façon de
voir
son
tasse. Mais je ne le faisais pas pendant les évaluations. Je le faisais pendant les réunions. Pendant les réunions, oui.
Mais on n'était pas en réunion, là, Myriam. C'était avec nous autres, tu faisais ça?
Non, je ne sais pas. quand vous faisiez de la radio, puis que j'écoutais, oui, c'était
exactement...
Non,
en classe, en exposé
oral. Non, pas en exposé oral. Non, non, je veux pas faire ça.
Débat ici.
En tout cas... Parce que je ne devais pas vous évaluer.
Je vais faire un vox pop avec mes anciens collègues.
Je devais pas vous évaluer.
Non, mais c'était comique, là, quand même.
Mais c'est Candy Crush, parce que c'est un jeu que tu peux jouer en faisant n'importe quoi. Moi, je permettrais aux gens à l'Assemblée nationale de jouer à Candy Crush.
Mais t'as l'attention aussi pour le faire. Je veux dire, un, t'es une femme, t'es capable de faire deux choses en même temps. Puis ouais, deux, ben certaines personnes ont besoin de ça pour...
C'est vrai, on est multitâche.
Oui, pour se concentrer. Il y en a qui ont besoin de ça. Moi, si tu me parles au téléphone, ben regarde, en plus, on est en onde, là, j'ai une feuille complète de barbeaux.
Oui.
Je me concentre comme ça. Je fais des barbeaux.
J'ai un collègue, lui, il pogne le journal, là, puis il prend toutes les photos du journal,
oui,
puis il refait le tour de toutes les photos du journal. Tu sais, la raquette de Félix, oui, là, il va l'entourer complètement.
Okay.
Puis ensuite, il va faire des lignes tout le long. Là, moi, je dessine pas bien,
ouais,
mais il va faire des lignes tout le long. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'occuper leurs mains et leur esprit à autre chose tout en se concentrant sur l'essentiel.
J'en fais partie. Puis même Isabelle nous écrit, je joue à des jeux en vous écoutant, où je fais le ménage, ou les repas. C'est ça que j'ai besoin. En fait.
Donc,
c'est
un bon truc. Parfaitement raison de jouer à Candy Crush en évaluant des étudiants.
Oh, elle est revenue sur le fait que finalement, elle nous évalue.
Je ne me rappelle pas l'avoir fait en évaluant.
Mais c'est ton nouveau jeu, ça, Sans Génie. Alors, jeudi 20h.
Sans Génie, j'ai vraiment trouvé ça. Je trouve ça intelligent comme jeu. Et qu'est-ce que je me suis dit en regardant ces jeunes-là, là, je me suis dit, oh, c'est lumineux. Mmh. Tu sais, on dit tellement de mal des jeunes.
Oui.
On en dit tellement de mal. C'est lumineux de voir des jeunes allumés comme ça. Ça a quelque chose de... On est entre bonnes mains.
Puis, sérieux, j'ai pogné un 2 minutes cet été. Je suis allée faire un tour dans un camp de jour, là. Puis je parlais à ces jeunes-là qui avaient maximum 14 ans, je pense. Les réponses qu'ils m'ont données pour une série de Vox Pop, là, j'étais déroutée, Myriam. Puis quand tu dis qu'on est très sévère envers les jeunes, là, on prend pas le temps de les écouter sur des questions sérieuses parce qu'on a l'impression qu'ils peuvent pas nous donner leur opinion. À 14 ans, t'es qui, toi, pour donner ton opinion? J'ai vraiment resté très, très bête.
Si le ministre de l'Éducation veut savoir ce qu'il doit améliorer dans les écoles, c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont cons. Moi, j'ai jasé souvent avec des jeunes de secondaire 5, de cégep 1, forcément, là.
Oui.
Et ils savent pertinemment ce qui manque à leur éducation. Ils savent quelles carences ils traînent. Jaser avec eux autres, là, vous allez tout comprendre. Et honnêtement, cette émission-là, ça m'a donné comme un rayon de lumière dans ma soirée. Je me suis dit, on est entre bonnes mains.
Puis les commentaires sont très positifs, même par texto. Les gens disent, j'adore cette émission, c'est super. On nous conseille aussi l'émission Au suivant à Radio-Canada le vendredi soir, 19h. C'est très bon comme quiz, il paraîtrait. On nous conseille aussi à TV5 un quiz. Tout le monde veut prendre sa place.
Ah, mais oui, mais TV5, là, ça, c'est fou, là. Faut que tu sois un surgénie pour répondre à ces questions-là. Là.
Oui, puis tu peux pas déloger le gars qui est à la place parce que c'est le gars qui occupe le fauteuil rouge, là.
Ouais, ben le fauteuil,
bon,
là.
Le fauteuil, c'est le gars qui occupe le fauteuil qui choisit sur quel thème tu vas devoir répondre à des questions.
Oh.
Alors, s'il a repéré que t'as une faiblesse en cinéma, il va te donner le thème du cinéma. Puis lui, il va prendre le thème le plus facile.
Je comprends.
Et puis une série de quiz à TV5, là, il y a ça. Il y a les chiffres et les lettres. Et il y en a un autre, là. En tout cas, c'est tous des quiz, là, où tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, comment quelqu'un fait pour connaître ça. En plus, c'est des gens, il y a personne qui étudie là-dedans, là. C'est du monde normal qui s'en vont répondre aux questions du quiz.
Tu vois, dans le jeu, là, ils l'ont modernisé. Notamment, ils ont fait venir un chanteur dont j'oublie le nom, mais dont la toune est hyper connue, là.
Et la chanson étant?
Je me rappelle plus. Donc, c'est une bonne toune.
OK. Recommence. On va essayer de. 25, 2, 6.
C'est une bonne toune. Je me rappelle plus. Hey, c'est qui, là? Le chanteur, là, il parle de tête. En tout cas, pendant que le chanteur. s'exécute.
Ouais. Oui.
Pendant que le chanteur s'exécute, c'est une espèce de rappeur. Là.
Ouais.
Pendant que le chanteur s'exécute, c'est-tu Loud?
Loud, très, très connu.
Il s'appelle Michel, me semble, de son prénom.
Un rappeur qui s'appelle Michel. Oui,
mais c'est pas son nom d'artiste. Son nom d'artiste, c'est d'autres choses.
OK, mais c'est pas Loud, ça veut dire.
OK. Pendant qu'il chantait, il y avait des images à l'écran dans son derrière lui.
Ouais.
Et les participants au jeu, les 6 sélectionnés, devaient noter un maximum d'informations. Puis ensuite, on leur pose une série de questions sur ce qu'ils ont vu passer pendant que le chanteur chantait.
Wow, OK. C'est vraiment stimuler le cerveau à sa pleine capacité.
Regarde,
là.
Il parle à un moment donné d'un remix de Charles Aznavour. De quel remix parle le chanteur?
OK.
Puis là, ça passe vite, là. C'était, les paroles déboulent, là.
Wow. Puis quand on parle de stimulation de cerveau, là, il y a Pierre qui nous écrit, moi je travaille au service des clients pour une entreprise envergure et les discussions peuvent parfois s'étendre. Mon TOC, c'est que je dessine le visage du client selon son comportement en l'écoutant. Donc, il l'écoute encore, mais lui aussi a besoin de se concentrer sur d'autres choses. C'est fascinant le cerveau humain, surtout quand on dit qu'on l'utilise pas à sa pleine capacité.
Moi, vous trouvez le nom du chanteur, là, ça tourne est bonne, Apollos.
Mais tu vois, si tu nous chantais la tune...
Ce soir, on perd la tête. Je t'avais dit qu'il y avait de la tête là-dedans.
Mais
c'est ce soir, on perd la tête. LGS.
LGS?
LGS, ce soir, on perd la tête. Je la connais, cette tune-là. Mais tu vois, j'aurais été incapable de le nommer. C'est ça. Il y a des affaires que mon cerveau oublie.
C'est ça?
Ça?
Parce que oui.
On compte les ans.
Ah oui!
À tous les jours, on tape du pied.
Tu l'avais, Myriam.
J'avais dit, ça parlait de tête.
Mais c'était simple, c'était la même affaire.
C'était, écoute,
9h42. Ça se passera chez nous. So, prends un Uber.
y a plus dans trois cocos que dans un? Voici le Brass Coco.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM 93.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Tu travailles sur la construction, tu mérites une botte ajustée à ton pied. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com.
Nous vivons nos plus beaux moments, main dans la main. Laissez-nous vous tendre la nôtre. Le 22 septembre, venez à la journée porte ouverte et découvrez ce que la vie en résidence peut vous offrir. Chartwell, résidence pour retraités. Bien vivre ensemble. Chartwell.com.
La voix. Les plus grands hits. La tournée. L'attente est terminée. Céline Dion, la tournée mondiale Courage. Ce mercredi, vendredi et samedi au Centre Vidéotron. Billets sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Céline Dion, ce mercredi, vendredi et samedi.
À l'événement 72 heures chrono de Lexus, les offres sont d'une durée limitée, mais l'excitation de conduire une Lexus est illimitée. Dès maintenant, profitez de taux de location et de financement aussi bas que 0,4% grâce à un rabais incroyable de 1,5%. De plus, recevez jusqu'à 4 500 $ en crédit à la livraison sur les modèles Lexus sélectionnés. Certaines conditions s'appliquent. L'événement 72 heures chrono de Lexus du 18 au 20 septembre seulement. Ne manquez pas la chance de partir au volant d'une nouvelle Lexus. Demandez un essai routier dès aujourd'hui.
T'as mal au pied? Tu tournes en rond à chercher des solutions? Va voir les orthésistes du pied de Québec. Ils ont plusieurs solutions, dont celle pour que vous retrouviez le confort. Les orthésistes du pied de Québec, les pieds y connaissent ça. 375 Soumande, piedquebec.com.
Les 27 et 28 septembre, c'est le week-end d'ouverture de nos remparts contre les Huskies de Rouyn-Noranda au Centre Vidéotron.
Vendredi dès 17h, c'est le party Budweiser.
Bande de musique, bière à 5$ et spectacle unique sur la glace en avant-match. Samedi dès 13h, tailgate pour toute la famille sur la place Jean-Béliveau. Jeux gonflables et plusieurs autres activités avant ce match présentées par la cage Brasserie Sportive.
Billets en promotion au rempart.ca.
Soyez des nôtres pour le retour de notre équipe dès le 27 septembre.
Ici Joanne Boivin, faites comme moi, devenez porteur de lumière pour Québec Ville en Rose de la Fondation du CHU de Québec, en support au Centre des maladies du sein, et courez la chance de gagner une loge corporative au Centre Vidéotron pour 12 personnes pour le spectacle Axel du Cirque du Soleil, offert par TVA Québec et le Journal de Québec. Plus vite on s'engage, plus on a de chances de gagner. Amassez de l'argent pour la cause. Devenez porteur de lumière dès maintenant. Info à québecvilleenrose.ca. Le concours prend fin le 27 septembre.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Tu travailles sur la construction, tu mérites une botte ajustée à ton pied. C'est couvert par les assureurs. Visite piedquebec.com.
Le matin, Québec se réveille avec Myriam Segal,
Alexis Sanson
et Pascal Cévé.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
FM 93.
C'est le temps de... Est-ce que t'en as passé l'ouverture de Yvon? Oui, non.
J'ai-tu une ouverture pour ça?
Je sais pas. Faudrait bien en avoir
une. Le thème.
Yvon Delisle.
Bonjour.
Et le célébrant de la grand-messe du rock.
Oui.
Tous les samedis, tous les dimanches, après notre émission.
La grand-messe commence à 10h le samedi-dimanche à Québec. Ouais.
Il vient jouer le dimanche un petit quiz avec nous et avec les auditeurs. Et cette fois-ci, j'ai pour les auditeurs qui répondront adéquatement à la première et à la deuxième question. Okay. Le premier auditeur qui répond adéquatement sur 25226 à la première et à la deuxième question posée par Yvon va gagner une paire de billets pour Legends Show, qui est un show qui rend hommage à Patsy Cline, Buddy Holly, Elvis Presley,
etc. Ça va être bon, ça. Etc. Ça va être bon, ce show-là.
Au Capitole, oui. Le 5 octobre, oui. Vous mettez ça à votre agenda. Tout ce qu'il faut faire, c'est répondre, être le premier à répondre correctement à la question 1 d'Yvon et à la question 2 d'Yvon.
Les auditeurs écrivent déjà qu'ils sont prêts.
Celui qui aura gagné la question 1 n'aura pas le droit de gagner la question 2, OK?
Oui, c'est ça. Puis ils vont être contactés après l'émission par Alexis. On n'aura pas le
temps. C'est ça, parce qu'Alexis, il faut qu'il
joue avec nous.
Il faut qu'il se ridiculise avec nous.
Oui, c'est ça. Ils doivent répondre par texto.
Les auditeurs.
Par texto, 25226.
Go!
Et Irma.
Dorian.
Humberto.
Mon épouse
Umberto. Umberto, pourquoi Umberto. J'ai trois syllabes, moi?
C'est vrai, hein?
C'est vrai.
Irma. Non, c'est correct.
OK. On y va. D'accord. Première question. Ce groupe a donné le dernier concert au Colisée de Québec le 14 septembre 2015. Ça, c'est facile, ça.
Umberto, ce serait pas Metallica?
C'est Metallica.
Yes!
Rock City! We thank you so much. We're very honored to be the last band to play here. A lot of good memories for us in this building. Quebec City has always treated Metallica like family. Thank you very much. Much respect to you, Quebec City.
C'est extrait du show, ça.
En quelle année? 2015. Ouais. Ben, c'est pas son, leur dernier. Ils sont venus, c'est plein un peu après.
Non, le dernier concert au Colisée.
Je sais, mais ta question était extrêmement confuse.
Non, c'est parce qu'il y a le 14 septembre. C'était il y a comme exactement 4 ans.
OK, ça finit. Le numéro de téléphone de celui qui a gagné, ça finit par 4594. OK?
OK. Oui.
Et j'ai pas triché, je l'avais viré mon...
Oui, oui, non, c'est vrai.
Ma tablette vers...
Absolument. Absolument. C'est mémorable, Metallica. Il y a qui a fermé le Colisée puis qui a ouvert le nouveau centre Vidéotron aussi avec le premier concert là-bas. Maintenant, la deuxième question, c'est un peu plus vieux. Premier épisode de cette série télé culte des années 70 qui a été diffusée à pareille date en 71. Premier épisode dirigé par Steven Spielberg, alors âgé de 19 ans. On peut mettre le thème, c'est le thème de l'émission.
Irma, patrouilleur de l'espace, je sais quelque chose.
Non.
Mon Dieu. Dorian, c'est pas les sentinelles de l'air?
Non.
Mais c'est pas ça, là, mais je...
Non,
mais
pas quand perdu même. Dans l'espace?
Non plus.
C'est ma sorcière bien-aimée?
Non plus.
Non, c'est pas ça, mais je m'essaie.
Non, c'est les années 60. Non, c'est bien. C'est participé, c'est ça l'idée, là.
Est-ce qu'on a un auditeur qui l'a eu?
Je regarde, je l'ai pas encore. Non, je pense pas.
Hein? Mais c'est genre un feu de l'amour, on dirait.
Toujours ben pas papa a raison, là. Non. Ça date d'avant ça.
Non. Ah, il y en a un qui l'a.
OK.
Il y en a un qui l'a. Et la réponse est... Peter Falk, Columbo.
Columbo? Ah, Columbo. C'est la musique de Columbo, ça?
C'est la musique de Columbo, oui.
Ben oui, hein, Columbo.
Ben oui, hein?
Le premier épisode était fait par Spielberg.
Premier épisode dirigé par Steven Spielberg.
Ah oui, oui. Vieil imperméable, oui. Le char tout croche.
Inspecteur Gadget, vous voulez dire?
Non, Columbo.
C'est ça, on voit comment les grands classiques n'ont pas toujours traversé les temps. Hein.
Pas Columbo.
Le gars qui a son cigare, qui est tout croche, puis qui revient toujours poser une question supplémentaire. Ouais. On sait qu'il est le coupable dès le départ.
Ah, tu me le vends bien,
question,
là.
La question, c'est de savoir comment Columbo va découvrir et va le confondre.
J'ai le goût.
Non, mais j'aime ça.
Il y avait
ça,
un œil de vitre, lui. Hein?
Ouais, il y avait un œil.
Encore mieux.
Ouais. Inspecteur Gadget, c'est bon, ça.
C'était bon. Inspecteur Gadget, quand l'outil sort du chapeau avec son grand imperméable gris.
L'effort intellectuel pour Inspecteur Gadget et pour Columbo n'est pas tout à fait le même.
C'est vrai que Columbo, on pouvait quand même jouer. Hein? C'était comme un quiz, essayer de trouver comment.
Lequel?
Alors, Columbo...
OK, il y en a... Oui, c'est Joanne qui l'a eu. Ça finit par 0-9.
Ça, c'est quoi?
Et là, qui va là? Et là, ça va pas.
Voilà, les prix sont donnés.
Là, il n'y a plus de prix, c'est juste pour l'honneur.
On joue pour le fun. Alors, la troisième question, c'est claviériste, timide, parce que je l'ai rencontré, mais on ne va pas y parler parce qu'il était dans son coin, très tranquille. Claviériste timide d'un groupe rock progressif britannique, il est décédé il y a 11 ans aujourd'hui. On peut mettre un extrait. Pour...
Claviériste timide.
Ça, c'est ton...
Wow.
C'est juste celui que je...
C'est pas Styx...
Non, c'est un bel essai.
Je sais, mon père va me déshériter.
Ça prend pas grand-chose pour te déshériter.
Ah non, c'est ça, il cherche toutes les raisons.
Il cherche toutes les raisons, c'est bon ça.
Claviériste timide.
Ouais, on a des bonnes réponses ici, là. Allez, effectivement.
Pas Kansas.
Pour 25-2-2-6, on a des bonnes réponses.
Ça semble, c'est pas Rick Wakeman.
Tiens, je sais, ça s'en vient, tu sais.
Mais là, ça va finir.
Pink Floyd?
Ben, c'est Rick Wright, là, le claviériste décédé du
cancer. Ben là, Rick Wright, donc je l'ai pas. Ça veut dire que je l'ai pas.
Ben, c'est le nom du claviériste que je cherchais, là, mais c'est le...
Donc je l'ai pas.
Non.
Non, on l'a pas, c'est sûr que non.
J'ai pas pris en note les scores.
OK. Je faisais une blague, là, c'est clair que je suis déshérité.
C'est un pour moi.
Ben là, Pink Floyd...
Non, mais c'est le groupe de ma famille, ah, c'est le groupe de ma vie, Learning to Fly, ça. Ma chanson à vie, bon. Ma chanson... C'est...
Voilà.
Il y a un texto de M. Caron, c'est ça?
Non, mais
Monsieur
c'est correct, c'est pas mon père. Ça.
J'aime ça. Alors, prochaine question, la numéro 4. Guitariste du début du groupe Genesis, mais en carrière solo depuis fort longtemps, en fait, depuis 1977. On peut mettre un extrait.
Genesis, c'est ma jeunesse.
Ouais. Mais le guitariste, c'est compliqué. Le
guitariste, bon. C'est dur, hein, c'est sûr. C'est mais en fait, ce qui est facile, c'est qu'il est en concert à Québec ce soir.
Hein?
Ouais.
Hein? Non, c'est elle allait sur son ordi. Ben, on impose l'auditeur, c'est sûr que...
Les auditeurs, là, c'est fait. C'est Steve Hackett, le guitariste.
Steve Hackett.
C'est qu'on a entendu sur la pièce-là.
C'est deux pour les auditeurs et un pour moi.
Ouais. Non, tu l'as même pas eu.
Oui, non, j'ai eu le premier.
Ah, c'est
oui,
pas ta raison. Je m'excuse,
Metallica,
mais rien.
Metallica, ben oui, Metallica.
Ça va déjà pas bien, ma vie, Myriam.
Moi, je pense que c'est des questions plus faciles. Ben là, ça, c'est plus jeune quand même. C'est l'anniversaire aujourd'hui du batteur Paul Thompson. Il joue pour ce groupe de rock écossais. Ça, c'est peut-être de le reconnaître.
Non, mais c'est parce que la question groupe, de ça aurait dû être, c'est la musique de quel jeu vidéo? C'est la musique de EA Sports. NHL, c'est la oui. chanson culte,
oui,
là.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Raison de plus pour la connaître?
Ouais, mais moi, je connais pas la musique, moi.
C'est le groupe a un nom d'une personne. C'est Franz Ferdinand. Franz Ferdinand.
C'était dur, celle-là.
C'était dur, celle-là.
Même en donnant réponse, ça me dit rien.
J'ai l'impression qu'il a pris goût à nous humilier, puis de plus en plus,
non,
c'est difficile.
Non, non, on va y aller plus facile. Mais Columbo, je pensais que tout le monde allait l'avoir, là. Sérieusement, je pensais que c'était un classique. Columbo.
Ça, c'était notre quatrième ou notre cinquième?
C'était la cinquième. C'était la cinquième, ben oui.
Personne qui a fait de points pour Myriam avec Metallica.
Metallica m'a donné un point.
OK, la semaine prochaine, plus facile. Plus facile.
Je vais t'en faire un quiz, moi, mon
bonhomme. On a quand même les auditeurs. Les auditeurs l'ont tous, François.
Mais ils sont extraordinaires, c'est pas compliqué.
Voilà, c'est pour ça qu'ils écoutent la grand-messe du rock qui commence tantôt à 10h.
Quelqu'un veut me donner un cours. D'habitude, j'avais pas une défaite aussi horrible que ça. Continuez.
Non, non,
mais ça fait rien, tu peux cumuler des points d'une semaine à l'autre. Comme t'as zéro aujourd'hui dans votre gang.
T'as zéro
la semaine prochaine. Yes!
C'est bon, ça.
J'étais exclue de ça parce que normalement, je suis pas si mal comparativement à vous, mais bon.
Alors, dans l'équipe, c'est 1-0 pour Myriam. Et pour les auditeurs, vous avez au moins 2-3 points.
Ouais, ouais,
c'est glorieux, ça. C'est très glorieux.
Hey, c'est déjà presque l'heure de se laisser. Merci beaucoup, Yvon Delisle.
Merci à vous. Bonne journée. Merci.
On écoute ta célèbre, ta grande messe du rock
dans quelques instants. La célébration commence dans un instant.
Pascal Caron-Vézina, merci beaucoup d'avoir été là. On va te trouver un autre défi pour la semaine prochaine, à moins que t'en trouves un à ton goût.
Ouais, un autre que Vox Pop sur les poils pubiens de mes collègues.
Alexis Sanson, merci aussi.
Merci.
Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous toute la fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, 7h, samedi matin. Entre-temps, restez à l'antenne du FM 93. Il y a plein d'affaires le fun qui se passent.
C'est pas parce que c'est le week-end qu'on ne veut pas être informé. Les meilleurs moments de Que Québec se lève sont disponibles maintenant sur fm93.com. La grand-messe du rock suit à l'instant.
Que Québec se lève, présenté par les orthésistes du pied de Québec. Des pieds fatigués? Ils en ont vu en 40 ans. Profitez de cette expérience. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
La grand-messe du rock commence dans quelques instants avec ceci. La grand-messe commence dans quelques instants.
Bonsoir les sportifs.
Benoît Brunet, Ryan Peeling ou Nick Suzuki ou les deux percent l'aliment?
Moi, non. Pour moi, là, ça va prendre un camp d'entraînement exceptionnel pour les deux pour qu'ils débutent la saison à Montréal. Des fois, j'aime mieux qu'un joueur ait brûlé la Ligue américaine. Dans le cas de Peeling, je veux pas le voir sur un quatrième trio. C'est sur un quatrième trio qui s'en aille à Laval, qui progresse, qui devienne un joueur dominant et qui vienne nous aider dans le futur avec le Canadien. La même chose avec Suzuki.
Bonsoir les sportifs. En semaine, dès 20h30 au FM 93. Chez Kia Lévis, la chasse aux bonnies est ouverte.
Ce mois-ci, le meilleur concessionnaire Kia au Canada vous offre un taux de financement à l'achat sur modèle sélectionné à 0% jusqu'à 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. Et grande nouvelle, le nouveau Sportage 2020 vient tout juste d'arriver chez Kia Lévis. Passez vite en faire l'essai et attrapez un boni de 1 000 $.
Le nouveau Kia Lévis.
Non, arrête ça les grelots. Les parties de bureau avec Archie, c'est bien plus gros que ça. Imaginez-vous dans la plus belle salle du Centre des congrès de Québec. Votre cocktail de bienvenue, un souper gastronomique, 4 services et j'y installe la plus grosse discothèque à Québec. Avec mes 16 danseurs, mes 2 DJ, un gros show, c'est festif et prestigieux.
Et on rit sans arrêt avec Archie.
Que vous soyez 8, 20 ou 180, 4 soirs seulement, les places sont limitées.
C'est vraiment mon plus beau party de Noël à vie.
ArchieNoël.com.
Il fallait partir le feu de camp. Il restait juste une allumette. Il a commencé à pleuvoir.
Ça, c'est juste 60% de l'histoire. Parce que jusqu'au 15 septembre, Sale offre jusqu'à 60% de rabais sur certains articles et minimum de 15% sur des produits de plein air sélectionnés. Toute bonne histoire commence chez Sale.
Le midi à Québec, des bons restos, il y en a un paquet. Mais si on enlève les restos qui n'ont pas de stationnement gratuit, si on enlève ceux qui ne sont pas dans le milieu de la ville à 5 minutes de partout, et si on garde juste les restos qui ont un nouveau menu du jour complet chaque semaine à partir de 14 $, incluant l'entrée, le dessert, un service rapide et courtois dans un décor super débile écœurant, ben là, il n'en reste rien qu'un. Cécile et Ramon.
C'est la rentrée télé chez Maison Adam. José vous offre le projecteur sans fil 1080p de Epson à seulement 999 $ avec 200 $ de rabais et vous avez jusqu'à 36 mois sans intérêt pour payer. Pour vous aider à faire le meilleur choix adapté à vos besoins, venez voir les experts de Maison Adam au 710 rue Bouvier et consultez les choix de José sur maisonadam.ca.
Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.
Québec Natation offre des cours pour tout le monde, même ceux qui ont peur de l'eau. Des cours de toutes sortes pour tous les niveaux, de 6 mois à 93 ans. Il y a sûrement un Québec Natation près de chez vous. Début des cours le 20 septembre et ils engagent 687-4045-québecnatation.com.
Pour tous vos examens de radiologie, retenez un nom.
Clinix. Des experts, un groupe, une force.
Une équipe dévouée. Mylène, Nathalie, Franck, Geneviève, Bernard.